bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Have a good a look at me. Nous sommes le dimanche 30 mars et nous revoilà encore réunis pour l'enregistrement du 6e volet de l'Entrepode. Aujourd'hui autour de la table, elle parle fort mais c'est même pas fatigant. Elle parle parfaitement anglais et c'est carrément écœurant. La prof que j'aurais voulu avoir quand j'étais tout petit enfant. Elle est une femme tout simplement, j'ai nommé Didouille.
Oh, merci.
Il parle doucement et c'est enivrant, il parle parfaitement l'anglais et chez lui c'est carrément pas déroutant. L'agent du fisc que j'aurais voulu avoir tellement qu'il est attachant. Il est le mec à Didouille tout simplement, j'ai nommé Lulu. Il a la voix douce, posée d'un grand enfant, il parle français couramment, il sait dénicher des sujets pas du tout ordinaires et très intéressants. Le bassiste qui partage ma vie musicale de temps en temps, j'ai nommé Christophe.
Pas que.
L'invité du jour est deux, ce qui pourrait paraître étonnant. L'un a la tête remplie d'imaginaire, ce qui le rend scénariste passionnant, l'autre manie les bulles et le crayon sur papier blanc avec grand talent. Ils ont réuni leur passion pour la BD dans un seul et même élan. J'ai nommé Cédric et Laurent.
Hello. Bonjour.
Il a loupé quelques enregistrements, il nous a manqué, mais a décidé de revenir. Il était temps. Le quiz de l'Entrepode va pouvoir reprendre car sans vie, lui était inintéressant. Je me suis planté. Son sérieux va relever le niveau décadent. J'ai nommé Freddy.
Salut.
C'est la voix de Kenki, vous connaissez, un groupe épatant. Elle relève le défi du détesté pour vous, dangereux de temps en temps. Elle sait mettre la bonne humeur avec son sourire éclatant. C'est certainement à cause de Nico, ça fait 7 ans. J'ai nommé Starlette.
Hello.
Et il a eu l'idée d'un podcast un matin en se levant. Il a réuni des amis et leur a demandé s'ils étaient partants. La totalité a répondu présent. Nous le suivrons corps et âme dans cette aventure, comme s'il était notre dieu vivant. Je lui laisse la parole et me tais pour le moment. C'est à toi, Nico.
Oh la vache.
Tiens.
Je comprends, tu te couches tard.
Le plus compliqué, c'est de respirer.
Bah oui, tu m'étonnes.
Mais pourquoi c'est pas la rime en
ouais.
Ouais.
Alors moi, par contre, il y a.
Alors, et pas tant.
Il y a un verre qui était en 11 pieds.
C'est voulu. Ou...
C'est quoi ce.
C'est ce qui est curieux, c'est que ça passe toujours mieux tout seul. Et
en mais fait, t'inquiète là, pas, faut pas que ça te travaille.
Mais c'est très bien passé.
Alors, attends. On...
Tu t'es présenté, Marius.
Je suis pas sûr que tu te sois présenté.
Si, si.
Mais la dernière fois,
je me présente toujours.
À la prochaine fois, je te présente, tu veux?
Il a failli s'étrangler là.
Non, je commence toujours. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi. C'est Marius qui vous parle.
Ah, c'est ouais, vrai. Bah c'est léger quand même la présentation par rapport
pas.
À nous.
Ouais, mais j'ai pas de temps. Après.
Bon, bref. Prochaine fois, cela étant, Marius.
Ok. Et ben en tout cas, merci Marius parce qu'à chaque fois c'est déroutant.
C'est déroutant, c'était pas tant, c'est formidable.
Surprenant. J'en tombe de ma chaise. Donc on a encore un Marius au top de sa forme. Hein, qu'il avec qui bosse.
On essaye.
Bosse ses intros, pas trop le reste, mais les intros,
au moins
c'est pas
bosse.
Oui hein. On viendra à ton cas plus tard. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez pu l'entendre dans l'intro de Marius, nous sommes au complet puisque Freddy est de retour parmi nous pour notre plus grand plaisir.
Yeah.
Ouais. Et donc pour cet épisode, vous avez pu l'entendre aussi, nous ne recevons pas un, mais deux invités qui ont également la particularité d'être deux frères. Donc pour les gens qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, ne vous inquiétez pas, c'est pas Laurent Doucet. Private joke que certains comprendront. Nos deux invités sont Laurent et Cédric Valentin qui vont nous parler de bande dessinée. On verra tout à l'heure à quelle occasion. Et puis s'ils veulent intervenir à n'importe quel moment, ils ont un micro, on ne le coupe pas. Donc n'hésitez pas.
Petite blague vaseuse.
Bravo. Ça manque d'applaudissements. Notre entrepôt. Oui, c'est ça, en fait, on peut pas.
Pas de pied de micro, en fait.
Ça manque de pied de micro.
Ouais, voilà.
Y a pas de, voilà, il manque peut-être de pied de micro. Voilà, donc au sommaire de ce numéro, un petit retour sur les épisodes précédents, si on a des petites choses à dire. Un petit tour d'actu sur ce qui a attiré l'attention de nos chroniqueurs. Nos deux invités, qui nous présenteront donc un sujet sur la BD. Le moment de la rubrique Abra, où on présente divers sujets. Starlette a testé pour nous, cette fois-ci.
Le meilleur ami de son mari.
Et elle aime ça.
Ça continue comme ça, Ludo. Je te lis tout de suite. Je quitte cette table. Bref, elle nous dira ce qu'elle présentera.
Ce qu'elle en a pensé.
Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et enfin, je ne sais pas si Didouille a une séquence pour s'endormir moins bête cette fois-ci.
Alors, Didouille, elle a été
ça,
très
ça
prise.
Ça sent le nom.
Ça sent l'excuse.
Ça sent le nom. Bon, il n'y en aura pas. C'est pas grave.
Voilà. Non, okay. J'ai été prise par les municipales. Vous pouvez pas vous m'en vouloir.
Non.
Voilà.
Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas.
Non, bah, okay.
Et puis, je ne sais pas si Ludo, parce que dans la famille, on n'a rien fait. Est-ce que tu as une séquence post-générique?
J'ai une séquence post-générique.
Oh, oui. C'est beau.
Mais c'est une séquence post-générique triste, je le dis tout de suite.
Oh.
Mais oui. Voilà.
Et puis, c'est pas une famille qui n'a rien fait. Hein. Il a monté mon nouveau vélo.
Ah bon, j'ai monté le nouveau vélo.
C'était une imitation de Bourville ou
je sais pas.
Ça fait 4 fois qu'il y a la case.
Très bien. Et ben, en tout cas, après cette petite présentation et cette intro, je vous propose de passer tout de suite à la rubrique Retour sur les épisodes précédents.
Résumé de l'épisode précédent.
Pour ces résumés, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire sur les épisodes précédents? Didouille, vas-y. Bah
pourtant, c'est pas noté sur le conducteur.
Ouais, c'est marrant, le conducteur est désespérément vide, je ne comprends pas.
Freddy, si t'es revenu pour faire la balance, hein?
Je l'ai sous les yeux.
Ben oui, non, mais je voulais parler de mon retour, puisque là, à l'épisode précédent, j'avais signalé que j'allais voir Woodkid en concert.
C'est vrai.
Ah ah ah! Donc je suis allée voir Woodkid en concert! Et c'était géant! Franchement, super! Je m'étais dit, c'est quand même des musiques où, à écouter, tranquille et tout. Il nous a fait donc tout l'album, quelques nouveaux titres avec des visuels absolument super projetés dans le fond de la salle. Et il a su mettre une ambiance de folie. Alors j'ai même fait des petits films que je pourrais peut-être te donner, Nicolas, à l'occasion.
Si tu veux, ouais, pour aller les poster.
Et franchement, c'est un concert qui était super dynamique, qui avait de l'énergie, de la sensibilité, de l'émotion. Bref, Woodkid, j'achète.
Magnifique.
Est-ce qu'il y avait l'orchestre symphonique avec?
Alors, il n'y avait pas l'orchestre symphonique. Par contre, il y avait trois cuivres. Il y avait deux percussionnistes. Il y avait un clavier. Et tout ça était pas chorégraphié, mais c'est vrai que les percussionnistes jouaient en total synchro.
C'est vrai que les musiciens les jouent ensemble. Non, merde,
c'est mieux.
Ah, ça va le coup d'aller. Alors
ça doit être des super musiciens.
Ça va le coup d'aller voir.
Ils doivent être vraiment bons, les gars.
J'entends dans
ça vous dit d'essayer un jour?
Nous, on n'y arrive pas encore. Nous, on joue désynchronisé, c'est ce qui fait notre force.
Non, j'entends dans la gestuelle, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un visuel. Voilà.
Je visualise d'autant mieux que je l'ai vu il y a un an et demi au Grand Rex. Et pour le coup, il y avait l'orchestre symphonique et tout ce que tu racontes là. Et c'est vrai que c'était génial, quoi.
Voilà.
Donc, ils jouaient en même temps aussi?
Magnifique.
Magnifique.
Non, par contre, ils jouaient décalé là.
C'était autre chose. Mister Lulu? Something?
J'avais pas fini.
Là, t'as pas fini, pardon. Pardon, il me fait des grands gestes derrière, vas-y.
Bah oui, mais bon.
Il me fait des grimaces maintenant. Je sais pas.
Et je voulais aussi signaler la première partie de Woodkid. C'est une jeune artiste du coin qui s'appelle Talisker, qui s'accompagne avec un violoncelle et une guitare, et qui a vraiment un univers très, 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 comment dirais-je, poétique et onirique. Ça pourrait. Enfin. Alors, je sais pas. Alors, ceux qui entendent et qui connaissent Talisker vont peut-être. Mais moi, j'ai pensé plus. Ça me faisait penser à Émilie Simon, en fait, dans l'idée. Et c'était. C'est une prestation scénique qui est très, très énergique parce qu'elle passe d'un instrument à un autre. Elle joue avec les loops, en fait. Elle s'enregistre. Et franchement, c'était super joli aussi.
Ça
donc, voilà. Si jamais vous voulez vous renseigner, allez voir Talisker comme le whisky.
Éléonore Chaumont, de son, de son nom. De,
parce que toi,
ville.
Tu connais, toi, t'es dans.
Oui, je l'ai invité à jouer. Oui, oui, oui. Non, je confirme, elle a beaucoup de talent. Niveau, ouais. Elle a aussi, je vous invite aussi à la voir avec un garçon qui s'appelle Johan Asherton, qui est rouennais lui aussi, qui est un vieux de la vieille, qui joue de la musique folk, un peu de blues, et elle l'accompagne au chant. Elle fait que du chant, pour le coup, et c'est aussi très, très bien.
Elle a une voix très, très, très aiguë, crispée. Très cristalline, j'allais dire. Et qui va très bien avec son instrument, le violoncelle. En fait, il y a des contrastes qui sont très intéressants. Mm-hmm. Et franchement, on a passé une première partie très agréable.
Moi, j'ai une petite question sur Woodkid. Tu dis qu'il a joué tout l'album, mais oui, du coup, c'est l'invité qui parle. il a joué tout l'album, certes, mais est-ce qu'il a joué autre chose? Parce que du coup, l'album il commence à dater quand même.
Oui, oui, il a proposé 4 nouveaux morceaux, dont un qui est... où il nous a demandé si Rouen voulait danser. On a tous répondu oui. Et là, il a envoyé un truc juste énorme où tout le monde a bougé, tout le monde a dansé avec un visuel.
Parle bien dans ton micro.
Tu fais faner ton micro, Guidouille. Non, mais je suis de la gueule, je crois. noir et blanc, en fait, c'est le fil conducteur. Et sur ce titre-là, en fait, ils ont envoyé des lumières rouges. Et il sautait comme un cabri dans tous les sens et il mettait une patate d'enfer. C'était super. Ce morceau-là, il m'a marqué parce que le 106, je le connaissais pas aussi.
Super sale d'ailleurs.
Le Zénith de Rouen, c'est chiant. Je trouve que les gens, ils sont chiants à mourir. Ça bouge pas. Autant
ça
le 106.
Ça dépend quel concert.
Tu vas voir, oui, voir Frank Michael, forcément. Bah oui.
Comment tu dis Frank Michael?
Michael.
Oui. Frank Michael.
Moi, je le dis à l'américain.
T'essayes de le faire tendance. Même comme ça, ça passe pas.
Frank Michael.
Donc voilà.
Très bien.
Là, c'est fini, Ludo. Tu peux enchaîner.
Ludo.
Oui, non, mais c'est pour revenir sur une news de Didouille d'il y a quelques mois.
I know.
Oui, quand même, hein, il faut quand même en parler. C'est le fameux event Game of Thrones qui devait se dérouler à Carcassonne.
Oui, j'ai entendu parler. Ah,
qui est parti en torche.
Ouais. C'est annulé, c'est ça?
Deux jours avant.
Deux jours.
Alors, j'en parle très rapidement. Je veux surtout faire un petit. Il y a eu un excellent article qui est paru sur le site Daily Mars, qui retrace un petit peu le tout l'historique et puis
merci Nico
et puis non mais c'est vrai
et ouais, j'ai plus pour rien.
Et okay. qui essaie d'avoir une approche extrêmement la plus objective possible sur ce qui a pu se passer et qui à la fois est allé interviewer des gens qui étaient de l'organisation et puis également des gens qui étaient parmi les commerçants qui était à Carcassonne, et également bah,
des fans
qui se sont retrouvés floués, parfois jusqu'à des fois, c'est des prix, entre le pass, entre l'achat de photos,
l'hébergement,
le voyage.
Est-ce qu'on sait pourquoi en fait.
Il y a des gens qui ont claqué jusqu'à 1500 euros.
En fait, il y a une banque qui les a lâchés sur un prêt.
Oui,
si.
Il y a surtout une actrice qui est pas venue.
Une actrice qui finalement s'est désistée, c'était Circé. Cette actrice.
Même dans la vie, c'est une salope alors.
Lena Headey.
Ça c'est non, procès. Hein,
après,
ça.
Attends. Après, c'est procès, ça. La question. Bon, elle s'est désistée effectivement. Et après, il y a une espèce de spirale. Mm. Cela étant, quand tu commences à regarder, quand tu lis l'article, tu te dis quand même que c'était quand même très très chaud parce qu'il y avait un tas de choses qui étaient pas encore au point. Manifestement, même la ville, la municipalité s'étonnait de mesures de sécurité qui étaient même pas du tout encore prises. Ils étaient pas au courant. Il y avait plein de. Vas-y.
Je sais pas si tu te souviens, on avait déjà émis quelques doutes à l'époque. Oui, on en avait parlé.
Est-ce qu'ils vont rendre l'argent ou pas?
Alors là, ils sont en liquidation judiciaire.
Et donc les gens qui ont contribué, ils ont.
Alors,
c'est fini pour eux quoi.
Le principe, c'est que la liquidation judiciaire, ils remboursent les créanciers. Donc après, si tu veux, c'est en fonction des dettes qu'il y a à rembourser. En fait, après, c'est au prorata des créanciers. Et généralement, ce genre de choses-là. A priori, il y avait déjà eu une. Alors, je me souviens plus du nom de l'événement qui avait déjà eu lieu comme ça, où il y avait eu une affaire similaire. Les gens n'avaient rien récupéré. Donc. Après, à suivre. Hein. De toute façon,
t'imagines parce que tu pouvais aller jusqu'à 700 euros. Hein.
Alors,
qui a mis 700 euros, il doit avoir.
Ce qui est assez terrible, c'est l'effet d'Internet, c'est qu'en fait, ils ont annoncé ça donc deux jours avant. Alors, il y a une espèce c'est qu'il y a une vague de protestation, mais le mot est faible, sur le site Facebook, sur la page Facebook donc de l'event. Et ils ont été obligés de fermer la page Facebook jusqu'à des menaces, en fait, des menaces physiques. Des choses assez violentes, à tel point ils ont diffusé un communiqué sur une page. Ils ont fait une page, ils ont diffusé un communiqué. Et ils étaient trois, en fait, trois dans l'organisation. Et il y en a un qui s'en remet toujours pas, d'ailleurs, parce qu'il a été directement menacé, quand même. Donc, et là, celle qui s'occupait de ça, elle était injoignable. Je pense que ce qui a été très difficile, c'est qu'en fait, à partir du moment où les gens ont commencé à se poser des questions, plus personne n'était joignable.
C'est silence radio. Ouais,
bah c'était silence radio.
Il paraît qu'elle aurait acheté une maison aux Maldives.
Premier sur l'info, l'entrepode.
Mais comme on disait, effectivement, tu as raison, Freddy, c'était déjà. Mmh. Ils n'avaient pas réussi à réunir les sous à l'époque, quand ils avaient lancé une
souscription.
Ils avaient dû réunir, je ne sais plus combien, ils avaient besoin de 75 000 euros et ils avaient dû réunir peut-être quelque chose comme 16 000. Du coup, ça avait été fermé, la souscription. Mais comme il y avait eu un petit buzz médiatique, ils avaient décidé de rebondir dessus et de jouer là-dessus pour essayer de créer l'événement. Mmh. Manifestement, ça n'a pas suffi.
Bon.
Voilà.
Donc, je ne verrai pas Tyrion.
Non. Et cela étant, il y a une séance dédicace qui va se dérouler sur Paris ou qui a eu lieu, je sais plus, avec des acteurs. Donc, comme quoi, qui va avoir lieu, je crois que c'est ce week-end, etc. Et qui coïncide aussi avec la prochaine saison qui attaque la semaine prochaine.
Le 6 avril.
Ouais. Donc, la saison 4 qui démarre le 6 avril. Donc, bon.
Juste un mot, parce qu'on parlait de l'INAIDE. En fait, elle a dû, a priori, elle avait des obligations, mais parce qu'elle est sous contrat avec HBO, hein, donc c'est pas non plus, elle décide pas forcément les choses juste pour planter les gens. Mais
puis il y a la sortie de 300, elle doit être dedans.
Oui, oui, ouais. Tout à fait. Oui, elle est dedans.
Je sais plus comment ça s'appelle. La naissance d'un empire. Donc bon, il y a peut-être beaucoup de choses qui se télescopent et des droits qui sont peut-être. Il suffit pas d'être fan pour pouvoir faire venir quelqu'un, quoi.
Oui, donc, ouais, tout à fait.
J'aime bien ce que Didou il part poser une question hors micro.
Non, parce que je ne voulais pas être ridicule. J'ai demandé à Ludo si elle était déjà dans le premier 300. Oui, il me semble qu'elle joue la femme,
la femme de
l'acteur
c'est
principal.
C'est elle qui demande à Léonidas si elle veut bien lui terminer ce que il est bon que je vais commencer.
Oh oui, j'adore cette phrase.
Vas-y, Pépère, finis le boulot que t'as fait déjà avec tes mains là.
Tu résumes bien.
C'est beau. C'est beau.
Freddy, oui.
Ouais, juste très rapidement, je ne l'avais pas noté, donc ce n'était pas prévu, mais juste pour signaler la sortie du numéro 3 de la revue dessinée en kiosque actuellement, au prix de 15€. C'est toujours très très bien, je vous le conseille toujours.
Ou 3,50€ sur l'iPad.
Absolument.
Je fais aussi, mais c'est dans les deux cas, c'est très bien. Et...
En tout cas, c'est moins galère sur l'iPad, parce que quand tu vois qu'il y a très peu de presse qui la distribue, cette revue...
Tu la trouves quand même...
Moi, c'est difficile à trouver, parce que moi, ça fait un moment que...
On habite la campagne,
tu vas à la FNAC,
monsieur.
Voilà, c'est ça.
Vas...
Si tu veux, j'ai commencé à la chercher dans un périmètre autour de chez moi, et en fait, on ne la trouve pas, donc je suis obligé d'aller dans des magasins spécialisés, entre guillemets.
Ceci dit, ils sont assez réactifs sur les réseaux sociaux. Tu peux peut-être
leur demander,
me signaler, si envoyer un petit message.
Parce que moi, je leur avais fait part de 2-3 bugs sur la version iPad. Ils répondent, ils les prennent en compte, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont à l'écoute de leur lectorat, quoi. Donc pour améliorer l'expérience, quelle qu'elle soit.
Non, mais je pense que je vais finir par m'abonner, parce que...
Oui, une autre solution,
oui. T'as l'air de te rendre bien triste, en tout cas.
Oui.
Si vous voulez vous abonner, faites comme Christophe. Droupi.
Au pire.
en tout cas, c'est vrai qu'il est très bien. Moi, j'ai lu que le début, l'histoire des mouches, c'est hallucinant.
Ouais, enfin,
c'est,
j'ai lu aussi.
C'était impressionnant. Pour l'instant, j'ai lu que deux trois trucs. J'en suis à un petit tiers, mais c'est vraiment super intéressant. D'autres tours sur les épisodes précédents? Non. Bah moi, j'en ai un petit. Je voulais revenir sur ce que j'avais pu dire concernant Lord. Je sais pas comment ça se dit, Lord. Puisque j'avais dit que leur morceau, enfin son morceau, je sais pas si c'est une personne ou un groupe, était inintéressant, sans relief, que ça me parlait pas, etc., que c'était un peu nul. Bon, je suis toujours un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais mais par contre, je dois reconnaître que la chanson a une certaine qualité, puisqu'elle inspire beaucoup de gens. On a pu le voir avec Starlet, on a écouté l'épisode 121 du Wewesh de Walter Proof, où il consacre toute une rubrique sur les différentes reprises qu'on peut entendre, qu'on peut être faites. Et là, on voit qu'un morceau, ce qui fait aussi son succès, c'est la façon qu'il peut avoir d'être repris. Et vu le nombre de reprises qu'il peut y avoir de ce morceau, je trouve que j'ai peut-être loupé quelque chose, parce qu'il doit quand même y avoir quelque chose. Donc je vous en passe.
Il me semble quand même que Kenki Yu l'a repris lors d'une répète.
Oui, c'est vrai, absolument.
C'est un peu vrai, ouais.
Donc là, c'est un jeune homme qui la reprend juste... avec sa guitare. Donc uniquement version instrumentale.
Acoustique, tu voulais dire.
Là, il est tout seul. Non, mais uniquement instrumentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chant. Il passe, Donc avec la guitare percussive. Donc quelques vidéos comme celle-ci.
Hop, ce qui prouve que la musique est bonne, parce que...
Oui, non, mais c'est exactement ce que je vous disais. Hein,
Alors, la musique est bonne, elle donne, tu sais.
une autre version qui est reprise par Pentatonix, qui est un groupe a cappella assez connu. Donc, je vous montre en même temps la vidéo. Donc là, c'est sans instrument, il prend la bouche.
Moi, je fais ça, I've never seen a diamond in the
flesh. C'est sympa, ça. Donc Pentatonix, vous pouvez les voir sur YouTube, ils ont plein de trucs très très intéressants.
Ils font plein de trucs
très jolis.
Ils ont chacun un timbre de voix. Ils prennent du Daft Punk et des choses comme ça, quoi.
C'est l'harmonie là, l'harmonie des voix est super. Il est chaud là.
T'as vu, ils sont ensemble là aussi.
Ils sont synchronisés, disons.
Petite chose.
Une version un petit peu différente. Alors j'avance un petit peu.
Le clown, tu l'as, le clown blanc?
Non, on l'avait déjà passé. Alors là, c'est version country.
Non.
things in the movies. T'as l'air bien emmerdé avec ton...
Bah oui. And I'm not
proud of my dreams. Version redneck. Vous allez voir, ouais, non, vous allez voir, c'est assez, assez particulier. No postcode envy. But every song is like gold teeth.
C'est là. Ah bah j'adore ça.
Ah, ça sent le fumier.
C'est toi peut-être. Je t'entends ce morceau pour la première fois en version country, ça, ça passe très bien.
Ah mais c'est terrible, ouais, c'est excellent ça.
Et puis après il y a, enfin, il est vraiment bien, bien écrit en fait. Enfin, les arrangements sont vraiment. On pourrait croire qu'il a été écrit pour ça en fait.
Comme quoi effectivement la musique à la base est bonne.
Oui voilà.
Comme ça, elle peut être reprise à l'infini.
C'est peut-être parce que la musique est facile finalement.
Oui.
Aussi.
Voilà, et puis j'ai un autre morceau, mais hop, je vais passer d'une autre manière. Ce son, c'est repris par Walk of the Year, of the Earth, pardon. Vous allez voir, alors ça c'est assez impressionnant.
Ah, Marius, si tu sais pas prononcer.
Oui, pardon, Marius, comment ça s'écrit? Alors là, c'est à voir aussi, hein, vraiment,
oui,
parce
ouais,
que vous allez voir,
chouette,
c'est.
Et alors il y a Enora Malagré qui joue dans ce groupe.
Qui se déshabille.
Il y a Cantona aussi.
Et vous allez voir, enfin, il y a une mise en scène, il y a tout ce qui...
En rouge.
Ah c'est terrible ça.
Il faut le voir en même temps.
Ah ouais,
c'est
voilà.
Vraiment génial.
Je mettrai les liens sur le billet du blog. Il y a toute une mise en scène.
Il n'y a pas une petite reprise métal ?
Oui, il y avait une reprise métal. Il y avait une reprise punk métal, mais je ne l'ai pas mise. Je voulais pas froisser tes oreilles, Christophe.
Non, mais justement, je disais ça sérieusement.
C'est pour dire que c'est repris vraiment. Il y a des groupes de punk qui reprennent ça. Enfin, c'est... Donc effectivement, le.
Excellent celui-là.
Voilà ce que je voulais vous.
Mais en même temps, tu sais, cette chanson-là, c'est trois accords. Hein.
Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire.
Ce que après, c'est trois accords qui. Donc après,
qui tournent
après
en boucle.
C'est juste l'arrangement de.
Exactement,
de la
c'est la façon
c'est ce que tu veux dessus, en fait.
Le jouer, donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur le billet du blog de Walter. Je mettrai en lien. Vous pouvez écouter tous les albums de Walter parce que c'est, un, c'est des choses où on découvre plein de créations de ce type. Donc, oui, Didouille.
Oui, alors je rebondis. Puis-je pour dire que Woodkid lui a fait un remix de la chanson Happy de Pharrell Williams qui s'appelle oui.
Ah c'est celle-ci.
C'est
oui.
Le Sad Remix.
Ah,
je vous invite à l'écouter. C'est
semaine.
Sympa comme tout. Moi j'adore.
Qui a priori est pas mal. Oui. Donc Christophe Chou.
Ça faisait longtemps.
Qui se balade.
Donc eh ben, suite à ces premiers retours, je dirais en interne, je vais vous faire quelques petits retours qu'on a pu glaner sur les réseaux sociaux de nos auditeurs, nos poditeurs, les gens qui nous écoutent. Donc on a forcément Monsieur Obi, hein, notre
nouveau
poditeur,
fan,
l'homme
nouveau
fan, l'homme au slip, David Hasselhoff, qui était surpris de...
Quand on n'a pas suivi, ça fait un peu bizarre. Quand même.
J'ai des gens bizarres qui veulent
l'homme au slip, quoi.
Donc en fait, qui nous disait que 2h43 d'émission, a priori, ça lui faisait un petit peu peur, mais qu'au final, en plus des animateurs, l'invité était incroyable et surtout très intéressant. Donc
c'est
effectivement,
pas faux.
Ça, c'est
vrai. C'était pas
on a
faux.
Vraiment eu un...
Coup de pression pour vous, les gars.
Ah ouais, là, c'est clair.
On avait un sacré invité la dernière fois. Et donc, il y a la fille de Monsieur Obi, un commentaire en disant « Mon père est en train de devenir une mascotte avec son slip de David Hasselhoff. » Voilà.
Ouais, c'était David Hasselhoff l'invité.
Non.
C'est son avatar.
Et donc pour revenir, après on a tout un sujet sur Jean-Edouard la dernière fois, donc avec ses anecdotes hallucinantes.
Qui a fait la transat Jacques Vabre.
Qui était passionnant, même si il a pas donné envie aux gens de partager sa passion. bizarrement, continuer une transat avec une tête défoncée, faut pas être un marin d'eau douce, c'est clair. Donc,
c'est un peu explosé les chicots, c'est pour
donc
ça.
C'est vraiment des.
Pas
que les chicots d'ailleurs.
Et même en dehors de ça, c'est quand même super.
Et dans l'absolu,
quoi.
C'était vraiment quelque chose de très intéressant et que globalement, les gens étaient assez passionnés par notre dernière invitée. Elle m'était qualifiée de Kersozon Soft. Alors j'ai dit à la personne qui m'a dit ça que c'est parce qu'il connaissait pas bien Jean-Edouard. Soft, c'est pas ce qu'il caractérise le mieux. Clair. Mais en tout cas, il a réussi à faire bonne illusion ce jour-là. Et puis on a eu un message sur notre site parce que bon j'ai fait une petite petite merde pendant le mois et on a perdu tous nos commentaires. Donc on a un nouveau commentaire de La Mise à Feu.
On a un commentaire du coup.
Qui nous. Voilà, exactement. Qui était très satisfait de nous avoir écoutés. Donc c'est vraiment, vraiment sympa d'avoir les retours des gens. Quand ça marche pas aussi. Hein, quand au début, on avait beaucoup de retours sur nos problèmes de son. Maintenant, on a plus des sujets sur le fond, donc tant mieux. Et puis j'en profite pour rappeler un petit peu que sur le blog, on peut retrouver, parce que c'est vrai qu'on a discuté avec Christophe, tous les liens vers les sujets qu'on présente, mais aussi la playlist des musiques qu'on présente, puisqu'on a un peu tendance à parler dessus. Donc c'est pas toujours évident de se faire un avis, mais il y a toujours la playlist qui est disponible via Spotify, donc il n'y a pas de problème pour y aller. Et puis j'en profite pour faire un petit message aux amis de Didgeridoo, on en parlait tout à l'heure avec Freddy. Qui nous font régulièrement des clins d'œil dans leur podcast et puis qui viennent de fêter leur un an d'existence. Donc nous on les suit de
quelques mois.
Donc bon anniversaire à Didgeridoo. Et puis ils m'ont invité à participer modestement à leur dernier épisode. Donc je leur fais un petit clin d'œil en retour.
Ouais.
Et nous
en même temps moi je dis ça mais c'est pas le plus beau Nico.
Ça a eu lieu quand?
Ils ont enregistré la semaine dernière. Je leur ai envoyé un truc par MP3 qu'ils ont intégré. Donc mais ils sont vraiment très sympas.
Enfin,
voilà. Non mais je
mais moi aussi j'avais calqué que t'avais
en fait avec eux quoi. Je crois qu'ils sont dans le sud, donc ça fait un petit peu loin.
Putain, voilà. Tu prends deux jours de vacances
là-bas. Le sud, c'est sud. Truc de dingue. Voilà, donc un petit peu les retours sur ce qu'on a pu présenter depuis quelques temps. Et donc maintenant, je vous propose de passer directement à l'actu.
Salut la compagnie, ça va ?
C'est pas grave. Eh bien, puisque je viens de prendre la parole pendant un petit moment, je vais laisser la parole, par exemple, tiens, à Freddy, qui avait un petit sujet d'actu.
Oui, tout à fait.
Donc, Freddy, nous t'écoutons.
Alors, ça m'arrange pas trop que tu commences par moi, parce que j'ai pas encore ouvert mon fichier Word.
Oh mince alors. Oh, c'est pas de bol.
Mais je vais improviser.
En même temps, comme personne
n'a tous les trucs que des coulisses.
Le problème, tu sais, Freddy, comme personne n'a rempli le conducteur comme il fallait, moi, il y a que toi et moi qui l'avons.
Alors,
le
problème,
Freddy, tu l'as pas eu non plus.
Ah si, Marius, c'est vrai.
Eh oh.
Mais Freddy est prêt maintenant.
Je suis prêt, tout à fait.
Mais moi, tout le conducteur est dans ma tête.
Tout le conducteur, il est ailleurs.
Ok. Freddy, ne te laisse pas déstabiliser.
Bah ouais,
fonce champion.
Après ça.
On essaie de lui faire gagner du temps.
Non, ça y est, je suis prêt. Je vais vous parler d'une actu BD. Alors, ça tombe bien. Peut-être ça va même vous intéresser. Je sais pas. Je voulais vous parler d'un album qui s'appelle Inoxydable, réalisé par Steve Baker et Sébastien Flock. Figurez-vous que Steve Baker habite à deux rues de chez moi.
Sans déconner. Mais tu connais tout le monde, toi.
Incroyable.
Non, c'est le hasard. Voilà, donc Steve Baker, c'est un jeune illustrateur, scénariste et coloriste. Je dis jeune parce qu'il a mon âge. Hein.
Ah ouais, donc ouais, quand même.
Jeune comme
c'est
ça.
Un illustrateur, quoi.
Il est connu du grand public pour avoir réalisé les planches de la vie en slip. Je sais pas si ça vous parle. Ou
on parle beaucoup de slip aujourd'hui.
Ouais. Je l'ai à la maison. Je l'ai à la maison.
Tu l'as à la maison. Donc il y a trois tomes, si je dis pas de bêtises.
Pardon ?
Oui, il y a trois tomes. C'est ça.
J'en ai qu'un, désolé.
D'accord. Mais il va pas être très content, mais bon. Ok. Donc c'était dans le journal de Spirou, mais c'est aussi sorti en album entre 2009 et 2012, trois tomes. Cette fois, c'est différent, Inoxydable, du nom de ce nouvel album. Est-ce qu'on le voit bien à l'antenne ?
Ouais.
C'est bon.
C'est une histoire.
Un petit reflet avec l'éclairage, mais ça va aller.
C'est une histoire qui raconte une traque dans un futur peuplé de robots et de mauvais sentiments. Deux prisonniers qui s'échappent de leur geôle pour aller sauver un super-héros lui-même kidnappé par des méchants. Évidemment, tout se passe pas comme prévu et c'est bien tout ce qui donne son piment à l'histoire. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet album parce qu'il est bien écrit, bien dessiné. C'est pas toujours le cas pour tout ce qu'on lit là. Il se trouve que ça fonctionne bien, que les personnages sont très travaillés et qu'on est tout de suite plongé dans cet univers futuriste et singulier qui moi m'a bien plu. Je vous le conseille évidemment.
Les deux frangins se sont jetés dessus.
Ça s'appelle Inoxydable, c'est sorti chez Casterman. Ça coûte entre 13 et 15 euros selon l'endroit où on l'achète. Voilà mon actu.
Mais effectivement, ça a l'air sympa. Et puis moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Il est passé dernièrement sur une chaîne locale, la chaîne normande.
LCN, tout à fait.
Et il a l'air en plus très sympathique comme garçon.
Oui, ça lui a valu quelques moqueries sur l'habillement, la coiffure.
Ah bah, LCN, enfin bon. Bref, quand tu vois le présentateur, c'est un peu.
Ça
n'a pas de vue par les trop jeunes, quoi.
15 euros, mais 102 pages, je vous précise.
C'est un bel objet avec un beau vernis sur la couverture.
Ils sont bons.
Non, mais il est. Enfin, franchement, il m'a donné envie de lire son bouquin parce qu'il le vendait bien.
Ça, c'est mon parfum, parce que j'ai un peu frotté sur moi.
Il est venu en vélo, donc il l'avait sous le t-shirt. C'est pour ça que ça colle un peu aussi, la couverture.
Il se frotte, mais c'est vrai qu'il a l'air très
sympa. Je sais pas si tu connais, toi.
Non, je connaissais Steve Baker, mais je connaissais pas cet album-ci. Par contre, je connais Kester.
Il vient tout juste de sortir.
Il est sorti le 12 mars, je crois.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'en général, chez Kester, on trouve quand même des trucs vraiment très, très différents. Et souvent très intéressant visuellement, comme au niveau du scénar, ça, c'est assez large. Très, très sympa.
Très bien. Bah, on mettra les références sur le billet. Je propose à monsieur Marius de prendre la suite.
Donc, Love Letter, Métronomie simple, prenant, excellent. Première fois que j'ai entendu le groupe.
Ah, tu parles du groupe Métronomie.
Ouais.
Oui, d'accord. Non, mais parce que Love Letter. Bah, t'as fait Love
Letter, c'est le.
Letter, Métronomie. Donc, du coup, vous savez pas quel groupe.
C'est le prompteur, c'est le prompteur.
Normalement, vous m'attaquez en milieu de.
Non, on a décidé d'attaquer au début.
On attaque d'entrée.
On t'attaque quand on veut d'abord.
Tu as une thématique en ce coup-ci, puisque je vois.
Et ta mère est pas là, donc on en profite.
Donc voilà, simple, prenant, excellent. Et c'est vrai que j'ai même pas fait attention que ça reprend encore les conneries que j'ai dit dès le départ. Donc la première fois que j'ai entendu le groupe il y a moins de 3 semaines sur le grand journal de Canal+, je me suis dit, à la première écoute, bah merde, autant de bruit pour ça, franchement, c'est naze. Et là, je veux rebondir...
Ah, on se rejoint alors.
Ouais. Là, je veux rebondir sur, à chaque fois, je dis la première écoute. Et en fait, oui, moi je voudrais rebondir là-dessus parce que la première écoute, cette fameuse première écoute que j'aime citer dans quasiment tous les entrepodes sur Claire Diterzi, Jeff Barbara et ce jour sur le dernier album de Métronomie. Alors, ben moi je voulais dire, qu'est-ce que c'est que cette première écoute ? C'est difficile à comprendre. Ben, pour moi, la première écoute, c'est un morceau qui ne nous fait aucun effet, rien, nada, que chi, sur le premier ressenti et que par hasard, lors d'une seconde écoute, comme par magie, tout se transforme, tout devient différent et là tu te dis, ouah, putain, cet album-là, c'est une jouissance auditive. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les albums cités plus haut, donc de Claire Diterzi. À chaque fois, c'est la même chose. La musique, pour moi, c'est une émotion forte, intense et qui me procure un bien fou au plus profond de moi. J'en ai besoin.
T'as fait dans ton slip, quoi.
J'en ai besoin.
Vous avez
le
mot à chiaser dans toutes les rubriques, en fait.
Ouais, mais. Bah c'est ça, t'as compris.
C'est vrai que slip, on le dit quand même.
Non, mais voilà,
c'est
moi,
le mot du jour.
J'ai besoin de ça en fait. Et en fait, c'est une émotion. C'est vrai que la seconde écoute, quand je l'apprécie et qu'elle me donne un truc super fort, pour moi, c'est vraiment fort et je peux écouter ça sur des semaines. Donc aujourd'hui, vote pour les municipales, c'est Love Letter de Métronomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? En gros, c'est un synthé bon tant pis, une boîte à rythme à 2 balles et la voix du cerveau compositeur de la bande anglaise Joseph Moon qui transforme une troisième fois un essai remarquable un essai remarquable dans le monde de la pop musicale. Allez voir, on les croit, est sorti d'un film d'Austin Powers resté bloqué dans les années 70, tant dans leur style vestimentaire que dans leur composition détachée de toute règle musicale pour nous offrir ce chef-d'œuvre de simplicité que l'on croirait joué à un doigt par un enfant qui commencerait à apprendre le solfège. Mais là, tous les éléments viennent se greffer les uns aux autres pour offrir aux oreilles
en fait.
Un changement dans le temps, un retour un retour de 50 ans en arrière.
Mais t'as aimé
où
ou
les
pas,
cheveux longs des hommes, pas de def, d'une serrée moule-boule ne gênaient personne. Effectivement, voilà, c'est ce que m'inspire cet album, c'est mon ressenti à moi, il ne pèse pas grand-chose dans la balance, mais ça m'a fait plaisir de vous le faire partager.
J'ai beaucoup aimé la façon dont tu as écrit le titre de ce morceau-là sur le conducteur.
Non, mais alors, ça aussi, il faut que je m'explique.
Ah bon,
en fait, à chaque fois, avec le...
Ouais, c'est la correction automatique.
La correction intuitive, c'est un truc de malade. Hein. Des fois, j'en fais pas exprès. Hein.
Parce que Kutchi, ça s'écrit pas comme ça.
Donc voilà, mais moi je trouve ça d'enfer. Et donc t'aimes pas?
Pas du tout.
Ce morceau-là, plusieurs fois, je suis acharné.
Bah, c'est le groupe montant parce qu'il est programmé pratiquement sur tous les festivals à venir. Oui.
Et à Rouen aussi. Hein, t'as pas dit pour nos amis rouennais. Oui. Métronomie sera tête d'affiche des concerts de la région.
De la région, en juillet.
Le 3 juillet, il sera à Rouen.
Non, non, c'est vachement bien. Moi, j'ai
mais peut-être ça vaut le coup d'aller les voir. J'irai peut-être les voir. Hein. Ils sont à Rouen, ils sont en concert. Mais
c'est gratuit.
Je dirais l'album m'a
après,
pas.
Après, Nico, t'arrêtes pas sur la première écoute.
Ah, mais je l'ai écouté au moins 4 ou 5 fois. Hein.
Ah bon et...
T'arrêtes pas c'est sur la 4ème écoute.
Regarde ce morceau, il est vachement joli. Non
ah, mais je te dis pas que c'est pas joli, ça me parle pas. C'est...
Moi, je trouve écoute, ça un peu chiant.
Comme dit Marius, c'est pourquoi de temps en temps il y a entre guillemets. Oui, un peu ça. Pourquoi t'as la magie qui, deux fois, un morceau va paraître chiant à quelqu'un et puis d'autres qui vont te trouver que oui, ça te parle et puis inversement.
Mais
ça,
et je
ça
trouve
me parle
que
pas.
Le retour dans les années.
Souvent, ce que tu présentes, ça me parle pas en fait.
Bah, voilà,
ceci explique peut-être cela, voilà. Je ne sais pas.
Pourtant, ça ressemble beaucoup à Korn que tu aimes. Je comprends pas.
Non, mais je trouve qu'ils le font bien quoi. Ça non, mais c'est penser vraiment à un saut dans le temps.
Moi, je trouve que ça ressemble à Midlake.
Qui est remarquablement ouais, peu, bien
ouais.
Fait.
Ouais. Moi, je suis plus dans Midlake que dans Korn. Hein. En même temps, en disant ça, je prends pas de risque.
Les choses se rejoignent. Hein.
Mais bon, Christophe, il aime bien. Et
moi,
puis,
j'aime bien. Je te
en
soutiens,
tout cas,
Marius.
Non, mais, ouais, merci, clair. Marius. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Hein.
Voilà qui et conclut en beauté ta rue.
Jeff Barbara, vous avez pas essayé?
Ah non.
Non,
non, non, c'est bon.
Jeff Barbara, vous avez écouté non le
si,
dernier,
si jamais des gens ont écouté Jeff Barbara, n'hésitez pas à nous faire un retour. Alors,
voilà, j'aimerais bien avoir des
par
gens
contre,
qui aiment ou qui n'aiment pas.
Attends,
Jeff
on va laisser la parole à Freddy.
Je défends Marius qui nous avait présenté Ibrahim Malouf.
Excellent.
Ah, oui.
Un excellent album. Bravo.
Ça, oui, je déconne parce que en plus, et on va peut-être aller le voir visiblement.
Du coup,
j'espère bien.
C'est de l'actu. Archéo
Jazz.
À l'Archéo Jazz, à
Bruxelles. Nous allons aller voir Ibrahim Malouf à l'Archéo Jazz. Ouais.
Sachant qu'il y a Jimmy Cliff la veille.
Et Liane Folly le lendemain.
C'est vrai ? Non, mais c'est vrai.
Ceci dit, Liane Folly, c'est une excellente voix.
Jimmy Cliff dans un.
Elle chante
super
bien.
Oui.
Elle avait un album, Les Notes Bleues ou je sais pas trop quoi, où non, là elle faisait beaucoup, du jazz, hein. C'était magnifique. Hein.
C'est vrai non, mais je plaisantais pas, elle joue le lendemain.
Quand One Man Show.
En tout cas, on ira voir ça. Un petit retour à ce moment-là, ça a l'air. Ça peut être sympa d'aller voir ce que ça donne.
Enlevez-moi les nounours.
On s'en fout, il y a les Queen of the Stone Age.
Ouais.
On aura l'occasion d'en reparler de ça.
Quand ça ? Où ça ?
Rock'n'Scène.
Rock'n'Scène.
Ouais.
Pas loin. Il y a qui d'autre sur l'affiche ? Je me permets, je filme.
Vas-y.
Kavinsky qui va jouer.
Ouais, ouais.
Il va y avoir
Arctic Monkeys.
Lana Del Rey.
Wow. Moins, mais ouais.
Si.
Prodigy, énorme.
Je sais plus, mais de toute façon, pour l'instant, il y a même pas la moitié de la programmation qui est arrêtée.
C'est
hein, pour l'instant, ils sont à
Blondie.
Il y a Blondie,
oui,
on a
Blondie.
Pour les blagues, Blondie, c'est un peu amorti.
J'étais pas né.
Il y a Volbeat.
Tu connais Colmy?
Volbeat qui passe. Enfin, il y a pas mal de. Voilà.
Kylie Minogue aussi.
Quand ça sera un peu. Ouh, je suis pas sûr, Rock en scène.
Je déconne.
Mais quand la prog sera un peu plus avancée, on reviendra dessus, je pense. Parce que...
Émilie Simon, tu l'as dit, non ?
Ah non ? Il y a Émilie Simon ?
Elle est programmée le samedi.
Ouais. Ah oui, c'est pas le même jour, voilà, c'est pour ça. Je pense. J'aime bien son dernier album
dimanche,
en plus.
Et personne parle de Portiched ?
Portiched, effectivement aussi. Oui, voilà. Enfin, il y a déjà 26 artistes qui sont confirmés, mais il y en a 60 de prévus en tout.
Faut dire qu'il y en a tellement.
Il y a encore pas mal de choses à sortir, donc on reviendra dessus, je pense. Ouais. Plus tard. Bon. Quelqu'un d'autre a de l'actu ? Sinon, je prends la. Christophe ? Christophe, vas-y.
Un dernier truc en
vas-y.
Thèse.
Parle bien dans le micro, Marius.
Ben oui, mais. Ouais, essayez.
Souffle pas dedans, parle.
Il y a Kate Bush qui refait une tournée en Angleterre, enfin une tournée dans une seule salle. Et qui a vendu en fait l'intégralité de ses places, 22 dates en l'espace de rien du tout. Et ça m'aurait plu d'aller
moi
voir,
aussi, moi aussi, parce que je suis une
Bush.
Fan de Kate Bush. J'adore.
Mais donc, elle a fait une tournée essentiellement en Angleterre et dans une
attention,
seule salle.
Attention,
donc,
voilà.
Tournée de 22 jours. Mais
je sais que t'adores Kate Bush. 22 dates. Ouais.
Christine, elle adore Kate Bush.
Mais c'est vrai,
ouais,
mais
j'adore
elle avait toujours Kate Bush sur les lèvres. Je m'en souviens, c'était.
Tous les tickets sont vendus, c'est écrit sur son site.
Et ça a été fait en une heure, quoi.
Ah oui. Je savais pas qu'il y avait une attente à ce.
The Man with the Child in His Eyes, superbe chanson de Kate Bush.
Je vous propose de passer à la suite avec Christophe qui veut nous parler de.
Eh bien, puisqu'on
de musique aussi,
puisqu'on était dans la musique, autant y rester. Vas-y. Moi, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Dominic Miller, qui est un musicien hyper connu, plutôt jazz. Donc, il a travaillé avec les plus grands, Pretenders, Phil Collins, mais surtout avec Stings, qui en a fait en fait son musicien de tous les albums, puisque lui-même disait que, en parlant de Dominic Miller, Sting disait c'est mon bras droit, mais aussi le gauche. Donc, je vous passe sur les
détails.
Il
fait un peu tout, quoi, en fait.
Il fait un peu tout, voilà, parce qu'il composait, il faisait un tas de trucs. on va pas entrer dans les détails, mais je voulais juste vous parler de son dernier album, qui est quand même le 11e. Donc ça veut dire qu'il a fait 10 albums avant.
Ah ouais,
je suis bon hein, en calcul mental.
C'est fou, en toute logique.
L'année prochaine, il passe chanter eux deux.
Premier sur l'info. Premier sur l'info, on l'aura. Ouais.
Et donc, il a aussi pas mal joué avec un petit trio sympathique qui s'appelle, qui s'appelait, les deux personnes s'appelaient Manu Katché et Pino Palatino, un excellent bassiste.
Il ne veut pas qu'il est manchot, effectivement.
Le bassiste de référence pour moi, évidemment. Et donc, c'est un album entièrement instrumental, un petit peu à la Ibrahim Malouf, puisqu'il y a à la fois des guitares et aussi de la trompette. Ce qui est assez rare, parce que lui, il est plutôt. C'est un guitariste, donc. Et il a introduit aussi quelques chœurs. J'ai oublié le nom de la choriste. Ça m'a échappé. Mais bon, voilà, c'est un petit album tout en nuances, avec des montées tripantes, comme je les aime, des mélodies très reposantes, comme je les aime. Et pour ceux qui auront la chance d'être à Nice le 1er mai, il sera dans une tournée européenne qui passe uniquement par Nice. C'est un peu dommage.
Oui, c'est dommage, oui.
Le 1er mai, donc si quelqu'un a des places pour Nice avec un billet d'avion, enfin tout ce qui va bien, je suis preneur.
Contre rien en échange.
Contre rien en échange, évidemment.
C'est juste par pure sympathie.
Si, juste ma présence, parce que j'aimerais bien voir ce type de Mick Miller. Enfin, c'est un très grand, quoi. Très grand musicien. Et,
au pire, on t'achètera un DVD.
Ouais, mais c'est pas pareil.
Moi, je l'ai vu,
Il paraît qu'il a signé un contrat avec Otis, en plus. Otis, vous savez, les ascenseurs.
C'est vraiment.
Je dois être con parce que j'ai pas saisi.
Bah, musique d'ascenseur. Voilà. D'accord. C'est une insulte.
Vous avez pas compris. Voilà.
J'ai cherché un jeu de mots avec Miller, Otis.
Non.
C'est... Ludo est très constructif.
Ouais. Bah, si tu veux, moi, la musique d'ascenseur comme ça, j'aimerais bien en faire tous les jours.
C'est pas faux.
En tout cas, j'aimerais bien
c'est
avoir.
Par rapport à ce que vous faites avec Ken Kiyou, bon,
moi, j'aimerais bien avoir ça.
Ceci dit, si t'écoutes, effectivement, ça fait penser à Sting.
C'est de la musique d'escalier.
T'écoutes l'album Nothing Like That.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Dans la même ville.
On tient la blague. La blague.
C'est ce que je disais. Oui, ça ressemble. Oui, ça ressemble.
Là, on est vraiment. Ouais.
Oui, ce que tu nous avais fait écouter oui. Son dernier album, j'ai plus retenu son nom, mais.
Bah, pas forcément, moi, celui-là. Tu vois, c'est Nothing, ce... oui. Nothing
moi,
Like the Sun.
Un petit peu les
c'est pas, pas le dernier que je vous ai fait écouter. Hein.
Mais bon, moi j'aime bien ce genre de musique, on pourra en parler avec les dessinateurs. Je dessine un tout petit peu, mais voilà, quand je dessine, j'aime bien avoir ce genre de musique parce que ça ne chante pas. Et donc, c'est un côté un peu apaisant.
T'as pas à te concentrer sur.
Et un peu inspirant aussi. On en parlera après si tu dessines en musique ou pas.
Musique de film, avec musique de film. Pas de paroles, pareil, et puis voilà, les élans ça. Comme ça qui donnent pas mal de courage. Okay.
Oblivion.
C'est vrai que c'est sympa,
par
ça,
exemple.
C'est bien apaisant.
C'est d'enfer. En
fait. Merci Christophe.
Moi j'aime bien.
Ouais, mais moi aussi.
Moi j'adore.
Vous pourrez donc retrouver les informations sur la playlist, sur le billet. Eh bien, quant à moi, j'ai pas mal de choses à présenter, mais je vous rassure après, je parle plus. Donc je vais parler plutôt exposition cette fois-ci, puisque. A débuté cette semaine la Foire Expo de Rouen, donc du 28 mars au 6 avril, la 86e Foire Expo de Rouen, avec à l'honneur cette année la ville de New York, qui a un peu plus de 2000 mètres carrés consacrés sur les 42 000 de surface complète que comporte la Foire Expo. Il y a 3 nocturnes jusqu'à 22 heures. Et pour info, en 2013, il y avait eu près de 140 000 visites pour cette Foire Expo. Donc, on peut considérer que c'est un événement quand même assez important. Cette année, il y a 4 univers qui sont représentés. Donc, gourmandise et terroir, loisirs, artisanat, maison et habitat. Donc, l'exposition New York, New York, en quelques mots, elle retrace de façon chronologique l'histoire de la ville, quartier par quartier. Elle débute au XXe siècle avec l'arrivée de la Statue de la Liberté et se termine avec le chantier de Grande Zéro. Et d'ailleurs, on pourra avoir une copie taille réelle de la statue de la main de la liberté qui est de taille de 4 mètres, pardon. Donc ça commence à être assez impressionnant pour se donner une idée un petit peu de la taille de la statue en réel. Et puis quelques façades du quartier de Little Italy. Donc on peut retrouver dans certains films de gangsters, etc., de mafia qu'on a pu voir dans les films.
Taxi Driver.
Par exemple.
Une fois en Amérique.
C'est aussi l'occasion.
En Amérique.
C'est aussi l'occasion de voir, par exemple, des caravanes Airstream. Alors, pourquoi je dis ça? C'est les caravanes, vous savez, un peu les caravanes type américaines de forme arrondie en métal.
En métal, oui.
Voilà, exactement.
Ils appellent ça des motorhomes et pas des mobile homes.
Et pourquoi j'en parle? C'est pour les podcasteurs, enfin les poditeurs, ceux qui nous écoutent, qui ont pu aller à Comic-Con en 2012. Le stand de No Watch, donc Feu No Watch, était dans ce type de caravane. Donc on pouvait, c'est là-dessus qu'ils ont enregistré leurs émissions, où on a pu notamment voir passer des gens comme Alexandre Astier, des gens comme ça. Donc ceux qui étaient là-bas à l'époque, on voit de quoi il s'agit comme caravane. Sinon, il y a aussi des journées thématiques quotidiennes pour cette Foire Expo. Donc le 31 mars, c'est une journée gratuite pour les femmes, c'est pour la journée spéciale spéciale femmes. Le mardi sera la journée de l'emploi et de l'apprentissage. Le mercredi pour les enfants, le jeudi c'est pour les hommes, le vendredi une journée créative qui est, enfin, sur le terme de la création, et à l'occasion de la nocturne il y aura entrée gratuite pour les visiteurs habillés en super-héros puisqu'il y a une Comics Night qui est organisée là-bas. Donc les gars, toi t'es déjà un petit peu en un Spider-Man. Peu, ouais.
Faut que je mette mon masque.
Je crois que mon fils il a un masque
et mon slip. Ça c'était pour le running gag. C'est important le running gag comme ça c'est fait.
Et samedi et dimanche enfin, ce seront des journées ferme et nature.
Bon, ce donc, qu'il faut retenir c'est qu'il faut y aller lundi pour pécho quoi.
Ou le jeudi.
C'est selon.
Faut rester là. Faut rester pratique. Donc voilà un petit peu pour cette actualité à quelques pas de chez nous. Toujours sur Rouen.
On n'a pas de questions à poser.
Ah si, t'as des questions, pardon, excuse-moi.
Ambiance.
Voilà. T'as intérêt d'avoir une question, par contre.
C'est incroyable.
Non, mais vous connaissez l'histoire de la Statue de la Liberté?
Ah, c'est une blague.
Oui, on la connaît
tous. Oui, mais...
Vas-y.
Vas-y, donc c'est quoi?
Bah, tu sais que c'est les Français qui l'ont construite en France et qui l'ont offerte à...
C'est Gustave Eiffel qui a fait la nature.
Il y a la même à Barentin, d'ailleurs.
En signe d'amitié.
Elle est plus grande à Barentin, je crois.
En signe d'amitié et pour célébrer...
La création, voilà, enfin l'indépendance des États-Unis.
Ah, c'est
exactement.
Tout.
C'est vrai. Non mais.
Ouais, juste je dis ça, je dis rien.
Non mais c'était chiant, mais c'était sympa. Sympa quand même.
Ouais bah moi aussi à ce moment-là, moi aussi j'ai des caravanes, mais elles sont pas en métal. Hein,
je fais des frites dedans, voilà.
On fait des frites dedans.
Je fais des crêpes.
C'est impressionnant, franchement, les caravanes en métal, tu verrais l'espace qu'il y a
c'est
là-dedans.
Super grand, ouais. C'est super grand, oui. Elles sont grandes nos caravanes, mon frère, aussi.
Non, mais les tiennes, elles se déboîtent, elles se font ce que tu veux.
Allez, grand, là-bas. Prends ton accent de Brad Pitt dans Snatch, vas-y.
Les caravanes, grand.
Allez, vas-y.
Les cousins pour ma mère, là. Ma mère, au fond, là.
Ah, tu le fais bien, le manouche, on croirait que t'as vécu dedans.
On adore le hérisson chez nous.
Autre.
C'est vachement bon, le hérisson.
Ah, c'est bon.
Bah oui, c'est bon.
On va peut-être intégrer une rubrique gastronomie entre pods.
Non, mais c'est une rubrique manouche. Ouais.
Donc, la deuxième expo que je voulais vous présenter, ça s'appelle Mangapolis. C'est toujours à Rouen. Et donc, c'est la ville japonaise contemporaine dans le manga. Donc, c'est une expo qui a commencé le 1er mars, qui se termine mi-mai. Et donc, à travers une sélection d'environ 200 planches tirées des œuvres de 40 auteurs, pardon, l'exposition dresse le portrait de la ville japonaise, souvent personnage à part entière dans le manga, et invite le visiteur au voyage et à la découverte. Donc, pour info, c'est entrée gratuite du lundi au vendredi.
C'est où?
Et puis, c'est à Rouen.
Quand vous bossez, vous pouvez y aller gratuitement.
Je ne l'ai pas marqué, mais c'est à la maison de l'architecture à Rouen. Voilà. Je mettrai le lien sur le billet.
Attends, c'est pas à l'école d'architecture?
Peut-être l'école d'architecture, je sais plus. Parce que... C'est sur les boulevards en haut là. Je sais plus où c'est. Mais je mettrai le lien précisément. Mais ça m'a bien intéressé, je dirais, d'aller jeter un petit coup d'œil. Là, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'irai bien. Une exposition là qui n'est pas du tout à Rouen, par contre, et à laquelle j'aimerais bien aller, c'est Star Wars Identities. Identities.
Ah, oui. Tu y vas toi en plus.
Ouais,
tu y
vas,
j'y vais,
Cédric.
Ouais. J'y vais en mai, ouais. Au
d'accord.
Début mai.
Donc c'est du 15 février, donc ça a commencé il y a un peu plus d'un mois, jusqu'au 30 juin, à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. C'est une expo qui présente les objets cultes de la saga à travers un parcours interactif. Moi, j'ai entendu parler notamment dans le podcast L'Agence 2 Geeks qui est passé dernièrement.
Ils en ont parlé aussi aux informations télévisées.
D'accord. Bah, moi, ça me dit bien de...
Journal
je ne regarde
TF1.
Pas les informations voilà. télévisées.
Elle a déjà été donnée à la Villette, cette... Non,
y
a
je pense pas, non.
En fait, nous, il y a... Effectivement, il y a... Non, il y a un petit peu plus.
C'est surtout que Didou...
Un peu moins. On est allé avec Ludo et Marius et Juliette.
À la
Cité des Sciences.
Ouais.
Et il y avait déjà une expo Star Wars avec les maquettes, les décors.
Et Laurent, toi, tu y étais allé, c'est ça?
Ouais, il y a une dizaine d'années, effectivement. Et
c'est
pas exactement la même.
C'était vraiment plus orienté maquette. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris les costumes.
Il y avait les costumes, mais il n'y avait
pas la même collection. Ouais.
Ouais, par rapport à ce qu'il y a dans les films.
Il y a Dark Vador qui a proposé sa candidature hier soir en Ukraine.
J'ai vu passer ça.
Il y a un mec qui s'est déguisé en Dark Vador pour proposer sa candidature à la présidence de l'Ukraine hier soir.
C'est bon ça. Encore une petite...
Juste pour compléter l'info, tout à l'heure, c'est bien l'expo dont tu parlais, Mangapolis, c'est bien la maison de l'architecture à Rouen, 111 boulevard de l'Isère.
Voilà, c'est bien que c'était sur les boulevards, je ne sais plus lequel, mais... une autre exposition qui me tient à cœur, j'irais bien y faire un tour. Oui, bien sûr. Gottlieb, qui expose au musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis le 12 mars, donc c'est assez récent. Et ça se tiendra jusqu'au 27 juillet. Une exposition qui rassemble également près de 200 planches originales et des photographies. Pour information, on est dans l'année des 80 ans de Gottlieb, qui fêtera ses 80 ans en juillet. Donc, oui. Moi, Gottlieb.
J'adore l'affiche.
Moi aussi, j'adore. Elle est superbe.
L'affiche pour l'expo, j'adore.
Elle est très, vraiment très belle.
J'adore. Elle est superbe.
Donc, je ne l'ai pas vue. C'est lui qui l'a dessiné?
Oui, ou oui. En fait, c'est un autoportrait.
Ou alors, c'est quelqu'un qui l'a dessiné selon à la mode Gottlieb.
Effectivement, c'est vraiment très beau. Avec un chapeau melon, tout un système d'engrenage en couleur dans le chapeau melon. Et puis,
dans ton micro, dis-toi.
Un maquillage, enfin, ça me faisait penser à Orange Mécanique.
Je te montrerai, ou en fait, Freddy peut te la montrer, mais
c'est la couverture d'un
Robert Carmack. C'est pas ça?
Ça ressemble à ça. C'est pas une déclinaison.
C'est une déclinaison des couvertures de Robert Carmack.
Donc il est vraiment bien, et donc c'est l'entrée, le tarif est à 7 €, donc c'est pas très très cher, et c'est Hôtel de Saint-Aignan, rue du Temple, à Paris. Donc jusqu'au 27 juillet, ça me dit bien d'aller jeter un petit coup d'œil.
Avec moi, juste pour retrouver mes années lycée quand on faisait Super Dupont.
Ouais, moi, j'ai découvert ça là, au CDI du collège de toi aussi, Freddy. C'était
la même.
Les trucs, enfin, ah oui, on était au même collège.
J'ai pleuré de rire aussi.
Ouais,
c'était énorme.
Extraordinaire. Et puis le dernier sujet d'actualité que je voulais vous présenter, après promis, j'arrête de parler. La Sonothèque de Haute-Normandie, c'est quelque chose que je viens de découvrir. Ça s'appuie sur les nouvelles technologies pour communiquer et mettre en valeur la richesse culturelle et musicale de la région Haute-Normandie. Donc elle propose à tous l'écoute en ligne et gratuite des artistes de la région d'hier et d'aujourd'hui. Elle revêt également un caractère informatique sur l'histoire des groupes et des parcours.
On n'y est pas, nous.
Développée par l'association Associsson, un collectif musique actuelle, la Sonothèque est un des premiers projets à l'échelle nationale à poser la question de la patrimonialisation des musiques actuelles. Donc la diffusion des musiques se fait sur leur site internet, mais depuis cette semaine, il y a une application mobile qui permet également de l'avoir sur smartphone. Donc on peut avoir accès à toute cette base musicale depuis un téléphone Apple ou Android. Donc pareil, je mettrai le lien sur le billet, mais j'ai trouvé que la démarche était assez intéressante dans le coin. On a souvent tendance à dire à Rouen que il se passe rien, que la culture c'est chiant, qu'on se fait chier à Rouen, etc. Mais quand il se passe des choses, c'est bien aussi de le dire. Donc,
alors moi j'ai déménagé sur Fécamp, je peux dire que Rouen ça déchire en fait.
Voilà, c'est bien, mais c'est bien de l'entendre aussi.
Ouais, mais enfin, t'as du hareng là-bas.
Oh, ben même plus en fait. Non, vraiment. Non, tout à fait.
Existe toujours l'asso qui s'appelle.
Non. Non, il y a vraiment plus grand chose.
Il y a un grand musée quand même, il y a un musée maritime, non?
Oui, il a déménagé lui. Le musée Terneux a fermé. Il y a encore un truc qui ferme. C'est une
bonne un beau cinéma aussi.
Non, il n'était pas formidable. Mais par contre, il a effectivement déménagé dans un plus grand musée qui n'a pas encore ouvert ses portes.
Même la falaise se casse la gueule.
Tout se casse la gueule.
C'est catastrophique.
Et même moi, je quitte Fécamp, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus
non,
rien.
Ils ont aménagé la digue. Il y a plein de jeux pour enfants.
Ouais, mais ils vont la refaire. Ils vont la refaire, ils vont tout péter en fait. Ah. Ils vont mettre des éoliennes, ça va y avoir un paquet d'éoliennes.
Ça, oui.
Ça, il y a aucun
déjà, d'ailleurs.
Oui. Et par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un cinéma. Ouais. Autant faire la promotion parce que c'est un très bon cinéma qui s'appelle le Grand Large. Il y a que 4 salles, mais ils ont notamment, ils ont la 3D, ils ont surtout le HFR, donc ils ont un tout petit cinéma dans une petite ville. Je trouvais ça très impressionnant. Donc on a pu voir le Hobbit. Le premier était déjà à l'époque en HFR, donc c'était vraiment intéressant. Voilà.
D'accord. Bah, c'est dit. Eh bien, de toute façon, vous allez garder le micro, puisque maintenant, nous allons passer à la rubrique des invités.
Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Et donc, oui, comme je viens de le dire, Cédric et Laurent, vous allez passer
à la moulinette des chroniqueurs.
Ah, on n'avait pas dit ça en fait.
Non, ça va être des questions un petit peu général en fonction des. Je crois que Christophe a plein d'idées, plein de.
Oui, j'ai quelques questions.
C'est ce que j'allais dire. On va reposer un petit peu le contexte. Donc déjà, pourquoi êtes-vous là
déjà qui est Cédric
qui est Cédric, qui est Laurent. Donc juste pour remettre un petit peu le contexte. Après, vous me préciserez s'il y a des erreurs dans ce que je viens de vous dire. Donc vous êtes deux frères. Ça, je pense que jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici,
bingo.
Jusqu'ici tout va bien.
Le contraire n'a pas encore été prouvé.
Donc il y a un blog qui existe qui s'appelle Artefact la BD, qui est à la base un projet commun entre vous deux, avec Laurent au scénario et Cédric au dessin.
C'est vrai.
Bingo encore.
Le projet est un petit peu en stand-by, on va dire. Et le blog sert maintenant principalement aux œuvres de Cédric.
Tout à fait.
Et d'ailleurs.
En fait, on est fâchés.
C'est pour ça qu'on vous a mis l'un à côté de l'autre. Et donc, ton actualité actuellement, Cédric, on verra après pour parler d'artefacts aussi, de savoir peut-être aussi pourquoi ça s'est arrêté et comment vous travaillez quand vous travaillez ensemble. Mais actuellement, là, c'est surtout que tu as été publié dans le Lancefeuse Mag du mois de février.
Ouais, tout à fait.
Pour une histoire courte en 6 planches. Et que c'est quand même plutôt pas mal, et que
c'est
moi
gentil.
J'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'en avais fait même un billet sur mon blog.
C'est gentil.
J'avais bien aimé. Donc, si vous voulez en savoir plus, je mettrai le billet. Mais surtout, on va surtout vous écouter parler, puisque c'est surtout vous les stars.
Alors, pour les poditeurs, Laurent, c'est celui qui a le t-shirt rouge.
Merci Freddy, c'est vrai. Non, mais faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. T'as raison.
Non, mais c'est clair.
Donc voilà. Eh bien, moi, je vais laisser la place aux chroniqueurs qui ont des questions. Christophe, vas-y.
Eh bien, commençons par le vif du sujet. J'ai vu sur ton blog, il y a un truc qui m'a interpellé.
Oui.
Tu utilises une grille 3D.
Oui, tout à fait.
Et j'aimerais savoir comment ça marche, parce que j'ai trouvé ça plutôt...
Je repose mon micro.
Plutôt ingénieux. C'est-à-dire que la grille 3D, tu te la fabriques ou ça se vend comme ça? Ou est-ce que tu la fais sur un logiciel en fonction du dessin, en fonction du croquis que tu es en train de faire, ou bien...
D'ailleurs, à quoi ça sert?
À quoi ça sert? Alors, la grille 3D, c'est quelque chose de très nouveau pour moi, puisque c'était la première fois que j'utilisais sur le dessin que tu as vu. C'est directement sur Photoshop, tout simplement. Tu as une petite section 3D qui te permet de faire notamment des petits pilotes, une espèce de tuteur 3D, qui est pas forcément très très maniable, mais qui va te permettre de placer deux points de fuite, par exemple. Pour faire un petit décor avec pas trop de fautes de perspective. C'est le but.
Parce que je connaissais ça sur Illustrator, mais effectivement...
Ouais, mais en fait, Photoshop tend de plus en plus à faire de la 3D. On peut même faire de la modélisation 3D maintenant carrément dessus. C'est pas forcément un outil qui est dédié à ça au départ. Là, je l'avais testé parce qu'effectivement, à la base, moi, je dessine sur papier. Mmh. Et donc, du coup, mes points de fuite, je les dessine tout simplement sur ma table.
Oui.
Et du coup, il n'y a pas de faute. Mais quand tu passes tout simplement à l'outil numérique, puisque maintenant je travaille sur une tablette graphique avec écran LCD, tu peux pas dessiner à côté, tout simplement. Donc, il a fallu que je m'aide un petit peu avec des outils. Et cette grille est quand même très pratique pour justement éviter les petites erreurs toutes bêtes qui font qu'un dessin hyper chiadé peut tomber à l'eau pour une petite merde. Quoi.
Je connais bien ça.
Tu connais.
Et justement, on va peut-être pas entrer dans la technique, mais en fait, à partir de Photoshop, tu génères cette grille, en fait.
Ouais, tout simplement. Dans les filtres, tu as un filtre qui s'appelle... Alors, qui s'appelle comment? Moi, j'ai la version en anglais, donc je sais pas si ça va forcément te parler. J'ai la version CSS.
Il parle couramment, Marius. Tu peux.
Ouais,
y
Marius
aller,
pourra traduire éventuellement.
Non, mais éventuellement, on pourra voir ça.
Ouais, on pourra voir ça après. Mais c'est tout simplement dans les filtres.
Demandez-moi, il y a pas de souci.
Tu as tout simplement dans les filtres une petite partie qui est liée au point de fuite.
D'accord.
Et qui va te permettre de placer. Alors, c'est pas hyper compliqué. Il y a juste une petite manip à faire pour créer un calque à partir de filtre. Et une fois que ça c'est fait,
c'est point of fuite.
On vous mettra les lignes de commande donc sur le site.
Je donne des cours de Excel aussi si ça intéresse.
Là c'est assez technique, Christophe, mais moi je vous connais pas tellement. J'aurais aimé savoir d'où vous venez. Est-ce que vous avez fait des études pour ça? Est-ce que c'est votre boulot actuellement?
C'est la même question.
T'as pas assez bossé.
Qu'elle est trop bonne, Freddy.
Alors à toi.
Pas du tout. En ce qui me concerne, absolument pas. Moi, c'est vraiment handi-détente. Malheureusement, quand j'ai un peu de temps, parce que je travaille beaucoup, donc voilà. Et c'est aussi pour ça qu'Artefact a un petit peu de mal à avancer, en tout cas autant qu'on aimerait.
On a pu jusqu'ici le présenter un peu. Par contre, voilà, disons que ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à avoir quand même des avis, des premiers avis. En ce qui me concerne, le scénario, comme j'ai jamais fait d'école de scénario, des choses comme ça, c'est vraiment mes passions que sont le cinéma, la BD, enfin tout ce que vous connaissez aussi.
Ah, je te coupe quand même parce qu'il y a des choses que tu dis pas, c'est que tu as commencé à écrire quand même super jeune, et notamment par le biais du jeu de rôle.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que j'ai fait aussi du jeu de rôle. Voilà. J'ai fait,
c'est intéressant de revenir.
J'ai fait du scénario aussi.
Comment vous avez démarré tout ça aussi
C'est vrai. Bah, disons que moi, les histoires, depuis tout petit, ça m'intéresse. Et déjà tout petit, je me créais des histoires, même dans la cour de l'école.
T'avais un ami imaginaire, c'est ça
C'est ça. Moment là, émotion.
Bonjour.
C'est celui qui a pas de t-shirt.
Voilà, c'est
celui
ça.
Qui est en slip.
Et très rapidement, bah forcément, je suis venu d'abord au livre dont vous êtes le héros. Voilà, qui permettent en plus de se projeter dans l'aventure, vraiment d'être le héros.
Ça veut dire que tu en as écrit ?
Non, j'en ai pas écrit. J'ai pas écrit de livre dont vous êtes le héros. Par contre, j'ai fait pas mal de jeux de rôle. J'ai fait beaucoup de scénarios pour les jeux de rôle.
Laurent, spécialiste de la campagne de jeux de rôle en 70 épisodes
voilà,
sur 3 ans.
Qui n'en finit pas. Cédric faisait partie des joueurs qui jouaient à ça. Et effectivement, le fait de créer des personnages, le fait de les mettre en place dans une histoire, de les
plusieurs
faire
univers aussi,
de faire s'entrechoquer aussi plusieurs univers, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et je continue à l'aimer. Ouais, voilà. Mais pour répondre à ta question première, parce que là je suis parti un peu,
ni ton boulot ni tes études.
Voilà, c'est ni mon boulot ni mes études, c'est simplement une énorme passion. Voilà.
Okay. Alors,
pour ma part, c'est pas non plus mon boulot, puisque j'ai fait des études au départ dans l'art, enfin des études. J'ai entamé des études dans l'art avec une fac d'art à Amiens. Pour ceux qui l'ont connu à la même époque que moi, c'était des études d'art dans des Algéco avec des moyens pourris, gérés par un doyen de fac de maths, je crois. Donc c'était vraiment, il était vraiment pas super.
Après Fécamp, Amiens.
Ah bah Amiens, j'en ai pas gardé forcément un très très bon souvenir.
C'est un peu mieux que Fécamp quand même.
C'est un petit peu mieux que Fécamp effectivement. Donc du coup la fac d'art j'ai vite abandonné et je suis arrivé dans le monde du travail pas du tout par le biais de l'art et je suis devenu vendeur de bandes dessinées. C'est fou, il y a pas de hasard. Et c'est la passion qui m'a rattrapé en fait. Je dessinais des BD quand j'étais gamin, c'était toujours un rêve depuis tout petit de le devenir.
Quand t'es gamin, tu dessines avec des crayons de couleur, c'est ça avec...
Mais vraiment, ouais, tu pars de rien. J'ai dû commencer par faire des portraits, écrire mes propres histoires, souvent copier les histoires des autres. Et puis c'est un rêve qui reste en toile de fond pendant tout le collège, le lycée. Puis après, t'arrives, t'as le bac, tu sais pas où tu vas, puis tu te plantes. Puis finalement, je me suis retrouvé vendeur de BD. Puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire énormément d'histoires. J'en avais déjà beaucoup à la maison, mais j'en ai découvert plein d'autres, et notamment d'autres vers lesquels je serais peut-être pas allé si j'avais pas eu les moyens de me les payer. Et là, du coup, ça m'a relancé complètement, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour me lancer dans la BD. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ?
Tout à fait.
Tout à fait. Est-ce que c'était trop long ?
Non, c'est bien. Tout va bien. Je suis curieux de savoir pourquoi vous en êtes en arrivé là.
Moi, ce qui m'intéresse, pour rebondir sur ce que disait Frédéric...
Elle avait la main.
Ah, pardon, alors je laisse la place.
Non. Oui, vas-y, fini, t'as
je
commencé.
J'ai pas vu, je me tournais vers vous. Non, mais vas-y.
Non, j'ai plus envie.
Elle a plus envie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu dis, tu t'es arrêté de travailler, pour te consacrer à la BD, c'est ça?
Mm-hmm.
Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est quand même, c'est à la fois assez courageux et c'est pas commun, quoi.
Mm.
Comment ça s'est décidé, de se dire, voilà, je plaque tout,
Ça s'est fait un peu graduellement avec Laurent. On reparlait de temps en temps, tu te rappelles, de ce projet qu'on avait mis en branle il y a déjà quelques années et qu'on n'a jamais fini. Est-ce que ça te tenterait ? Il me relançait, je le relançais. Et puis un jour, ma compagne, Clara, pour pas la nommer, m'a dit « Bon, écoute, si ça te démange tant, mon salaire peut peut-être nous permettre de vivre dessus pendant quelques temps. Tente-la, quoi. Arrête tout, vas-y, lance-toi. Et puis, tu pourras pas faire ça pendant des années si ça fonctionne pas. » Mais dans un premier temps, tente là et on verra quoi.
Faut dire qu'elle est PDG de Vivendi. Hein.
C'est ça, tout à fait. Donc ouais, et du coup effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté. Laurent lui, du coup, étant donné qu'il est scénariste et que ça demande peut-être un tout petit peu moins de travail.
Et que sa femme est beaucoup moins sympa.
Elle est beaucoup moins sympa. Et en plus, elle est prof d'anglais, donc tu vois ce que ça peut.
Oh,
voilà.
Et
c'est
ouais.
Ça.
Et ouais. Ça les incite, c'est terrible. Ah, tu connais.
C'est vrai que tu connais. Et donc du coup, Laurent a pu continuer à travailler, moi à bosser mon dessin, parce que j'étais quand même loin du compte. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite.
Par contre, t'as eu une marge de progression incroyable. Enfin,
ah bah quand tu pars de rien, en général, tu vas vite. Hein.
Ouais, non. Là, je te trouve bien,
en fait,
bien modeste.
Surtout quand t'as le temps, finalement.
Ouais, ouais, c'est ça. En fait, quand t'es motivé, que t'as beaucoup de temps à y consacrer, c'est là que tu progresses le plus vite, quoi. Ouais. Voilà. Par exemple, si toi tu jouais de la guitare tous les jours, bah tu serais pas si mauvais.
Oh. Je joue de la guitare tous les jours.
Ah merde.
C'est dit.
Bon, j'imagine que c'est pas pour tout le monde pareil. Non, non, mais.
C'est vert, ça attaque.
Ah, enfin, on retrouve l'esprit du podcast.
C'est vrai qu'on commence à se faire un peu chier.
Bah oui, voilà.
Et alors, du coup, est-ce que tu en vis ou est-ce que tu arrives
non,
à
je
en
n'en
vis
pas du tout. En fait, la chose s'est faite en plusieurs étapes. Avec Laurent, on s'est déplacé une première fois pour faire ce qu'on appelle un speed booking. Pour ceux qui connaissent le speed dating, c'est la même chose sauf qu'on présente son book.
7 minutes.
C'est
pas pour coucher,
ça.
Quoi, c'est tout.
Sauf si tu veux vraiment éditer, mais ça s'est joué sur Paris en fait. Il y avait un festival qui s'appelle le festival Delcourt Soleil, et on a rencontré les gens de chez Casterman,
Delcourt.
Bah, Delcourt Soleil, tout simplement déjà. Soleil. Bah, puis Cadran, enfin toutes les petites boîtes qui appartiennent à Soleil à la base.
Vous avez pécho ou pas?
Non, on n'a pas pécho du tout. On s'est même fait un peu refroidir.
C'était pas loin. Ça,
c'était pas loin. Pardon?
Non, vas-y, pourquoi en fait?
Alors le speed dating, donc enfin le speed booking, pardon. C'était mon alibi. Hein. Si Clara pour ça, merde.
Eh hey, merde.
Le speed booking, effectivement, c'est très rapide et il faut vite faire ses preuves. Donc il faut présenter un minimum de planches le plus abouti possible. Il y a un scénario, s'il faut le présenter, il faut faire vraiment hyper synthétique. Et c'est peut-être un peu là-dessus qu'on a pêché.
Ouais. Effectivement. Effectivement, bah, disons que c'était la première fois où on avait vraiment l'occasion de voir des professionnels. Et ce qui était super intéressant, c'était
se confronter.
Pour une première fois, voilà, de montrer vraiment ce qu'on faisait et si c'était bien ou pas. Ça allait nous donner une direction. Et évidemment, bah, on se doutait bien qu'on n'allait pas repartir avec un contrat tout de suite dans
Moi,
la
j'y
poche,
croyais,
machin.
Hein. Moi, j'y croyais.
Et puis voilà, quoi, on a vu tout de suite nos défauts, où ils se situaient. Aussi bien au niveau du scénario que du dessin, mais c'est vrai que surtout au niveau du scénario, parce que encore une fois, n'ayant absolument aucune formation et se nourrissant uniquement d'une passion comme ça, voilà, forcément à un moment donné, fallait bien se douter qu'il y aurait un clash quoi quelque part. Mais c'était de toute façon hyper constructif, puisque ce jour-là, on est parvenu les mains vides, quoi. On est revenu vraiment avec plein de réponses à plein de questions qu'on pouvait se poser.
Par exemple, est-ce qu'on est prêt? Non.
Non, on n'est pas
clairement
prêt.
Clairement, non.
On n'est pas prêt.
C'était quand, ça?
C'était en septembre 2012. Septembre 2012, c'est ça.
Septembre 2012, oui.
C'était
tout
en septembre 2012 à Paris.
Ouais.
En gros, pour un scénariste, un dessinateur qui veut se lancer, c'est quoi les gros écueils qu'il faut éviter, en fait, ou les premières critiques qu'on peut faire, ou que vous avez essuyé, vous, de votre côté?
Bah, je parle pour moi dans un premier temps. Pour le scénario, déjà, c'est de se projeter son texte par rapport à l'éditeur. Voilà, de pas essayer de lui vendre une histoire comme si on la vendait à un lecteur, mais à un éditeur. Je dirais que c'est déjà la première chose la plus importante à faire, parce que effectivement, moi, mes textes, je les avais préparés et quand je leur ai montré. Il y avait plein, ils m'ont posé plein de questions et derrière j'avais pas forcément les réponses à leur donner parce que j'avais construit ça pour leur donner l'eau à la bouche et c'est pas du tout comme ça qu'il fallait s'y prendre.
C'est-à-dire concrètement ça se...
Concrètement, quand t'arrives avec une histoire où t'as prévu du mystère, de l'aventure et que tu te dis pas clairement au gars où tu veux y aller, il va te regarder avec des grands yeux en te disant écoute, t'es gentil mais je suis pas ici pour perdre mon temps.
Ouais. Le mec voilà. C'est pas un lecteur en fait.
Voilà, le mec c'est pas un lecteur.
Tu présentes pas, enfin tu...
C'est d'accord. Celui qui mise pour avoir bénéfice.
Voilà.
C'est
ça. En fait, il faut que tu présentes ton projet non pas par rapport à un lecteur, comme si tu le présentais à un lecteur, mais comme si tu...
Parle bien dans le micro.
Ouais, voilà. C'est vraiment en tenant compte d'un marché.
Voilà, il
c'est vraiment ça à la base. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment...
Non, mais c'est
la logique du truc.
Tu vends le potentiel de ta BD pour faire du bénéfice.
Ça t'empêche pas de faire quelque chose d'intéressant, de beau ou de barré. Mais en tout cas, il faut que tu sois capable de le justifier par rapport à un marché qui est une réalité, quoi. Et nous, on est arrivé avec des envies plein la tête en se disant on va faire un truc sur 10 tomes et tout. Et stop.
Oui, d'accord.
10 tomes, ouais. Stop.
Un lecteur pour des lecteurs.
3 tomes, c'est déjà trop. 10 tomes, c'est je ferme le book tout de suite, quoi. Donc on se dit waouh, c'est incroyable.
Je dirais que ça a été la pire claque d'un coup.
D'accord.
C'est que moi, j'ai tendance à partir dans une aventure hyper
pas un univers, quelque chose.
En tant que maître de jeu, t'as vite tendance à étoffer, à avoir un
background. Ce que j'aime, c'est créer des personnages, les faire évoluer. Avant tout, pour moi, une histoire, c'est des personnages. Et là, on demandait d'un coup de mettre les deux tiers de ce que j'avais fait à la poubelle, quoi.
Ouais.
Waouh,
ça c'est violent.
C'est hyper violent.
Pas les deux tiers, hein, une grosse partie. Et puis niveau dessin, c'est exactement la même chose. En fait, dès le départ, ils m'ont dit ouais, c'est sympa, mais tes couleurs, faut que t'arrêtes, par exemple.
Voilà, ouais, c'est cash quoi.
Ton ancrage est trop léger, ton dessin, il y a plein de fautes d'anatomie, tes perspectives sont foireuses, mais sinon c'est sympa.
alors par contre, il y a un truc qu'on a oublié de vous dire, c'est que bien avant ce rendez-vous de Bercy Village, où on a rencontré les professionnels, on a eu la chance à un moment donné de rencontrer Thierry Kaito,
ah oui.
Qui est un scénariste, notamment
surtout
qui a scénarisé
Aquablue, ouais.
Voilà, Aquablue.
Le papa.
Et ça a vraiment été la première fois qu'on avait quelqu'un en face de nous qui allait nous dire. Et d'ailleurs, il avait commencé le rendez-vous comme ça en nous disant "Écoutez, je viens." Parce que voilà, c'est amicalement, en fait, c'est l'ami d'un ami qui a fait qu'on a réussi à le voir. C'était super sympa de
dans un bistrot.
On l'a vu à Duclair, dans un bistrot. Ouais.
À Duclair.
À Duclair, ouais, dans un bistrot.
Le gars, très vrai, le gars.
Fécamp, Amiens, Duclair. Wow, on voyage.
La région,
hein.
Voilà. Non, le gars habite Quevillon, pour ceux qui savent.
Ah oui, Quevillon, il c'est encore pire.
Bah ouais. Mais n'empêche que là-bas, c'est là où ils font tous les pokers avec les grands auteurs rouennais.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il y a vraiment un gros
mais comme quoi, il n'y a pas forcément, quand t'es en province, t'es pas forcément coupé.
Ah non, pas du tout.
Surtout dans la BD. Surtout dans la BD.
Étant donné
qu'il y a énormément de télétravail dans la BD, les gens sont pas chiés à monter sur Paris s'ils en ont pas envie. Ils bossent de chez eux, point barre. Quoi. Ils peuvent être sur l'île d'Oléron, ils peuvent être.
Et puis la Normandie, ça a toujours été un vivier, hein, que ce soit en auteur, littéraire ou voilà. Et lui, Kaito, nous avait d'entrée de jeu dit bon, bah voilà, moi je suis là en pure amitié pour les gens qui m'ont dit que voilà, ce serait bien de vous voir, etc. Par contre, si c'est de la merde, je vais vous le dire tout de suite, quoi.
D'accord.
Ouais. Alors, il n'avait pas été aussi cash, il nous avait dit est-ce que vous voulez que je sois gentil ?
Moi, je me souviens
de la vérité.
Je me souviens du mot. Ah ouais, franchement.
Et donc, il vous l'a dit ?
La vérité, il nous a dit nous dire ouais, non, alors, nous on y croit, faut y aller. Et ça, c'était il y a.
Ouais, moi je me souviens de 5-10 minutes où le gars il a regardé et il disait rien.
T'attends, ouais.
Et là, c'était la goutte au front.
Ouais.
Là,
ouais.
Tu te dis qu'est-ce qui
se passe. Longues, ces 10 minutes.
Ah ouais, super. Ouais, vous avez peut-être connu ça, ce moment où le gars regarde tout votre travail. Ouais. Et...
Bah, moi non, parce que je suis bon, mais j'imagine que.
On a déjà parlé de ton
cas.
Ça
pose plus de questions.
Ça fait un partout.
Non, mais c'est vraiment ça. C'est ce côté. On croit que ça dure 10 minutes, ça dure peut-être qu'une minute, mais tu te dis putain, je vais me faire démonter. Ouais. Putain, je vais me faire démonter.
Et je me souviens c'est vrai. Du mot. Hein. Je me souviens du mot. Il nous avait dit, c'est prometteur.
Ouais.
Waouh. Donc et déjà, là, tu déjà, te dis, tu te dis.
C'est pas mal.
Oh, ouais. Bah oui.
Ah
c'est
ouais.
Bien, surtout c'est encourage
bien.
Quoi.
Et franchement, bah forcément, on est reparti de là. On avait
gonflé à bloc.
On avait des bons 3 mètres quoi.
Ouais. Sauf que c'était il y a 10 ans.
Sauf qu'il y a presque 10 ans.
Ouais, je pense.
Et ouais.
Comme et le problème, c'est que le mot prometteur, à Paris, il est retombé le même. Donc, on s'est dit, on a évolué ou on n'a pas évolué? Parce que c'était toujours juste prometteur.
Ah oui, oui.
Donc, à Paris, on est reparti avec plein d'espoir parce que les mecs nous ont redit ce mot qui, mine de rien, donne des ailes quand on y croit vraiment.
Ouais.
Mais on ne savait pas plus que ça. Ouais. On avait juste des directions.
Alors, moi, je voudrais savoir.
Oui, dites-douille.
Slip ou caleçon?
Oui, d'ailleurs.
Mais non, c'est comme ça,
parce que Superman,
slip,
c'est un slip, hein.
Oui, c'est vrai.
Tire.
C'est tout à fait
aussi,
vrai.
Mais alors que.
C'est avec lui, hein. Moi, je. Ah ouais, d'accord. Pas trop ma gamme.
Non, alors, vous parlez là de votre projet commun. De le défendre quand vous êtes monté sur Paris.
Ouais.
Et vous nous dites aussi qu'il n'est pas terminé. Comment on peut défendre un projet? Parce que le scénario, comment ça se passe?
Alors, le scénario est écrit, mais le dessin
il
est paralysé.
Le dessin, il est avant. Le scénario où il y a d'abord un scénario qui amène le dessin.
Oui, je rebondirai juste dans la foulée pour ce que dit Didouille. C'est quand tu écris le scénario, tu te projettes sur la façon dont Cédric va écrire ou tu pars sur un truc complètement freestyle par rapport à ton imagination et c'est Cédric qui s'adapte après ou vous échangez. Enfin, alors, voilà.
C'était la question de Didouille. Hein.
Deux questions. Dans
sauf que moi, j'ai pas dû être claire.
Non, elle était quand même différente.
C'était pas
pour répondre à Didouille parce que ça va être plus rapide.
c'est pas qu'elle était pas. Tu veux dire qu'il
n'y a pas de fond dans ma question? Non, du tout, du tout.
La réponse est non.
À toute base, vraiment, à la genèse, c'est des personnages. Enfin, moi, je pense à des personnages.
Du coup, on répond pas du tout à la question d'idée. Non, parce que moi, je viens répondre de façon courte, mais toi, tu réponds juste pas.
C'est un bon bordel le truc, aussi, votre truc à vous, là.
Ça va pas être facile quand il bosse. Hein.
Non. Quand tu présentes ton projet, il faut simplement avoir un scénario qui se tient, qui peut se résumer en 10 lignes.
D'accord.
Voilà. Où le mec peut voir un potentiel. Et au niveau du dessin, il faut que tu présentes du crayonné, de l'ancrage, et éventuellement, si tu en fais, de la couleur.
Mm-hmm.
C'est tout. Surtout pas un projet fini, puisque l'éditeur se réclame un droit à échanger certaines choses. Donc, jamais un projet fini.
Produit fini, ça sert.
Si tu parles des écuelles à éviter, faut jamais proposer un produit fini. Mm-hmm. L'éditeur, lui, enfin, ça arrive, mais c'est super rare. Un mec qui dit, voilà, j'ai un album, 46 pages, il est fini, il vous plaît, et le mec fait, ah, c'est génial, je le prends. Ça arrivait peut-être à une époque, ça n'arrive quasiment plus. Donc maintenant, il faut vraiment essayer de caser voilà, ses meilleurs atouts dans 5 pages Et puis basta, quoi. On voit où ça nous
mène. Quand tu dis l'éditeur peut influer
bien ton
sur
micro,
ton... Il peut influer sur ton histoire, en fait. Parce
il peut
que
pas
dis, influ- tu peux pas...
Il peut influer sur certaines choses. Bah, par exemple, sur l'histoire qui a été éditée, dont on a parlé tout à l'heure, l'éditeur m'a dit « On adore ce que tu as fait, c'est super, tes couleurs, elles nous plaisent. Par contre, on aurait juste changé ça, ça, ça. » C'est pas sur l'histoire. C'est que le mec, il va dire « Bah voilà, là, j'aurais mis du feu dans la cheminée. Là, c'est trop foncé, là, c'est machin. » Puis éventuellement, s'il y a une case en trop, quand il a, vraiment, quand il arrive, là, c'était sur la fin, mais quand il arrive dans le process, il peut dire « Bon, il y a une page de trop, celle-là, elle sert à rien. » Par exemple,
d'accord.
Ça ne
fait
pas vraiment sur l'histoire,
histoire. Voilà,
mais
pas au...
dans la façon de vendre ton histoire, tu vois.
D'accord. Oui, Didouille.
Oui, alors du coup, non, mais c'est parce que moi, tu travailles donc sur ordinateur.
Yes.
Donc, heureusement, finalement.
Oui, heureusement.
Parce qu'à l'époque où on travaillait sur planche papier, ça voulait dire que si on devait faire des changements, on recommençait la planche.
Du collage. Tu fais du collage.
C'est ce qu'on a fait sur Artefact. Hein.
Sur Artefact, on a tout déchiré à peu près combien de fois ?
3, 4.
On a fait 5 versions, je crois.
Ah oui,
5 versions. Bah oui, parce qu'à chaque fois que tu as un avis de professionnel qui te dit c'est sympa, mais c'est pas ça, tu peux pas juste te dire bon, je vais changer 2-3 trucs qui lui a pas plu. Tu reprends tout à zéro et tu reprends surtout avec un œil neuf.
Tout à l'heure, tu parlais de tes erreurs qu'on t'avait mentionnées, les erreurs d'anatomie, de perspective et de couleur. Donc, tu as résolu ça comment, notamment la couleur, en passant au numérique ? Parce qu'avant, ça veut dire que tu faisais à l'aquarelle ?
Je faisais à l'aquarelle, mais ça demande une technique
c'est très difficile.
Très, très, très pointue. Et surtout, il faut des années. J'avais pas des années, puisque moi, j'avais un gap de 2 ans. Je me suis dit, en 2 ans, il faut que ça passe. Quoi. Donc, du coup, je suis passé au numérique. Et au moment où j'ai arrêté de bosser, j'ai acheté une tablette, une toute petite bambou de chez Wacom. Et puis je me suis lancé là-dessus.
Parce qu'il existe des coloristes, des gens qui sont spécialisés.
Bien sûr,
en fait.
Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'avais juste envie d'explorer parce que la couleur, c'est aussi l'ambiance. On peut, ça peut se ressentir dans les noirs, mais c'est surtout dans les couleurs que l'ambiance se pose. Et confier ses planches à un coloriste, il faut déjà avoir extrêmement confiance. Il faut que le mec soit bon. Et le rendu, j'ai du mal à croire qu'il soit toujours comme t'en as envie. Voilà.
Et donc là, avec le numérique, tu fais...
Là, avec le numérique, je fais pas tout. Alors, sur ce projet-là, par exemple, c'est crayonné papier, ancrage papier, et ensuite, couleur au numérique.
Tu scannes et tu travailles...
Ce projet-là dont tu parles, c'est Héritage qui
est paru
dans...
C'est le projet en 6 pages
dans l'Enfest Mag.
Voilà, du mois de février. Et donc, pour les perspectives et anatomie, perspective, tu bosses, anatomie, tu bosses 2 fois plus. Parce que c'est super, super dur. T'achètes des bouquins de muscu, des trucs comme ça. Tu te retrouves avec énormément de choses à avaler.
J'ai vu sur Facebook des gens qui te faisaient des remarques sur les avant-bras, je les aurais fait différents. Il y a ce muscle-là qui me paraît pas naturel. C'est marrant, c'est vrai que quand tu le vois après sous cet angle-là, tu te dis ah ouais, la BD, nous on la consomme en fait, on se rend pas compte du temps que ça est, que ça consiste derrière à vraiment tout mettre pour que ça soit naturel.
Des études à la fac de médecine pour étudier l'anatomie des muscles, c'est-à-dire dans le détail. Quoi.
On parlait de Gottlieb tout à l'heure, il suffit de voir comment il dessinait ses mecs, tu sens que les proportions, après, il les travaille d'une autre façon, mais tu sens qu'il n'y a pas...
Lui, il déformait, mais il ne manquait jamais rien.
Voilà.
C'est ça, en fait. Donc, du coup, il avait tout compris. Non, vraiment, l'anatomie, c'est ce qu'il y a, à mon sens, pour moi, c'est chacun son truc, c'est ce qu'il y a de plus dur.
Oui, je suis assez d'accord.
On est d'accord.
Parce que les perspectives, ça se travaille, on peut toujours... Mais l'anatomie, c'est vraiment difficile, oui.
Je pense que Didouille, il y a une crampe.
Vas-y, Didouille, pose ta question. Mais t'as mal au bras, là.
Non, regarde, je l'ai payé. On parlait de couleurs, de tout ça, de l'éditeur qui peut te demander de changer les couleurs.
Ouais.
Moi, je voudrais savoir sur le binôme.
Ouais.
Est-ce que l'œil du scénariste peut influencer le dessinateur par rapport à lui ? Comment il perçoit les couleurs et comment il perçoit le dessin, et vice-versa, est-ce que toi, en tant que dessinateur, quand tu lis le scénario, ce qui est présenté, tu peux avoir une influence sur des changements où...
Vous allez peut-être répondre à ma question comme ça aussi.
Oui, parce que on l'a laissé en suspens depuis tout à l'heure. Comment fonctionne le binôme ? Ah, vas-y, je te laisse répondre.
Un peu des deux, en fait. On crée une émulation entre nous. Hein. C'est exactement ça, en fait. Hein. Moi, je lui fais lire ce que j'écris, il me dit ce qu'il en pense, et quand il me montre ses dessins, la même. Voilà, donc on crée une émulation et on voit les défauts de l'autre, on voit aussi les qualités, heureusement. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Ça se fait pas sans douleur. Ça se fait pas sans douleur.
Ouais, c'est ce que j'ai.
Oui,
c'est ça.
Par contre, ça se fait pas sans douleur.
Certaines fois, il va me dire, bah écoute, ton dessin là, j'y crois pas du tout. Faut vraiment recommencer. Moi, c'est peut-être le dessin de la page dont je suis le plus fier. Faut quand même réussir à s'asseoir sur sa fierté. Et lui, de son côté, il me dit, j'ai écrit une ligne de dialogue qui est géniale. Regarde, tac tac. Je dis, ça fonctionne pas.
Ouais.
Et lui, c'est pareil. Il se dit, tant pis.
J'ai pas la place dans la bulle. J'ai pas la place. Enlève des mots.
Oui, c'est d'ailleurs, c'est une contrainte.
Et ouais,
ouais,
tout,
Laurent
tout,
est très bavard.
Hein.
Laurent est très
bavard. Extrêmement
bavard. Bah, tu fais une bulle plus grosse.
Et moi, et je décide où. Plus... Alors, ça s'appelle un roman après.
Et quand tu crées tes personnages, tu les visualises ou pas?
Oui.
Est-ce que t'es... Et en général, vous retombez sur le même type de morpho? Non.
Non. Je le... Non, non.
Ça doit être bizarre,
non, mais par contre, il est arrivé plusieurs fois que je parte sur un personnage que j'avais visualisé comme ça. Et il finit par me dire ouais mais non regarde ça marche pas ou regarde là ma version.
Ah donc tu lui donnes quand même des indications.
Oui je lui donne bah bien sûr
toujours
je lui donne des indications. Ouais. Par contre des fois il me dit bah regarde ouais non ça marche pas j'ai plutôt vu comme ça et puis ouais je dis ouais t'as raison ouais c'est mieux comme ça voilà.
Des petites considérations vraiment purement techniques de couleur.
Et du coup vous bossez pas dans le, c'est pas du genre on va s'enfermer pendant un week-end on va bosser tous les deux
non ça
c'est,
peut nous arriver
c'est du télétravail
ouais. Mais en fait c'est surtout télétravail et comme Laurent est commercial et passe beaucoup de temps en voiture et que moi j'étais au chômage et je passais beaucoup de temps chez moi ça tombait vachement bien
ouais.
Le téléphone là, cette magie nous permettait de
la
nous appeler
du sans-fil.
C'était dingue et donc du coup ouais, il m'appelait tous les jours et puis tous les jours je lui disais ah, j'ai pondu ça je t'envoie la photo des fois c'était tout con j'ai envoyé sur son téléphone c'était flou c'était moche mais ça donnait
ou
une
par
idée
par mail ou
ouais. Il a ce pouvoir sur moi quand on je crois qu'on a un pouvoir qu'on a l'un sur l'autre d'ailleurs quand on parle on arrive vraiment à simuler le brainstorming fonctionne
ça.
Très bien on peut passer 3 heures au téléphone à parler du même truc en rond et finir par améliorer un truc qui était pourri à la base
ouais.
Finir par en faire quelque chose.
On est bloqué chacun de notre côté et puis en parlant, on se débloque.
Ouais, tout simplement, ouais, tout simplement. Mais tout c'est fait par téléphone.
C'est beau la fratrie.
C'est, beau, là,
c'est,
ce que
c'est une belle
dire,
leçon de vie, tout simplement.
Ouais. Ah oui.
Mais la ligne directrice du projet, alors c'est quoi comme style de BD?
Parce tout qu'apparemment. On n'en a pas parlé.
Ouais, voilà.
On n'a pas parlé du fou.
Excusez-moi.
Non, mais t'as raison, mais par exemple.
Artefact, bah, qu'est-ce à dire?
Marius, t'as pas entendu donc,
c'est une BD médiévale fantastique. Voilà, qui se passe dans un monde complètement original. Enfin, original. Disons que quand je dis médiévale fantastique, maintenant, j'ai toujours un petit pincement parce que dès qu'on. Là, on va dire que la première chose qu'on nous a reproché, si on peut dire reproché, c'est que ça se passe dans un monde médiéval fantastique. Parce que depuis plusieurs années, et notamment depuis la sortie de L'Enfeust, le médiéval fantastique, en fait, bah, ça sort tout le temps. Peut-être un peu moins ces dernières années, parce que justement, L'Enfeust, en sortant, je vais dire, a dégrossi le truc et a tellement eu de succès que maintenant, ça fait presque peur aux éditeurs.
Alors, c'est même pas ça, en fait. Enfin, moi, je les ai vendus, les L'Enfeust, donc je me permets, on se fait un débat à deux. Hein. Ça vous dérange pas si vous avez envie de faire une pause pipi, allez-y.
Allez-y, buvez un coup. Tout
non, L'Enfeust, moi, je les ai vendus. J'étais vendeur de BD, donc c'était tout con. Je les voyais. Quand L'Enfeust est sorti, ça a été un boom. Tout le monde a voulu suivre, tout le monde s'est enfourché. Tout le monde est arrivé là-dedans comme des bœufs. Soleil le premier, c'était son bébé et ils l'ont un peu noyé parce qu'ils en ont mis des tonnes. Des tonnes et des tonnes. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de premiers albums qui n'ont jamais eu de suite. Et du coup, c'est ça qui fait que ça a pas mal refroidi et des auteurs qui se sont retrouvés avec des portes. Ah, j'ai de l'heroic fantasy. Ah, t'as un an de retard. On n'en fait plus. Ah, tant pis.
Enfin, ils ont ressorti, en tout cas, enfin, où je me trompe peut-être, mais les légendaires, pas. Bah, oui, sûrement même.
Les légendaires.
Mais les légendaires qui sont quand
énorme
même.
Énorme carton.
C'est un carton. Ils sont gros. Ouais, c'est ça. Ça combien de tomes? Je sais pas parce que moi, mon fils les a.
J'ai arrêté de les vendre. C'était 17.
Ouais. On est dans le médiéval fantasy avec les légendaires.
Ouais, tout à fait.
Mais ils ont adapté un public.
Voilà,
mais en même temps, regarde. Si on regarde L'Enfeust, moi, je sais que j'étais fan de L'Enfeust de 3.
Ouais. Tout à fait.
Ils ont sorti après.
L'Enfeust des étoiles.
Voilà. J'ai beaucoup moins aimé.
Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'était
quand même beaucoup moins.
Voilà. Et donc le public, il s'est peut-être détaché parce qu'à contrario il y a eu d'autres BD qui sont sortis et puis maintenant il y a une sacrée concurrence avec je pense à des BD comme
Tintin.
T'as bossé toi ça sent.
Non bon c'est pas grave non mais c'est un autre
je
courant
je pense à
c'est...
rien en fait
mais si ah punaise de bon sang de bois c'est pas grave on en a reparlé l'autre fois t'avais
punaise de bon sang de bois non mais il est en
punaise de bon sang de bois
Urban Comics les Urban Comics les choses comme ça non mais il y a plus en plus aussi de boutiques spécialisées dans un genre enfin si tu vas au bazar du bizarre tu sais que tu vas y trouver des mangas des trucs spécifiques, tu vas à.
Ouais, ils ont quand même un peu tous plus ou moins la même chose.
Funambule, tu regardes la proportion entre les BD qu'on connaît.
Non, c'est une certaine ligne éditoriale finalement dans ce qu'ils achètent.
Voilà, non, mais il y a aussi celui qui s'est ouvert rue Jeanne d'Arc là.
C'est Funambule.
Funambule
Funambule aussi. Ouais. Ah, je confonds avec album. Donc voilà, il y a des boutiques, de plus en plus de boutiques. Il n'y en avait pas autant avant. Je suis
désolée.
Rien qu'à Rouen,
je crois qu'il y en a 4 ou 5.
Avant, ouais, pour avoir. Avant,
qu'ils aient une.
Voilà.
Lumière d'août, c'est bazar historique, non?
Les seules fois, enfin, les lieux où on trouvait avant des BD, c'était la Fnac, Virgin et machin. Maintenant, on a plus en plus de boutiques qui vont proposer des choix bien spécifiques par rapport à des courants. Je vois, avec notre fils, nous, les comics, waouh! Il y a eu un stand-by, puis tout d'un coup, c'est devenu waouh! Ouais! Ça!
Réactivité.
Bah, du coup, vas-y, je sais plus ce que je voulais dire.
Ouais, c'est le problème.
Oui, sur les BD d'Heroic Fantasy, ouais. C'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas. Le truc, c'est que je ne sais pas comment fonctionnent les éditeurs, mais c'est vrai que quand il y a un truc qui sort, qui marche à fond, boum, c'est le moment où en fait tout le monde devrait sortir à ce moment-là,
c'est
peut-être de Heroic Fantasy.
C'est un petit peu ça, bon. Comme au cinéma. Hein.
Comme au Cinoche. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la nouvelle tendance. Alors, dis-lui parler des comics à l'instant, mais.
C'est pas nous en tout cas.
Non, mais voilà, non, mais
nous ne sommes toujours pas la prochaine tendance.
Et donc, justement, où vous en êtes aujourd'hui avec Artefact? Tu disais que tu avais repris un boulot, enfin, tu travaillais.
Ouais, tout à fait.
Ça veut dire que le projet est vraiment en stand-by.
Ouais, il n'est pas mort, parce qu'on s'était dit, étant donné que j'ai sorti ce petite chose-là, je me suis dit, bon, allez, on va attendre, savoir si ça, s'il y a des échos, s'il y a des choses qui se font. Il y a eu des échos plutôt positifs. Bon, il faut quand même dire, le rédacteur en chef, c'est Christophe Arleston. Donc, si c'est sorti dedans, c'est que lui, quelque part, a dit, ouais, c'est pas mal. Mmh. Donc, ça fait toujours plaisir. C'est le papa de l'enfeuste, hein. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de retombée au niveau du boulot, quoi. Oui. Mais c'est pas un souci. Nous, moi, du coup, je continue à travailler. On prend notre temps et Artefact va revenir avec un petit peu de retard.
Artefact reviendra.
Reviendra.
Donc, c'est pour un album, pour le coup. Ou
Ce serait pour un nouveau projet à proposer. Je peux pas vraiment dire un album, deux albums. Ça dépendra. En tout cas, l'histoire elle évolue. Il y aura une sixième version, quoi.
J'ai
tout simplement. Tout le monde a plein de questions, c'est génial.
Vas-y Ludo.
L'école des
femmes. On t'a pas beaucoup entendu.
À partir du moment
pour une fois.
Non, c'était pour dire on passe pas la parole à Didou parce qu'on l'entend qu'elle.
Eh ben, je vais manger un chausson aux pommes comme ça, j'aurai la bouche occupée.
En fait, j'ai deux questions.
Vas-y, Marie.
La première, ça n'a pas été trop violent de te dire finalement, au bout de mes deux ans, j'arrête, je reprends un boulot. C'est ma première question. Et ma deuxième, merci, avant qu'on parte plus loin, c'est est-ce que, du coup, si Artefact, le projet en tant que tel, puisque on dit Heroic Fantasy, les éditeurs sont peut-être ou Medieval Fantastique, pardon, les éditeurs sont moins chauds là-dessus, est-ce que c'est peut-être pas le moment de partir sur un tout autre projet ou carrément un autre chose,
un autre univers,
la SF par exemple, ou
voilà, c'est mes deux questions,
ou quelque chose de moins tranché, ouais, pourquoi
c'est
pas,
je sais
pas,
c'est un truc sur la vie quotidienne, je sais pas, un truc
tout à fait
un truc chiant, quoi.
Un truc
pas forcément,
non, mais la Taniguchi par exemple, comme on évoquait tout à l'heure avant l'enregistrement,
t'as complètement raison,
c'est un talent Taniguchi, c'est vraiment.
J'ai vu un type là qui a écrit l'histoire du cannibale aux États-Unis. Enfin, l'enfance du cannibale, enfin, c'est basique comme histoire, mais ça a l'air super intéressant. Quoi.
Cannibale, basique. Oui, il y a des communs quand même.
En fait, il s'attarde pas sur l'acte du type. Il fait tout ce qu'il a vécu avant. C'était a priori un pote de collège. Et il a écrit son histoire quand ils étaient ensemble au collège et lycée. Et après, le type est devenu cannibale. Mais ça, on s'en fout. Et donc voilà, je trouve ça intéressant, quoi.
Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il y a, enfin.
T'as complètement raison, en fait. T'as complètement raison. Tu parlais, Nico, de SF, c'est exactement ça. Moi, c'est vrai que là, je pars complètement sur autre chose. Là, étant donné que Cédric a réussi à sortir cette petite histoire, cette histoire courte, je me suis mis aussi à en écrire en cours, parce que justement, j'ai un gros défaut, c'est de partir dans les trucs un peu trop gros. Et donc là, j'en ai une de quasiment terminée. Je lui en ai parlé la dernière fois. Je pense que je vais même bientôt t'envoyer le fichier. Et donc voilà, ouais, effectivement, et partir sur d'autres thèmes, hein, complètement différents. Et pourquoi pas, effectivement, des choses qui et de la vie de tous les jours. Oui, pourquoi pas.
Ouais, donc finalement, tu te fais violence par rapport à ce que ton naturel.
Par rapport à mon choix naturel à la base, je me rappelle quand même que quand j'ai commencé à écrire Artefact, c'était purement pour m'amuser et me dire bah tiens ça peut être sympa, etc., et que ça a pris une certaine ampleur jusqu'à aller voir les professionnels. Mais effectivement, non, me faire violence peut-être pas, mais en tout cas me dire bah tiens, surtout que des idées j'en ai, donc maintenant il suffit de bien les travailler, en fait. Et en fait, je reviendrai surtout sur le fait que comme Cédric, qui a réussi à s'améliorer, à améliorer beaucoup son dessin, énormément. Quand je vois aujourd'hui ce qui sort dans l'Enfeuse Mag, c'est énorme par rapport à ce qu'on présentait il y a deux ans maintenant, même plus que ça.
notamment avec Kirei Kaito, il a pris du temps pour travailler. Il faut que je fasse pareil. Mmh. Il faut du temps. C'est du temps.
Juste un truc.
Voilà, je vends ma maison. Je divorce. Voilà. Je vends ma fille.
Oui, ça c'est une bonne idée, ça. Juste pour faire la boucle.
Je plaisante.
Avant que Marius pose sa question, tu dis je vais prendre le temps comme Cédric. Mais là, le truc, c'est que tu as repris le boulot. C'est pour venir à ma première question, parce que je suis tenace. Comment ça se gère ce retour en fait au boulot finalement, puisque
bah c'est oui effectivement c'est une petite souffrance de parce que l'histoire courte que j'ai écrite durant. Durant mon chômage, durant ma période où je me cherchais un peu, a fini par être édité quand j'avais retrouvé un travail. Donc je me suis dit, si jamais il y a un écho maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je reprends, je me relance, plus de droit au chômage, plus rien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? La question, pour le moment, va pas vraiment se poser parce que je suis sur un autre projet qui n'a rien à voir où je vais retaper une maison. Elle va pas durer très longtemps, mais ça va m'écarter des planches à dessin pendant quelques mois. Et puis, de toute façon, je vais continuer à la jouer cool. Ça sert à rien de se prendre la tête. Personne m'attend. J'arriverai quand j'arriverai. Je suis pas pressé. Et effectivement, comme disait Laurent, tu bosses, tu récupères vraiment. Enfin, tu fais le travail. Voilà, le travail, c'est tout quoi. Tu donnes tout ce que t'as et puis tu vas voir ce que ça va donner. Si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. C'est pas grave. Je suis pas pressé. J'attends pas ça pour vivre. C'est un rêve de gamin que j'espère atteindre.
Et du coup, cette publication au mois de février dans l'Office Max, c'est une étape, une consécration, c'est un grand plaisir.
Pas une consécration, c'est un putain de gros plaisir même. Ouais. Quand tu vas chercher ton petit bouquin tout seul, t'as envie de dire à tout le monde, hey, oh, c'est moi. Alors pour la petite histoire, je suis arrivé dans la librairie, j'en ai pris 4. Hein, donc voilà, je l'ai donné à ma mère, enfin, tout le monde en a eu. Ils en avaient 4, hein, je n'en ai pris plus. Sinon. Et j'avais envie de dire au mec, j'avais une grande banane, j'ai pourvu qu'il me pose la question de savoir pourquoi je souris. Et personne ne m'a demandé, j'étais très déçu. Mais du coup, j'ai passé ma journée au téléphone à dire aux gens, ah, c'est génial.
Alors bon, moi j'ai une question justement là-dessus. Donc comment, parce que tout à l'heure tu disais que vous êtes fait saquer au speed booking. Ouais. Donc, comment tu arrives à te faire éditer donc aux éditions Soleil dans l'Enfance Mag et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Est-ce qu'il y a du financier? Est-ce que
alors d'abord comment on en arrive là? Déjà il y a eu un autre speed booking à Angoulême en 2013 dont j'ai pas parlé. Ça s'est passé 4 mois après celui de Paris où j'ai dû aller tout seul puisque Laurent pour des raisons tout simplement de du travail
professionnel.
Voilà, professionnel ne pouvait pas y aller. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai pas pu présenter le projet Artefact puisqu'ils m'ont tout simplement dit, ils sont toujours très très fins. Il y a pas de scénariste, on parle pas scénario. T'es dessinateur, tu me montres ce que tu sais faire. Il a même pas lu. Il me fait de toute façon, j'ai lu les dialogues, ça m'intéresse pas. Bon, terminé. Voilà. Alors,
Angoulême, c'est encore autre chose. Hein. C'est l'usine hein, là-bas. Hein.
Ouais,
pendant le festival de BD.
Pendant le festival, tu as une
tente. Et à Saint-Jacques-sur-Darnétal, tu l'as pas fait.
C'est pas la même envergure et il y a pas de speedbook.
Bah, écoute, non, mais
c'est
après, intéressant.
C'est vrai. Non, mais
après,
t'as tout à fait raison. Tu peux rencontrer des gens intéressants, mais ils sont pas là pour ça.
Mmh, oui. Non, mais d'accord. Mais
les gens, tu les fais chier souvent.
Enfin, là, t'as rencontré quand même des gens. Là, t'es quand même, c'est les éditions du Soleil. Ouais. C'est pas rien. Je veux dire, ils connaissent ton boulot. Est-ce qu'il y a possibilité de créer une sorte de toile d'araignée ou ouais. Ils te proposent éventuellement de te rencontrer avec ton frère pour lire les premières planches et éventuellement proposer un travail de ça. Il faudrait que tu retravailles peut-être ça ou ça. Enfin, je sais pas. Ça t'a ouvert des portes. Je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi.
Moi, j'aimerais bien qu'on réponde à ma question, oui. Donc Soleil, alors comment?
Alors Soleil, bah du coup...
jaune, avec des rayons.
Du coup, à Angoulême, j'ai rencontré plusieurs éditeurs. J'ai rencontré Jean-Luc Istin, qui est un directeur de collection chez Soleil. Mm-hmm. Ça répond à ta question. Et ce monsieur m'a fait tout de suite... Bon, lui, il m'a promis Monts et Merveilles. Hein. Il m'a dit, oh, c'est génial, tu vas voir, tu vas te faire draguer, j'adore ce que tu fais. Enfin, complètement tout le contraire de ce que j'avais connu jusque-là. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, si j'avais eu à faire une tâche ou un mec inconnu, je me serais dit, bon, allez, on me la fait pas. Là, c'était Soleil, juste un gars dont j'avais lu plusieurs BD, il scénarise, je sais pas, je crois qu'il a 14 séries en cours, enfin, c'est, on dit, bon, le gars, c'est le deuxième Arleston de Soleil, ou Arleston, je sais pas comment on dit. Et le gars, du coup, a lâché en route, en fait, il m'envoyait des mails, il me disait, ah, je te propose ça, tout ça, et puis au bout d'un moment, il donnait plus de nouvelles, j'envoyais des dessins, tout ça, il répondait plus.
Il est mort?
Non, il est pas mort, il a juste, il a 14 séries en cours, quoi.
Oui, il faut dire aussi
gars,
que
et le gars, il a
le
pas de temps
petit gars normand, bon, même s'il le pousse un peu, il y a un moment où il y a la réalité qui le rattrape. Quoi.
Et à Angoulême, j'ai également rencontré un gars qui s'appelle Yannick Lejeune, qui lui fait la même chose que Jean-Luc Istin, mais pour Delcourt. Pour la petite histoire, Delcourt et Soleil ont fusionné entre-temps.
D'accord.
Et Yannick Lejeune, lui, m'a fait une impression un peu plus sérieuse parce que dès le départ, il m'a dit j'aime bien ce que tu fais. Je l'avais vu, on l'avait vu déjà tous les deux au Speed Boating de Paris. À l'époque, c'était lui qui avait été le plus prolixe sur ce qu'on faisait. Il nous avait donné plein de critiques et surtout plein de directions dans lesquelles bosser. Donc tout ce qu'on a fait comme travail à partir de septembre jusqu'à janvier, on l'a fait dans le sens de ce mec-là. Parce que c'était lui qui avait été le plus bavard, donc on s'est dit bon, bah voilà, on sait ce que lui il veut. Au pire, c'est lui qu'on suit, quoi. Et effectivement, quand je lui ai montré le produit, pas achevé, mais en cours de route, en janvier, il m'a dit waouh, 4 mois, waouh, quoi. T'as fait un putain de progrès, j'ai rien à redire, j'ai presque envie de te casser rien pour voir si tu peux encore progresser. Enfin, mais je peux rien te proposer, j'ai pas de projet, donc j'ai pas de. Voilà, je te donne mon numéro, je prends ton adresse et ton numéro. On se rappelle dans quelques mois, j'ai peut-être un projet, mais bon, je suis pas sûr. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Il m'a rappelé 4 mois après en me disant bon, bah voilà, Yannick, te rappelle, pas de soucis. J'ai un projet.
Oui, je me souviens bien.
Rappelez-moi.
Yannick qui ? Non, je connais pas. Ouais, si tu veux vendre des téléphones.
C'est un faux numéro, monsieur.
Pas intéressé.
Ah, c'est clair. Et donc le gars me dit bon bah voilà, j'ai un scénario écrit par un astrophysicien français qui est Jean-Pierre Luminet, pour ceux qui ne le connaissent, qui est une renommée mondiale sur les trous noirs, enfin voilà. Rien de sexuel.
Pourquoi il regarde Didouille tout de suite en disant
elle a réagi tout de suite. Et du coup voilà, c'était une adaptation de roman qui est de vulgarisation scientifique et il y avait quelque chose de solide, de concret, quoi, d'un seul coup. C'était évidemment sans Laurent, c'était juste le dessin. Le mec, de toute façon, il n'avait pas revu Laurent à Angoulême, donc il y pensait plus. Et il m'a filé carrément des planches et je les ai réalisées. Il m'a dit c'est génial, j'adore, je suis sûr qu'on va bosser ensemble, fais des couleurs. J'ai fait des couleurs. Il m'a dit je suis moins fan de tes couleurs, mais j'ai quand même les proposé à guider le cours et j'ai plus jamais entendu parler. Le gars, il a jamais répondu à mes mails, à rien.
D'accord.
Ça, c'est terrible.
Ça, c'est terrible.
Ça, c'est vraiment terrible.
Et c'est un peu la réalité de.
Est-ce que ça a été édité? Parce que parfois, c'est filou, quoi.
Il y a eu 2 pages pour 4 albums, donc non, forcément non.
Non, mais en dehors de toi, peut-être, c'était ça la question.
Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a repris le projet?
Non, il est jamais sorti. Non,
le projet n'est jamais sorti.
Non, il est jamais sorti. Donc, il est peut-être encore dans les tuyaux quelque part. Je suis peut-être même encore. Mon nom apparaît peut-être encore quelque part, mais en tout cas, j'ai jamais eu de retour. Et si ça revient,
ça doit être
ça, c'est hyper dur parce que
c'est hyper frustrant.
Pire que de se dire, bah non, ce que tu fais, c'est nul.
Oui, à la limite,
bon bah au moins tu sais où t'en es.
Que te dire,
c'est vachement bien. On va bosser ensemble. Je me souviens de certains mails qu'il recevait et qu'il me lisait. Je lui dis, mais ça y est, c'est bon, quoi.
C'est parti.
Il a crié, c'est parti.
C'est parti.
Et non.
Ah ouais, là non. Ouais.
Et soleil.
Et soleil.
Et soleil.
Et bien, soleil, en fait, c'est la troisième personne qu'on avait vue et en septembre à Paris et qu'on j'ai revu moi
c'est
tout
bien,
seul.
C'est plus gnasse, Marius.
Ah oui, non, mais lui, il se bat.
Lâche pas le morceau, tu sais, c'est un gitan.
J'en pose pas beaucoup de questions. Mais,
il a dû voir un bout de cuir qui traînait, je sais pas. Il va
Ça veut savoir comment t'as fait et combien ça rapporte.
Combien ?
Bah écoute, c'est très simple.
Tu traduis en poule, par contre. Faut qu'ils comprennent.
En poule en égo. Avec ça là, en fait, tu peux acheter des caravanes estrives.
Alors c'est une troisième personne que j'ai rencontrée qui m'a proposé d'envoyer une histoire courte dans un premier temps, parce qu'elle, c'est pareil, elle avait rien à me proposer, mais elle aime bien le style. C'est ce que j'ai fait. Elle a transmis au Lanfeust Mag et elle a suivi derrière. Elle a suivi, elle a tenu ses promesses. Elle m'avait jamais promis grand chose, mais en tout cas, elle est allée jusqu'au bout. Donc jusque là, c'est la personne la plus sérieuse.
C'est une femme.
C'est une femme.
Ouais, voilà.
Elle s'appelait Adeline Fourquin.
Et merci Adeline.
Elle s'appelle toujours d'ailleurs.
Elle s'appelle toujours, oui, sauf ce voilà, c'est ça. Et Adeline Fourquin, c'est le numéro 3 de Soleil en fait, puisqu'elle était là depuis le début.
D'accord. Voilà. Ah ouais, ça c'est une bonne avancée. Par contre,
c'était
une super avancée.
Oui, la preuve. Ça c'est
du concret vraiment quoi.
Et pour répondre à ta dernière question, c'est rémunéré, c'est pas beaucoup rémunéré, c'est un peu plus de 100 euros la page.
D'accord.
Voilà, net.
Okay. D'accord. Mais pour chaque parution. Enfin, non, pour autant d'exemplaires.
Non, c'est forfaitaire. Oui, pour chaque magazine, stream. Il touche 100 euros par page. Alors, ce qui fait que le soleil va bientôt couler.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est distribué dans toute la France. Tu t'es au courant quand même.
Non, mais ce que je veux dire,
ça coûte 5 euros le truc à la base.
5,20 euros, dis-nous. Ta BD est achetée à 100 euros par page,
ouais,
ça.
Ouais.
Et basta. Donc maintenant, c'est leur droit.
Maintenant, ça leur appartient. Ils peuvent la rediffuser s'ils veulent, mais ils sont obligés de me nommer, etc.
Donc ça t'a coûté 600 euros.
Ça m'a
rapporté.
Ça m'a rapporté.
Ça m'a rapporté. Ça m'a rapporté.
Ça ne leur a coûté que 600 euros.
Mais tu fais des maths aussi, normalement, toi, non?
Non, mais moi, j'ai grande section de maths.
Ah oui, pardon.
Je ferai 10, moi. 1, 2, 3.
Si je peux me permettre, ça ne me semble pas beaucoup.
Bah, voilà, c'est ce que je veux dire, en fait.
Pour le temps passé dessus, j'imagine.
Pour le coup, ils se sont excusés, d'ailleurs, parce qu'apparemment, c'était payé le double il y a encore quelques mois de ça. Mais scoop, premier sur la
queue. Ils vont couler.
Le Lanfeust Mag est pas dans sa meilleure année, on va dire.
Ah ouais.
Voilà.
Donc bah, la presse en général est pas forcément sur une pente ascendante.
C'est un monde en crise aussi. Hein.
Ouais.
Moi j'ai une question, c'est par rapport à la, c'est pas la concurrence que ce serait quand même, mais c'est par rapport au, au... toi tu n'es pas tout seul à proposer des choses, vous n'êtes pas tout seul à proposer des choses. Les gens qui sont, c'est pas en compétition avec vous, mais qui sont dans la même situation que vous, il y en a combien? C'est vraiment, ils me touchent pas donc.
Bah, par exemple, à Angoulême, on était à présenter les projets sur 3 jours, on devait être pas loin de 1000.
C'est énorme.
Donc, ça déplacé. Donc c'est, tu comptes tous ceux qui n'ont pas pu faire la route.
Donc ça veut dire que l'offre, elle est énorme pour les éditeurs finalement. Ils ont un paquet de gens qui sont
un vivier.
Vous qui faites de la musique, je pense qu'on peut.
Oui, on est
ça
un peu dans le même.
Voilà, c'est à peu près la même chose.
Je pense
qu'il y a pratiquement, je pense, enfin après, je ne connais pas les chiffres bien sûr, mais
c'est
je pense qu'il y a autant de. Voilà. Ouais, excuse-moi.
Il n'a pas le temps, il bosse.
Voilà. C'est pas faux. Et moi aussi maintenant. Oh.
Non, mais c'est comme toutes les formes d'art en fait. L'oreille et l'œil qui, enfin, l'oreille qui écoute, la preuve, hein. Christophe, il aime pas
le
Korn. Nico, il adore Korn. Enfin, les sensibilités sont propres à chacun. Et l'œil, enfin, le dessin, il parle ou il te parle pas. Une BD, ça pardonne pas. T'as pas besoin de forcément lire. Excuse-moi, le scénario, t'ouvres la page. Si le dessin te plaît pas, moi, je vais pas
plus. Inversement aussi, tu peux avoir un dessin qui est aguicheur et derrière, t'as rien de
plus. Eh ben oui, non, mais on est d'accord.
Tu peux même avoir un
dessin
qui plaît pas forcément, une histoire qui est tellement solide.
J'en ai parlé de Lock and Key, par exemple. Je suis pas hyper fan. Dessin.
Ah, il est.
Ah, moi j'adore les deux. Moi j'adore les deux.
Le dessin. Après, il est grandiose.
Je suis pas hyper fan, n'empêche.
C'est une tuerie, le mec.
Mais par contre, je suis pris par l'histoire. Voilà.
Mais t'as des
moi dessins. J'aime Arthur de Pince. Alors après.
Ah bah, t'as tout à fait raison. T'as lu le.
Zombilenium.
Bah, Zombilenium, mais pas seulement. La Marche du Crabe.
Ah, j'ai pas lu.
Ah, lis La Marche du Crabe, c'est complètement différent.
Bah, Ludo,
de ce qu'il
faut que je lise La Marche du Crabe. Il
est... 3 volumes.
Donc,
hein.
Prochaine
volumes,
fois que tu vas chez le libraire.
Ouais, 3 volumes, c'est terminé. Et franchement, il a même adapté en court-métrage d'animation. Et c'est vraiment, vraiment génial. C'est complètement.
Bah voilà, bah tu vois.
Une petite chose, tout à l'heure, Freddy parlait de rappeler la revue dessinée. Souvent, ils sont en recherche de scénaristes et dessinateurs. Bon, alors, c'est vrai que c'est de l'actualité, c'est-à-dire qu'il faut trouver un sujet d'actualité à illustrer. Est-ce que c'est pas une piste aussi à creuser?
Je dois avouer qu'on n'a pas franchement creusé toutes les pistes. On a été peut-être même un peu con d'ailleurs.
Peut-être resté classique finalement.
Mais non, ils sont restés sur leur envie initiale.
Voilà, c'est ça. Mais des fois, il faut se faire un peu des entorses. Et c'est vrai que à trop s'accrocher à son rêve, des fois, on se rend pas compte qu'on est.
Tu passes à côté d'autre chose.
Ouais, on est la tête dans le guidon sur notre truc et on passe forcément à côté de
ça. C'était ça, sans ma remarque par rapport à changer de projet ou changer d'orientation à un moment.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Puis
sexuellement.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est
et c'est aussi un milieu forcément artistique. par rapport à ce que disait Bidouille tout à l'heure, c'est le milieu artistique et des fois.
Bidouille.
Voilà, Didouille.
Oui, c'est bien.
Mais j'avais dit bidouille. Et il y a aussi une part de chance. À un moment donné, tu peux tomber effectivement, comme tu disais, devant quelqu'un à qui ça va pas du tout parler. Et juste à côté, tu vas avoir quelqu'un qui va dire c'est vachement bien ce que tu fais.
Ouais.
Parce qu'il y a une part de chance. Il y a
des gens de talent. Et, voilà. Et du coup, par rapport justement à vos speedbooking, là, ce que vous évoquiez tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez suivi la ligne d'une personne parce que c'est celle qui avait été la plus prolixe. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas une ligne à impasse et que peut-être en écoutant quelqu'un d'autre, il y a un moment, faut faire un choix aussi.
Ah bah, ah,
déjà entre vous, ça doit peut-être pas être évident toujours.
C'était très simple, c'est le seul.
Et la vie extérieure.
Alors je vais te donner l'avis du deuxième, celui qui était juste derrière lui, qui était pour le coup sur, je crois que c'était le Lombard. Il m'a dit, c'est entre Sillage et Gottlieb. J'ai l'impression.
Gottlieb. Hein.
Et il m'a dit, je pourrais la lire à l'envers, que ça me paraît pas plus. Donc voilà, c'est pas facile.
Oui, donc celui-là, tu l'écoutes pas tant que ça, en fait.
Voilà. Ouais. Donc là, tu prends le truc sous le bras, tu repars avec.
En fait, il faut vraiment se blinder, quoi.
Enfin, faut se blinder, ouais. On a suivi la seule personne qui a dit des choses positives.
Constructives, un petit peu.
Voilà. Voilà. Il y avait Adeline Fourquin aussi qui avait été gentille, mais vraiment, ça ressemblait plus à de la gentillesse, presque de la pitié.
Oh non, j'irais pas jusque-là.
J'ai pas senti de compliments extrêmement
sincère. Elle m'a juste dit, ouais, oui, y a vraiment, la couleur arrête. Par contre, ouais, il y a des choses, continue.
Cela étant, c'est elle qui t'a publié, quoi.
Exactement. C'est elle qui m'a donné la piste.
Il est très dur avec lui-même.
Non, mais c'était pas en septembre, ça, c'était en janvier. En septembre,
elle avait. Qu'est-ce qu'ils ont sur ta couleur? Parce que c'est vraiment. Enfin, est-ce que ça peut. Est-ce que ça doit être forcément l'argument qui.
Je pense
que
oui, ça joue énormément de choses.
C'est tu veux parler de la couleur d'avant.
La couleur d'avant, ouais, pas cette couleur-là. Ouais. La couleur.
Non, c'est parce que si j'ai bien compris qu'ils étaient fans et ce que tu. Mais c'est pas ça, c'est que.
Bah, va voir quand même sur
après,
le blog.
C'est ton.
Tu vas voir les anciennes couleurs. Il y avait beaucoup à dire.
C'était quoi? C'était des couleurs criardes, moins nuancées ou pas assez justement
marquées. C'était pas assez. Il y avait quelque chose d'assez. C'était gris. Même quand j'essayais d'en
faire. Ah oui, ça a vachement changé alors du coup.
Voilà, c'était très gris et puis.
C'est super tendance, ça donnait, le gris.
C'est taupe.
Je vais faire des BD taupe.
C'est ça.
Et il m'a rouflé un peu dans les coins, mais c'était nickel.
Voilà, exactement.
Tu développes un univers gris et lui, il fait taupe.
C'est ça. T'as un côté un peu métallique qui faisait pas du tout naturel. Donc, quand tu fais une peau et que le mec brille comme s'il était en chrome, il y a un souci. Et c'était ça, le souci. Voilà.
Ça faisait trop surfeur d'argent, quoi.
C'est ça. Sauf que j'avais 75 ans de retard.
Ça aurait donné quoi, le surfeur d'argent au Moyen-Âge?
Absolument.
Voilà. Ça serait pas vendu.
Ça peut être un concept.
C'était rouillé.
Le destrier d'argent.
Peut-être une raison.
Ah oui.
Le chevalier blanc, il existe.
Eh bien. Et aujourd'hui, Ludo, ouais.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, de toute façon, tu disais tout à l'heure, c'est pas une consécration parce qu'en fait, à chaque fois, les preuves, il faut les refaire systématiquement. Mais
ouais.
Est-ce que du coup, vous avez maintenant que vous avez cette entrée portes, ouais. à l'Enfeus Mag, est-ce que éventuellement, vu le contact que vous savez que vous avez la possibilité peut-être de placer quelque chose.
Ouais.
Et
profiter de l'aspiration, quoi.
C'est ça.
Exactement.
Et, fait, est-ce ouais. que parce que l'Enfeus, c'est quand même, ils étaient assez orientés donc médiéval fantastique. Mm-hmm. Ils ont un peu ouvert leur chakra quand même.
Tout à fait. Bah déjà, ils ont racheté énormément de choses, donc ils ont des petites maisons d'édition qu'on connaît pas forcément. Noctambule, je crois que c'est eux. Futuropolis,
d'accord,
c'est eux. Cadran solaire, c'est eux. Et donc ils ont. Tu peux en proposant un soleil, tu proposes à plein de lignes éditoriales différentes.
D'accord. Mais là, vous allez être quoi, comme des pigistes, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez reproposer, vous allez refaire la même chose. On va pas venir. On vous passera de commande pour l'instant.
Non, on ne passera pas de commande. De toute façon, faut pas attendre
faut
après.
Pas rêver, on n'en est pas là.
Non, faut pas rêver. Faut pas rêver. Donc, dans un premier temps, effectivement, ce sera pigiste. Je sais que soleil. Juste pour vous expliquer l'histoire, je l'ai proposée en octobre. J'ai eu une réponse en janvier. Donc pour qu'ils lisent mon histoire, il a fallu 4 mois.
Oui.
Donc ça vous donne une idée du nombre d'histoires qu'ils reçoivent.
Bien sûr.
L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai le mail direct de la rédactrice en chef, etc. Et je lui ai dit, est-ce que je peux me servir de ce canal-là pour proposer la prochaine fois un projet? Ou est-ce que je suis vraiment obligé de reprendre à zéro en envoyant sur le site et tout ça? Elle m'a dit, aucun souci, au contraire.
Oui, donc là, c'est déjà une étape de passer.
Mmh. Voilà. Et tout en sachant qu'on peut, pourquoi pas, proposer une nouvelle histoire en 6 pages. Et puis,
c'était le but.
Dans un premier temps.
Oui, dis-lui.
Alors, si t'es capable de faire une histoire de 6 pages.
C'est plus dur, c'est très très dur.
Ouais, parce que
c'est très compliqué. C'est
avec un début, un développement et une fin.
On est d'accord.
Mais
après, t'as les brèves, des petites histoires courtes qui font une page. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le jour, en fait.
C'est encore plus compliqué. C'est très difficile à faire. Vraiment, c'est une gymnastique.
Parce que tu restes dans ton idée de médiéval fantasy ou parce que tu peux. Enfin, ça, tu le sens pas.
Si tu me disais, moi je suis à l'aise dans le rock, tiens aujourd'hui je vais faire du jazz. T'es pas forcément pop, c'est pas parce que tu sais jouer de la guitare que tu peux jouer du jazz, parce que tu fais du rock. Là c'est pareil, c'est comme si tu me dis, t'as fait 6 pages, tu peux pas en faire 3.
C'est une autre technique quoi.
Ouh, c'est autre chose. Parce qu'en fait c'est pas juste du dessin, c'est de la narration.
Non,
tu revois ta narration à zéro, faut que t'arrives à tout minimiser, faut que tu fasses des raccourcis, des ellipses sur à peu près tout ce qui se passe. Sans négliger l'action ou une chute ou une mise en place, c'est hyper dur.
Et la BD, c'est une narration très particulière parce que c'est un art séquencé en fait. Donc tu as sur une page, tu vas avoir différentes actions, mais il faut les montrer d'une manière à ce que déjà le lecteur, il faut savoir que par rapport à un film où c'est forcément des images animées et à un moment donné tu vois pas tout de suite ce qui se passe à la fin, le lecteur lui quand il a la page devant les yeux, il peut lire tout de suite ce qui se passe à la fin de la page. Tu vois, donc la narration dans la BD et l'art séquencé, c'est complètement différent d'un autre type de narration. Et il faut aussi le réfléchir comme ça. Et du coup, il faut choisir les séquences et les actions que tu vas montrer et ceux que tu vas pas montrer. C'est ce que disait Cédric avec ses ellipses. Et c'est ça la première difficulté, en fait, dans le scénario de BD, c'est de savoir ce qu'on va montrer. Voilà.
Ouais.
D'accord.
Ah bah oui.
très bonne réponse.
T'avais un exemple intéressant, c'était même qui date maintenant d'il y a un gros paquet d'années. C'était les origines de Superman par Joe Shuster quand ils avaient commencé à faire, enfin la première sortie qui tenait sur deux pages en fait. C'est rigolo de voir comment ils avaient raconté ça dans le premier comics qui était sorti à l'époque où ça tenait sur deux pages. En fait.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui,
c'était très clair. Et il manquait rien. Voilà. Il s'ennuyait pas une seconde.
Un des auteurs aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de Tintin, mais Hergé, c'est encore aujourd'hui un truc de fou quoi. Tu regardes son sa narration séquencée sur ses albums, c'est un truc de fou.
Lui, il est encore plus fort parce qu'il n'y a jamais d'expression réelle du mouvement, ouais. Et pourtant, c'est toujours vivant. C'est fou.
Ouais. Et ouais. C'est incroyable. Hergé, encore aujourd'hui, c'est incroyable.
Ça te parle pas, peut-être.
Ah, moi, j'ai. Oh, enfin, écoute, quand j'étais petite, on m'a offert l'affaire Tournesol, on m'a offert l'étoile noire. Je l'ai lu parce qu'on l'avait offert.
L'étoile noire,
Star Wars. L'étoile noire,
c'était Star Wars. Oh la vache.
Comment il s'appelait ? Alors, c'est. Non, mais alors. L'étoile mystérieuse. Oui, autant pour moi. Non, mais ce qui prouve que. J'ai l'élu pour faire plaisir parce qu'on me les avait offerts. Je n'arrive pas à rentrer dans l'univers de Hergé.
Non, non plus.
Alors, par contre, j'ai eu.
Ils ont écrit On a marché sur Mars aussi.
Oh l'attaque. Oh, ça attaque.
C'était quoi ? Zobette ?
Zobie.
Non, vous avez remarqué, j'ai pas parlé de sexe. Alors, faut que c'est un moment.
Pas
ça
encore,
sort.
Attends.
Non.
J'ai l'impression que t'as parlé que de ça.
Non, c'est pas moi qui ai lancé l'histoire du slip. Hein, je suis désolée. Bah,
il faut dire que tu es nu. En fait, les gens le savent pas, mais tu es nu.
Mais ça nous aide à nous exprimer. C'est ça. Ouais.
Non, mais
on peut pas se lever, c'est con. Mais c'est
je reconnais ça. Le talent de Hergé. Enfin, j'ai même pas à le reconnaître, moi. Voilà.
C'est plutôt pas mal.
Il te remercie.
Ça doit lui faire plaisir.
T'en remercie.
Si tu nous écoutes.
Ses héritiers aussi. La fondation,
ouais. Tout. Pour des siècles.
Non, mais clairement, le monde de la bande dessinée, la lecture d'une bande dessinée n'est pas du tout la même et c'est pas du tout le même. Quand tu lis une bande dessinée, tu vas pas réagir de la même façon. Ton ressenti par rapport à un livre, c'est pas le même.
Et en fait,
genre, l'image, on te la suggère, tu l'imagines pas. Et lire une BD, c'est aussi être. Enfin, moi, j'aime bien être happé direct. La BD, si je la lis dans les minutes qui suivent, c'est bon, c'est acquis. Voilà.
Les schtroumpfs, t'as beaucoup aimé les schtroumpfs en fait à un moment.
Je déteste les schtroumpfs.
Les schtroumpfs et puis aussi, comment ça s'appelait
Boulé,
ça
Boulé Bill, non
Kena et le Scrameustache.
Ah oui, espèce de chat c'est bon, extraterrestre.
Scrameustache, je devais avoir ça au CDI aussi. Ah Freddy, on avait ça au CDI du collège.
Non, j'ai lu des Picsou, des Mickey Magazine.
C'est bien aussi ça.
Ça c'était génial. Les Pim Pam Pom.
Johan et Pierre-Louis, mais Payot aussi.
C'est fou tout ce que tu lis.
En fait, je lis plus.
Et Bill.
Non, moi c'est Arthur de Pince. Voilà. Non, puis j'ai eu aussi. Non, il y avait aussi celle qui a sorti.
Elle nous fait toute sa bibliothèque.
Enchaîne. Et Martine à la plage, Martine se marie.
La confession d'un canard sextoys.
Voilà. Mais c'est de Pince aussi, non ?
Non,
c'est un peu ce qu'il a fait dans la veine péché mignon, quoi.
Ouais, enfin, péché mignon, c'était quand même Clara, le fil conducteur. Ouais. Et là, dans Confession, c'est un canard. Et voilà. Enfin.
Je l'ai lu.
Ça a fait.
Je l'ai lu.
Vas-y Freddy.
Ludo. Pardon. Quand on parle de lecture, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est on en a pas tellement parlé, c'est
les influences.
Mais exactement. Ah. C'est-à-dire vos goûts, vos influences en matière de BD.
Ah, moi j'aime pas du tout la BD.
Alors voilà. Non mais vous lisez quoi en BD ? Est-ce que vous êtes plutôt BD Linclair, école belge ? Est-ce que vous êtes plutôt comics ? Est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, roman graphique ? Vous lisez quoi ? C'est quoi vos derniers coups de cœur aussi ?
Bah, je crois que Oeuf, tout à l'heure, t'as parlé un peu avec Laurent, donc tu sais que sa grosse ligne directrice, c'est la Marvel.
Ouais, moi, c'est beaucoup le comics.
D'accord.
C'est énormément le comics. Après, je lis aussi du manga, je lis aussi de la
du
BD.
Du comics indépendant aussi.
Ouais, de la BD dite franco-belge, mais ouais. Bon, de la BD, ouais.
Ah, je le conseille là-dessus.
Voilà, oui, il me conseille. Hein.
Ah, ouais.
Il
cool,
a de très bons conseils d'ailleurs.
Bah,
j'essaie de le conseiller en comics, mais il lit pas de comics. C'est pas
d'accord, d'accord.
Alors, j'en lis un petit peu, mais Lock and Key, ce genre de choses où c'est vraiment, ça sort complètement du lot. Mais
Vertigo, Joey, des choses comme ça.
Punk Rock Jesus,
Vertigo. Ouais.
Tente-le, le Punk Rock Jesus.
Punk Rock Jesus.
Ah, mais c'est celui-là dont je voulais parler.
Bah, écoute, si tu me le prends, je le tente.
Là, la collection, c'est Urban Comics.
Ouais,
c'est chez Urban.
Voilà, et je voulais parler de ça.
Donc, tous les Warren Ellis, les Garth Ennis, les compagnies, t'as des choses qui sont quand même assez formidables. Et moi, c'est vrai que j'ai pas trop. Alors, j'ai fait aussi ma période manga. C'était plus pendant le collège, tout ça. Et puis, par la suite, j'ai découvert tout ce qui était seinen. On en parlait tout à l'heure, Nico. C'est surtout Naoki Urasawa, Jiro Taniguchi, où c'est vraiment des auteurs qui sont. Jiro Taniguchi. Bah, il y a que toi qui a pas compris. Tout le monde le connaît. Non, c'est vraiment des auteurs qui sont incroyables.
Non, je connais Miyazaki, moi.
Miyazaki,
qui
mais
fait moins de la BD. Enfin,
il a fait Nausicaa,
il en a fait. Ouais. Et Akira, qui était d'abord.
Akira, c'est Katsuhiro Otomo.
Otomo, putain, j'ai une connerie.
Ah, ça, bah oui, d'ailleurs, je l'ai pas cité. Boulet, Otomo, c'est juste.
Otomo, c'est juste le
la
manga.
Quintessence. C'est le truc.
Le mangaka.
S'il doit y avoir qu'un manga à lire avant de mourir, ce sera Akira. Enfin, pour ma part.
Peut-être oui, tous les tomes,
je suis d'accord.
Pour commencer.
Tous les tomes, je suis
pour
pas convaincu.
Pour commencer, peut-être pas forcément. Ouais. Ah, si, vraiment.
L'histoire complète.
Sauf le 14, parce que c'est un book, mais sinon, tous les autres.
Je préfère le début, mais après.
Non, c'est vraiment, de toute façon, ça reste énorme de A à Z. J'ai pas lu Major Sarah d'ailleurs, faudrait que je m'y mette un jour. Et pour tout ce qui est franco-belge, moi ça va plutôt être la... tout ce qui est d'Orisson.
T'en as un génial, petit peu. Bah oui.
Tu vas voir Sentinelle.
Oui.
T'as Long John Silver, hein,
Jean-Pierre Dorisson.
Jean-Pierre Dorisson, tout à fait. Donc ouais. Xavier Dorisson, qui Long a fait John Mathieu Loffray, Long John Silver, qui est juste une.
Mathieu Loffray.
C'est incroyable. J'ai soufflé dans le micro, je m'en excuse, mais pff, je le refais, quoi. C'est juste énorme.
Sanctuaire, c'est lui aussi, non énorme.
Sanctuaire, c'était c'est lui aussi.
Mais avec Christophe Beck au dessin.
Avec Christophe Beck au dessin. Je crois que c'est sa meilleure place, Beck, au dessin, parce que tous les scénarios qu'il a écrits, ils m'ont perdu. Par contre, Sanctuaire était très très bon.
Vraiment bien.
Très très bon.
Et il a fait le Troisième Testament. C'est
le Troisième Testament.
Troisième Testament, d'ailleurs, il y a une suite qui sort, je crois que c'est en mai.
Le quatrième tome de Julius.
Non, non, Troisième Testament, je dis des bêtises.
Et c'était qui
Ah oui, Prophète. Le frère ressort chez Soleil.
D'accord. C'était qui la famille là qui était dans le.
Attention.
Dans les brasseries.
Pierre à feu.
Famille dans les brasseries.
Freddy.
Famille dans les brasseries, c'est ma mère, ça.
Non, ça. Il y avait, c'était dans, non, ça, dans les brasseurs.
Des brasseurs.
Claude.
Allez, je retrouverai.
De Van Am.
Hein,
ah, oh,
c'est vieux,
oui,
ça, les maîtres de l'orge.
Les d'accord, maîtres,
les
de,
maîtres
l'orge.
De l'orge, d'accord, ok.
C'est, non, c'est qui ça,
20 ans,
c'est
ça.
C'est vieux, ça.
J'ai jamais entendu parler.
Les maîtres de l'orge, ça a 20 ans au moins, facilement. Ouais.
Bah, c'était bien. Et le truc des.
Bah, Van Damme.
Ouais, Van Damme.
Van Damme. Van Damme.
Van Damme.
Van Damme.
Van Damme. Rien à voir.
Van Damme. Le bonheur, là. Ah, c'est vieux aussi.
Le bonheur est dans le pré.
C'était avec Claude. Avec
Michel Serrault.
C'est Didouille qui fait le quiz aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. On fait le quiz avant le quiz.
Ça se barre dans tous les sens, j'aime bien, moi.
Non, mais il y a de tout, il y a de tout. Mais si je dois conseiller un truc, c'est Long John Silver.
Faut que tu aies mon âge à l'antenne, c'est pour ça.
Long John Silver.
Je vais finir un peu ce qu'il a parlé, là.
Avec... Si je dois conseiller un truc, puisque on a eu des conseils au tout début, tu pourras mettre un lien. Ouais. C'est Long John Silver. Bien, ouais. Long John Silver. Et la deuxième, c'est, allez, on va dire deux. Un auteur à suivre, c'est Alex Salix. Il a pas fait grand chose. Il a fait le Troisième Testament, première partie, et il scénarise la deuxième partie.
Et il a fait Siegfried.
Et il a fait Siegfried, qui est juste une tuerie phénoménale. Bah, tu chercheras, tu le liras, ou je peux te le prêter si tu veux. Mmh. C'est juste énorme.
C'est vraiment très très bon.
Un dessinateur de génie, un scénariste de génie. Vraiment. Et voilà pour les influences. Il y a de tout, en fait, tout simplement.
Ça marche.
Ok. Bah, en tout cas, c'était très instructif. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses à la fois sur le fond et sur la forme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas. Puis peut-être, puisque Freddy a ses entrées, peut-être on pourra avoir un autre scénariste et dessinateur de BD. Peut-être qu'on pourrait demander à
Steve Baker,
Monsieur Steve Baker de passer.
J'espère
aussi,
qu'il accepterait l'invitation.
S'il accepte l'invitation, on ne sait jamais. De toute façon, on peut la lancer pour avoir un autre point de vue que de quelqu'un qui travaille tout seul aussi. Enfin
ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et puis qui fait dans un tout autre domaine. Donc
s'il y a un autre domaine qui vous intéresse, il y a peut-être un gars qu'on connaît qui pourrait être intéressé, qui est
un
super
encreur.
Sympa, qui est encreur. Donc c'est vraiment un autre. Et lui bosse pour les États-Unis, pour Dark Horse
et Marvel. Il a fait du Marvel.
Marvel UK.
Il est
Rouennais,
ouais.
Tu connais aussi, voilà, toi Julien Gonarbert,
ouais,
qui est gentil comme tout.
On a fait son portrait.
Et qui serait peut-être intéressé. Il est pas peu bavard sur son boulot.
Comme vous, quoi.
Adorable.
Voilà, c'est ça.
Adorable. Et il a fait du Star Wars, ce qui fait de lui un demi-dieu à mes yeux. Et il fait encore du Star Wars, d'ailleurs.
D'accord.
Bah écoutez.
Demi seulement.
On va prendre. On a perdu.
Il est pas très grand.
Et donc, en creur, c'est vraiment une discipline particulière.
Ah bah quand on voit son travail et mon travail, on se rend compte que c'est une discipline très particulière.
C'est vrai. C'est
il y en a en France, il doit y en avoir 5 ou 6 à tout péter.
C'est quoi la difficulté d'être en creur de génie?
Il vous en parlera.
Ah, mais voilà. Serais-tu
son agent, Laurent? Je ne sais pas, nous dire.
Je préfère des scénarios parce que tu as
en deux mots.
En deux mots, bah, c'est pas lui qui dessine et il est capable de magnifier le travail d'un autre et de voir de le transformer, de le rendre meilleur. Et ça, c'est chapeau. Ouais. Chapeau.
En tout cas, tu le vends bien. Franchement.
Mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est un métier très très rare, quoi. Il y en a très peu en France.
C'était mon voisin. Quand il habitait encore rue de Robeck, et effectivement, le gars est impressionnant.
D'accord. Eh ben, on verra ce que l'avenir nous dira, si on aura certainement à reparler de la BD, parce qu'on est plusieurs à bien aimer cet art autour de la table. Et puis, ben, je vous propose de passer à la suite. Sometimes when the rain falls, I think of you. It gives me this peaceful feeling. It's true.
Donc finalement, nous n'avons pas de rubracabrique. On passe directement à Starlet qui a testé pour nous cette fois-ci
les téléphones Wiko.
Waouh!
Génial!
Donc c'est un test qui m'a pris quand même plusieurs mois.
On fait du geek.
Ça m'intéresse beaucoup parce que je dois en acheter un d'ici le 25 avril.
Eh bah, ben écoute un peu ce que je vais te dire.
L'épisode sera publié, tu pourras l'écouter.
Ça sent la promo là.
Qu'est-ce que c'est?
Mais qu'est-ce que c'est? Bon, pour vous exposer un peu toute la problématique, l'année dernière j'avais un smartphone qui était un Xperia Arc S, donc de Sony Ericsson, et j'en étais super déçue en fait. Le téléphone ramé à mort, j'avais pas de place du tout pour mes applis malgré ma carte SD, parce qu'en fait dans le téléphone il y avait beaucoup d'applis installées et qu'on pouvait pas virer. L'autonomie était non suffisante, voilà. C'était carrément de la merde.
Une daube.
Donc comme j'avais un forfait free, je savais que je devais casquer pour mon téléphone
plein pot,
et donc j'ai commencé à mener mon enquête sur des smartphones convenables à prix abordable. Donc, j'ai posé des questions à mon entourage. Ouais, t'es content de ton téléphone? Ouais, c'est quoi comme marque? C'est un Samsung Galaxy S4.
Un entourage S4. Bizarre. Je ne veux pas voir ces gens, je ne veux pas les voir chez moi.
C'est pas nous, ça.
Ah, et il coûte combien ton Samsung Galaxy S4? Je l'ai payé 1€. Ouais, mais si je l'achète sans abonnement, 480. Ah.
Ouais, facile. Hein.
Facile.
Oui, facile.
Tu nous tiens en haleine.
Un iPhone 700.
Alors, je l'ai retenté.
Alors
t'es content de ton téléphone? Non. Oui, c'est quoi comme marque? Un iPhone 5S. Ah, il coûte combien sans abonnement? 700€. Ah. Donc, je me suis dit, je vais finir chez Orange, en fait, me prendre mon petit téléphone tranquille et tout.
Orange,
sauf
autre,
que.
Hein.
Bon, pas sectaire.
Sauf que quoi?
Ma copine Fofi.
Le suspense est intense.
En premier. Ah, donc, je dis, Fofi, t'es contente de ton téléphone?
Ouais.
C'est quoi comme marque?
Parce que Fofi, elle est un petit noix.
Bonjour.
Bonjour.
J'adore le NAM.
J'aime bien mon téléphone Wiko.
Alors, combien NAM? Très bon le NAM.
On va vous niquer.
Ah, tu sais, moi, bien alors, la chinoise.
Ça va.
Bon, on va arrêter les blagues racistes, là.
Non, c'est rapport à un sketch. Et donc, elle me dit effectivement que c'est un Wiko et qu'il coûte sans abonnement 150€.
Oh bah.
Ah bon?
Ah,
et ça rime en plus.
Là.
Mais qu'est-ce que c'est que cette marque?
C'est Marius qui t'a écrit ton truc, mais pas pour ses rimes.
Ah, c'est pas mal quand même. Hein.
C'est moi qui ai écrit cette merde là.
Donc voilà, j'ai ma petite information, tout ça. Quelques semaines plus tard, je vois ma Didouille et mon Ludo qui viennent d'équiper leur fiston d'un Wiko. Parce que nous étions au courant qu'il n'était pas cher déjà.
En fait, t'as pas, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que t'as pas demandé aux bonnes personnes pour commencer. Voilà.
C'est ça, Sophie,
elle a demandé
parlé,
à en fait. Elle a plein de gens qui parlent bizarre.
Si, Didouille parle bizarre aussi. Hein.
Si, moi, c'est par pébard.
Juste une question, peut-être que tu vas y répondre, mais dans la gamme Wiko, on s'y perd.
Pas tant que ça, ils n'ont pas beaucoup de modèles.
Attends, 150€, c'est le modèle le plus haut.
Ça dépend après ce que
quoi.
Tu veux pour l'utilisation que tu en fais.
Je sais pas moi.
En fait, chez les Wiko, tu as la catégorie des mobiles. Des mobiles classiques et la catégorie des smartphones.
Et la des mobiles.
Les smartphones, ils ont trois gammes de produits. Il y a les Sync, donc comme a le fils de Didouille et Ludo. Les L. Hell.
Et les Starway.
C'est pas pratique, hein, les feuilles.
Non, c'est le bordel, en fait. Et les Heaven.
Et les Starway.
Heaven.
Starway fait partie de Heaven.
Starway, tout le
monde. Donc, il y a des sous-gammes dans la gamme.
Ah, c'est là que tu te perds.
Ouais, moi, je me perds.
Je sens que t'as perdu.
Non, en fait.
Moi, je vais avoir une.
Par exemple, le Darko.
Non,
pas Darko.
Le L. Hell.
Le smartphone le plus abouti est à combien?
Bah, c'est pas le plus abouti. Effectivement, moi, j'ai choisi le Stairway, qui m'a coûté 220€.
D'accord.
Il est super bien. Il ressemble au Samsung Galaxy S4.
C'est l'esprit, c'est, ouais, format Galaxy S4.
Donc, il est énorme.
Mais j'ai vu le changer, non?
C'est celui-ci, ouais.
Tu l'as changé, toi. Et celui-là te convient pas, non?
Ah, si, c'est celui-là.
C'est celui-là qui est en train de te vendre. C'est celui-là que je suis,
Marie. C'est celui-là qui est en train de te vendre. Mais il est vachement
comment
bien, c'est vrai que
220€.
Moi qui ai un Samsung par le boulot, c'est ça a rien à voir. C'est hyper fluide.
C'est une sous-marque de.
C'est pas une sous-marque. En fait,
c'est français.
Oui, c'est franco.
C'est français. C'est un importateur français.
Sino-français. Vous parlez tout simplement. Je comprends rien.
Comme quoi, le chinois était pas vraiment hors propos.
C'est pour ça qu'on avait pris l'accent.
Je me permets.
Non, c'est plus n'importe quoi.
Putain, tu as pas vu. T'es trompé de continent.
Ah, c'est une rabote, hein.
Android.
Oui, Jelly Bean.
Ouais, c'est sous Android.
Ah, les Jelly Bean.
Et donc celui dont tu parlais à 150, c'est la série Sync.
C'est voilà, c'est d'accord. Les Sync qui sont oui, qui vont peut-être entre 200 à
180 euros
avec une carte SD 11 ouais, giga. Alors les Wiko ont la particularité d'avoir deux SIM.
Deux emplacements de SIM.
Donc,
ce qui est pratique pour les gens qui ont un téléphone pro et perso.
Ouais, enfin, c'est ce que tout le monde me dit, mais je comprends pas pourquoi tu donnes pas le même numéro dans ce cas-là.
Bah parce que t'as des gens qui ont pas envie d'être appelés sur leur pro.
Donc ils virent leur SIM.
Ils ont pas envie d'avoir des gens qui connaissent leur numéro pro ou inversement.
Ouais, mais est-ce que tu peux couper la carte SIM pro tout en gardant.
Ça, je ne sais pas.
Tu peux l'enlever.
Bah, oui, il faut l'enlever parce que sinon,
moi, j'ai qu'une carte SIM dans mon téléphone.
Ouais, mais
fonctionne.
Non, je pense que tu dois, je sais pas comment ça marche. Tu dois pouvoir
Si tu la coupes,
en chanter une ou un truc comme ça.
Tu dois pouvoir en couper une si c'est.
Bah, tu peux peut-être ne pas mettre ton coquin par exemple.
C'est marre. Ça marche plus ma carte, j'ai coupé.
Et donc parce que je continue, hein.
Vas-y.
Le succès de cette marque est manifestement grandissant puisque sa part de marché atteint les 18% dans la grande distribution et 32% des ventes sur internet, ce qui la place au troisième rang du marché français.
Donc derrière,
sauf
hors offre opérateur.
Sauf que chez les opérateurs, la plupart des opérateurs Wiko, ils ne connaissent pas.
Exactement.
Enfin, je suis allé chez Orange cette semaine. Wiko, quoi? Quoi?
Non, c'est surtout qu'ils veulent
pas.
Ils doivent pas toucher grand chose sur le fait de te le vendre. Nous, on a fait le choix d'acheter indépendamment d'un opérateur, justement, pour amortir plus vite ton achat, parce que dès que tu passes par un opérateur, il te le propose moins cher ton téléphone.
Ouais, mais tu le payes pendant 4 ans, et puis tu le payes 3 fois.
L'abonnement, voilà. T'as un abonnement de 24 mois qui te bloque sur tout, alors que là, t'achètes ton téléphone et tu peux choisir n'importe quelle carte ou de forfait qui te lie pas un opérateur.
C'est qu'est-ce que je vais faire?
Alors, c'est bien
où trouves-tu les Wiko?
Alors moi je l'ai acheté chez Darty.
J'en ai vu à Carrefour.
C'est discount. Ouais, dans les supermarchés il est vendu quand même. Par contre à l'époque où je l'ai acheté, le Stairway n'était pas en vente en supermarché.
Oui,
donc je l'ai commandé sur Darty.
S'est vu.
Ça va tous les deux là.
Non, j'ai croisé Marius à Carrefour jeudi.
C'est génial votre vie, donc.
C'est extraordinaire. On s'en fout complètement.
Carrefour, c'est.
Et j'ai vu des
magasins qui marchent pas mal en ce moment là.
Ouais, c'est un truc un peu à la mode là.
Peut-être pour les manouches c'est nouveau, mais c'est pas nouveau.
Et donc t'as testé et visiblement.
Et non mais j'en suis très très contente.
Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que tu l'as. Franchement le truc il rame pas un pet.
Super bien. J'ai jamais de bug. Je le redémarre une fois par semaine, mais c'est même pas parce qu'il en peut plus, c'est parce que je me dis faut peut-être que je le redémarre, ça va lui faire du bien. Mais
mise à jour ou des choses comme ça.
Ouais mais vraiment il marche super bien.
Il a une autonomie qui est pas mal.
Oui, par contre donc le mien, il a pas encore, j'ai pas accès à la 4G avec. Là, ils ont sorti un nouveau téléphone en février qui a accès à la 4G, mais le mien, non, pas pour le moment. Bon. C'est pas...
La 4G, c'est pas encore super développé. Donc,
ouais.
Ça dépend, si tu as un téléphone Bouygues, ça marche très bien.
Ouais.
Et donc, parlez-en autour de vous, parce que vraiment, c'est un téléphone qui coûte pas cher. et
je dis ça parce que maintenant que Laurent est parti, je peux le dire sans qu'il me tape dessus.
Je suis d'accord avec toi.
Bon, c'est vrai qu'on a acheté un téléphone à mon fils...
À Carrefour?
Pas à Carrefour, non.
À l'électrodépôt?
Voilà, l'électrodépôt à 59 euros. Et bon, c'est vrai que c'est pas terrible.
C'est quoi comme téléphone?
Bah, je crois que c'est Alcatel. Alcatel?
Ça existe encore?
Alcatel, attends, c'était mon premier Ola.
Édition 1984, hein, c'est un
bon, c'est il pèse 4 kilos.
Et la valise, tu l'as payé combien?
Non, mais c'est. Non, ce serait une bonne.
Non, mais niveau rapport qualité-prix, c'est vrai qu'ils sont vachement bien, les
gars. Je vais pencher sur la question.
C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Moi, j'ai deux collègues qui viennent de s'équiper.
Et ils en sont contents?
A priori, oui.
Bah ouais, non, mais vraiment,
moi,
ça tourne très, très bien.
De l'ISO, le 25, et donc il faut que je trouve un téléphone. Pour
je crois que le premier smartphone est à environ.
Dans le consumérisme. Oui, toi qui le dénonces avec Noël, tu rentres dans le consumérisme.
Oui, c'est ça, c'est marrant comme ça, antinomique.
Le plus bas, tu me dégoûtes.
C'est pas de ma faute.
Bah si, tu rentres pas dans le jeu, puisque c'était petit.
On va pas rentrer dans le débat sur savoir ce qu'il faut faire avec ses enfants ou pas.
Oh là, oh merde, on sent que c'est un sujet épineux, passons à autre chose.
Non mais cela étant,
c'est vraiment un bon produit.
Pour un coup. Donc j'ai testé et je recommande Wiko.
Eh bah très bien. Merci Starlet.
Super. Et tu files un portable pour avoir fait la pub comme ça?
Pas encore.
Est-ce que t'es endorsé?
Parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de gens qui vont...
Des centaines de milliers de
gens vont avoir des retours.
Hey, nos chiffres sont beaucoup plus importants que ça.
Des millions.
Au moins ça. 30 personnes qui nous écoutent à chaque fois. Non, j'en sais rien.
30, c'est pas mal.
Je suis incapable de faire les stats. Donc, bon.
On grandit.
On
grandit.
S'en fout.
Voilà.
Et la prochaine fois, tu fais les chips Vico, alors tu testes, non?
Oh là là!
Alors, alors des blagues pourries, j'en ai entendu, mais alors celle-là, elle est pas mal.
Du lait, tu peux recommencer si tu veux.
Cédric Dubac ferait bien, non?
Non, moi je l'encourage.
Non!
Faut.
Mais écoute, tu cherches.
La créativité, faut
si
pas
tu veux un autre scénariste pour un autre style de BD,
non, pas à ce point-là, je l'encourage.
Non, on est bien d'accord.
Non, mais juste pour revenir sur les Wico, moi j'en vends des téléphones dans mon point de vente, puisque je suis vendeur. Et c'est marrant parce que je vais vendre du Alcatel.
Et tu vois pas
c'est
de
tout simplement les prix les plus bas.
C'est ça,
mais j'y mets
60
pas de
euros,
gros grosses 65 euros je crois ouais. J'y mets pas des gros espoirs, mais effectivement pour une gamme smartphone, une entrée de gamme, on va partir sur du Wico. Et c'était la gamme dont tu parlais, je crois que je vais être à 159 euros pour le Sync Pix 2 je crois.
Oui mais avec la carte SD initiale et pas celle qui est plus grosse.
C'est certainement le cas, oui. Tout à
oui,
fait, tout
parce
à fait.
Que nous, c'est ce qu'on c'est avait vu, bundle. C'était les prix. Et comme la carte SD, on en voulait une plus conséquente.
Enfin, une carte SD, ça coûte que dalle maintenant.
Non,
ça
mais
dépend.
Ça dépend. Ah,
oui.
Ouais,
ça dépend lesquelles, oui.
Si tu prends une 64 Go, bon, c'est...
Oui, en fait,
il y avait une promo,
y avait une promo
sur Amazon
sur
cette semaine.
Discount.
L'autre jour, quand j'étais à Carrefour...
32 Go, 15 euros.
Je voulais acheter une carte.
Moi, je voulais les prendre, mais je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas prises. Enfin bref, c'est autre chose. Ouais. Mais c'est vrai que t'as des promos, franchement, de la micro SD.
Chez moi, les 32 gigas, je les vends quasiment 1 euro giga. Je suis à 30,80 euros, je crois.
Ah
que c'est
oui,
comme ça.
Là sur Amazon, il y avait une offre hier ou avant-hier.
Tu travailles chez qui?
Je travaille chez Bureau Vallée, qui est une ancienne
ah
pour,
bah oui,
discount
oui, oui,
pour
oui.
le bureau, pour les, plutôt pour les professionnels. Ils ont un rayon informatique et j'ai atterri là.
D'accord.
C'était le seul boulot sur Fécamp, donc.
C'était ça aux pêcheurs.
Ouais, parce que les, parce que les pêcheurs à Fécamp, ils ont cet
alors,
accent.
Alors on dit pas, alors non. On dit les péqueux.
Les
pêcheurs.
C'est possible.
On est pas péco.
On est très bon en accent.
Cauchois.
Oui, oui, bah.
Cauchois. Un siodio. Hein, mon Freddy.
Non, un siodocaude. Un siodocaude.
Bon, bref.
Bon, le quiz.
En tout cas, merci Starlet.
Moi, j'ai certainement en acheté un
d'ailleurs. Intéressant.
Merci.
Super.
Et bah, puisque Freddy nous faisait ses petits accents, il va continuer avec son quiz.
Là, pour moi, ça doit être sur la bande dessinée. Je n'ose pas imaginer, puisque c'est toujours en rapport avec le.
Mais si vous aviez lu le conducteur, vous le sauriez.
Non. Oh
ça dans ta gueule.
T'as un menteur, tu l'as pas mis sur le conducteur.
Ah si.
T'as mis les questions avec les réponses.
Conducteur, attends. Quiz de Freddy. Quiz de Freddy. J'ai rien.
Eh ben écoute, oui, bah, moi, alors,
je
alors Freddy.
Ouais, sur les murs, ouais.
La dernière fois, il m'a
je
fait
lu,
le même coup.
Je l'ai lu ce matin
rempli.
Et je l'ai vu. C'est pour ça que je sais que c'est sur
c'est
la BD. Je l'ai lu ce matin.
Ah bah merde. On a un problème de.
Et la dernière fois, tu m'as dit que j'avais pas rempli le truc alors que je l'avais fait.
Non, tu l'avais vraiment pas fait, toi.
Tu rigoles alors.
Allons-y.
C'est vrai que tu témoignes quand même.
Et là, oui, j'ai vu quelque chose.
Et l'invité n'a pas le droit de jouer par contre.
Si.
Ah si.
Non, je sollicite l'invité si vous ne trouvez pas.
Ah, en
oh
donnant
merde,
quoi
t'as la pression.
La réponse
bah,
ou
si j'ai la réponse.
Évidemment. Alors évidemment, si je sollicite l'invité.
Bien quand tu parles comme
ça.
Ça
veut dire quoi? Je joue pas à la base.
Bah si, voilà. Peut jouer.
C'est vraiment nul.
Allez, nul la fête, je m'en vais.
Bah oui,
c'est clair.
On va laisser, je sais pas, genre 10 secondes. Si c'est vraiment dur.
Bah ce sera peut-être.
Oui, mais il nous donne un indice.
Dire que non.
Il nous donne un indice.
Non mais attends, on fait pas comme si je savais tout.
On improvisera.
Fais le quiz.
Bah vous l'avez compris, le quiz aujourd'hui concerne la bande dessinée.
C'est
un hommage
je suis
à notre
mal.
Invité, à nos invités. Et
là
on va se replonger dans la bande dessinée qui n'est pas toute jeune. Hein. Je vais vous demander de me citer le
c'est
nom.
C'est du classique.
Des trois pieds nickelés.
Oh. Ouais. Bah...
Schnouf, Scrooge et Moustache.
Non.
Pieds nickelés.
Attendez, il y a Funambule ou Furambule.
Ouais, il y a
un truc comme
t'as
ça.
La bonne première
merde.
Lettre.
Fini.
Fricotin, il n'y a pas fricotin, un truc comme ça.
Fistule,
filotin.
Ah, oui, tout de suite, ça sert à rien de me souvenir.
Fricotin.
Non.
Fistfucking.
Non. Mais t'as les quatre premières lettres, Nico.
T'as dit quoi?
Non.
Ah merde.
J'avais pas
prison.
Ripolin.
Score quiz.
Fripopin.
Non.
Barnabé.
Non.
C'est fil.
Ah.
Non. Philopin.
T'as les quatre premières lettres.
Philochar.
Filotin.
Philochar.
Philochar.
Ça en fait un point pour Nico.
Philochar. Grognard. Non. Pas un truc comme ça aussi.
Grognon.
Non.
Grognon.
Le début ressemble un peu, mais c'est pas ça.
C'est quoi la première lettre? Ton micro qui débande.
Il y a un C et un R pour l'autre. C et R.
Un C. Calibou.
Croquignol.
Ouais,
ah oui,
bien joué. Croquignol. Point pour Didouille. Ah, et le dernier.
Et c'est quoi C et
un R.
Ragondin.
Je pensais que c'était le plus connu.
Ratafia.
Non.
Rutabaga.
Personne, ça vous dit rien?
Non. Attends.
Poutine.
C'est venu d'un coup, donc ça va peut-être revenir.
Roux, Flaquette, Roger Rabbit.
Roger Hanin.
Je vous donne les trois
premières lettres. Roger Gigot.
Rintintin.
Non.
Rusty.
Trois premières lettres.
Allez, les trois premières lettres.
Vas-y.
C'est simple après, hein. C'est R-I-B.
Ribotin.
Ribouldingue.
Ribouldingue.
Le point pour Christophe, mais c'est pas un gros point.
Hein. Quand même... Je suis d'accord, ce sera sans doute le
quasiment
seul.
Quasiment donné.
Vous pouvez noter que c'est un point qui y vaut rien. Hein, mais bon. Ok.
Allez, deuxième question. Et là, je vais demander une réponse par personne et je vais attribuer le point à celui qui sera dans la bonne.
La règle est compliquée déjà.
Vas-y.
Vous allez comprendre. À 5000 près. À combien d'exemplaires s'écoule fluide glacial ces dernières années? Je propose qu'on commence par Cédric, notre invité.
Chaque année?
À 5000?
Non, non, chaque parution.
Chaque parution. Ouais, ouais.
Putain, c'est à 5000 déjà.
Ah, on ne demande pas l'avis à un ami.
Allez, on va dire 15 000.
Marius?
Je vais dire 15 000, donc moi je vais dire 10 000.
Bah non, à 5000 près, c'est peu.
Vous allez être, si c'est 12 000, vous êtes tous les deux.
3 000.
63 000, Nico?
Moi, je dirais 48 000.
Christophe?
33 000.
28 000.
100 000. Enfin, Lulu?
Ouais, tapez plus haut, 100 000. Quoi, c'était tranquille.
Alors, ben, personne ne marque de points, mais c'est quand même Delphine Starlet qui était le plus près, puisque c'est 70 000.
70
000. T'aurais dit 65 000, t'avais gagné, en fait.
Oui, ça va, c'est bon.
63.
Il est mignon, lui.
C'est vraiment trop con.
Quand je pense qu'ils disent qu'ils n'ont pas de thunes. Salaud.
Alors je sais pas si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Honnêtement, j'en sais absolument rien. Sur les revues périodiques comme ça, c'est vraiment pas facile.
Moi, j'ai une question. Tu sais peut-être, toi, Cédric. Moi, j'étais fan de Fluide Glacial. Je l'ai acheté assez souvent. Et là, je l'achète plus du tout. Mais est-ce qu'on a les mêmes qu'on trouvait ? Moi, j'étais fan d'Edicat. Oh, j'adorais.
Tu vas avoir un petit peu d'Edicat, mais c'est super rare. Il y a quand même de moins en moins. Alors,
qu'est-ce que c'est
classique. C'est moins intéressant.
Little Kevin, moi, j'adorais Little Kevin.
Coyote a disparu. Voilà. Enfin, tout ça, ça a disparu.
Ah bah, c'est peut-être pour ça que j'achète plus.
Sœur Marie-Thérèse.
Maester, c'est pareil. Tu vas le voir.
Maester Larsenet, il y est encore là ?
Non. C'est vraiment.
Et comment elle s'appelait, la Martha Crew ? Non, comment.
Là.
Ah, la vieille
Carmen Cru.
Carmen
Cru. Pareil, c'est le long et il n'y est plus non plus. Donc
dites qu'on a un quiz là.
Aussi,
ah, pardon. Un quiz.
Allez, t'as
allez,
raison.
Troisième question.
Cours de piano, Lulu.
On va voir si vous connaissez vos classiques. De qui Super Dupont est-il le fils?
Gottlieb.
Non.
Ah non, d'accord.
C'est pas la réponse.
Putain, de la France. Enfin, c'est Marianne, un truc de ce genre-là.
C'est un symbole.
Pétain.
C'est un symbole, on peut dire.
Non. Pétain, c'est un symbole. Il est le fils d'un poulet et d'un coq et d'un.
Non. Cédric, tu connais la réponse ou pas?
Je ne m'en rappelle plus.
Moi non plus, je m'en rappelle
d'Arc.
Plus.
Je m'en rappelle plus.
C'est pas ça qui tenait la liberté de la France entre ce genre-là
y a... Non, mais il y a le côté symbolique.
Marianne
qui est un peu comme ça. Non. On cherche un homme pour le
Pétain
coup.
Pétain?
Non.
Soldat inconnu?
Ouais,
oui, c'est ça.
Bravo,
c'est
ouais, ça. Super Dupont, le fils du soldat inconnu.
Le hasard fait bien les choses.
Bravo.
Non. Starlet, tu peux vérifier qu'il y a une
triche.
Non,
c'est bon, c'est le tableau.
Sur le tableau des scores.
Fais gaffe quand même.
Dans lequel je mène aujourd'hui.
Alors, là, je pense que ça va être plus simple. Quatrième question. Quel auteur de bande dessinée a réalisé Gainsbourg vie héroïque?
Ah, c'est Svar. Oui, c'est ça. C'est
bah,
Christophe. Stéphane Svar, ou je peux nommer.
Johan Svar.
Il n'avait pas son prénom.
Non, le point pour Christophe.
Bravo, Christophe.
Et il rejoint Nico.
Moi, je ne sais pas parler suédois. C'est pour ça que je n'ai pas pu le dire. Je ne savais pas comment le prononcer.
Cool
Offenstruck.
Tu disais que tu n'aurais pas de points, regarde.
Tu vois, ouais.
Mais le classement court sur plusieurs épisodes, du coup.
Ah, d'accord. Ah, oui, ouais, t'es niqué, quoi.
Ouais. Alors, une question un peu moins facile, mais peut-être qu'il y a des fans autour de la table. Jean Dujardin a incarné Lucky Luke au cinéma en 2009, ouais. Ça vous le savez. Mais quel autre acteur a incarné ce héros de bande dessinée en 1980?
Je l'ai.
En quelle année?
Terence Hill.
Gagné. Ah bah ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Désolé.
Ah bah,
pour
écoute,
Didouille,
merde.
Hein.
Tout à fait.
La femme est perfide.
Absolument.
Et toi particulièrement?
C'est quand même moi qui l'a lancé. J'ai pas un point, moi.
Mais comme les gamins, tu te fais.
Et non, mais
toi,
t'as aucune excuse en plus parce que je te signale que tu vas aux States et
oui,
normalement tu vas avoir ta culture. Bah t'aurais pu dire Terence Ren Darby.
J'étais prêt à le dire. J'étais surtout prêt à le dire.
C'est Philippe, ouais.
Voilà. Le quiz des 5 questions du quiz.
Très bien, bah, Ludo,
on voulait d'autres.
Mon Ludo, tu as été nul.
Oui, j'étais mauvais.
T'as juste entendu pour dire
c'est
deux
quoi conneries. La récapitulatif des points.
Récapitulatif.
Alors, qui gagne.
Bon, cela étant, Ludo reste quand même en tête. On a répondu à Caudal aujourd'hui.
c'est dire l'avance prodigieuse que j'ai.
Non. Didou, il le dépasse.
Oh la vache, qui l'eût cru.
Et donc,
moi, je crois que je dépasse.
Donc les scores en tête. Didouille avec 9 points.
Bravo.
Monsieur Lulu est second avec 8 points et demi. Oh. Donc c'est vraiment d'une courte tête.
D'une courte tête.
Ensuite, eh ben c'est moi-même avec 7 points. Suivent égalité Christophe et Starlet avec 5 points.
Wow.
Et Marius avec 2 points.
Voilà. Ouais.
Sauve l'honneur.
Oh, t'as fait y en avoir 3, Marius.
C'est con, hein.
C'est super. C'est une scène d'Arby, c'est con.
Non, mais la prochaine fois, on fait un truc sur les hérissons, il va gagner.
Ou les caravanes en alu, je sais pas.
Les caravanes, les tabères, les fennes, tout ça,
donc,
c'est bon.
En tout cas, bah, c'était vachement marrant, moi j'aime bien. Donc
c'était court.
Oui, c'était court. C'est pas un coup de reviens-y là.
C'est passé très très vite.
Ouais, faut que tu passes à 10 questions, hein, 5.
5 c'est vachement court, ouais.
5 on se fait
si
chier.
Si
hein.
On prend en compte l'avis de l'invité.
Non, mais c'est parce que d'habitude on met vachement plus de temps à répondre d'habitude aussi.
Mais oui,
le problème c'est quand il fait 10 questions, ça dure 3 heures.
Là, il excuse si vous avez pas de culture.
D'habitude, on n'est pas bon.
Il a quand même fallu donner 3 premières lettres pour
comprendre. En même temps, c'était pas facile ta question. Étant donné que c'est
probablement enfin, c'est pas notre époque.
Les parents qui le lisaient, c'est pas forcément facile.
On appelle ça la culture générale après.
Oh putain.
Oh là là.
Je quitte cette table moi.
Sur un autre ton.
Alors
pas deux celle-là.
De qui sont les bustes en plâtre de Marianne dans les mairies?
Pourquoi cette question?
Bah, je voudrais avec tester. La BD. Bah, je teste la culture la générale de Monsieur Frédéric.
Si ça avait été le thème de l'entrepôt, j'aurais étudié le sujet.
C'est une sorte de BD finalement. Marianne, c'est sur les timbres. Alors?
Oh putain, l'argument à deux balles.
Bah, je m'en vais. Je m'en vais.
On touche le fond là. Je pense que.
Attends, il dit comme.
Non, tu creuses encore. Tu creuses encore.
Non, il dit qu'on n'a pas de culture.
Je vous propose de passer à la suite avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Tu disais, Marius, t'as rien du tout?
Je te propose de commencer alors.
Pas de problème, on peut y aller.
Attention, bah écoutez, c'est parti.
Chrono.
Alors, c'est parti. Donc, alors, pour mon coup de gueule.
Ton coup de gueule.
Il faut donner deux. Forcément un coup de gueule.
Il faut en donner un ou deux. Non, allez, ça tourne quand même. Alors on y va donc. Je fais une foire à tout la semaine où je vais mettre en vente mes comics et BD la foire de Claire dans la région rouennaise. Donc venez me voir bien nombreux.
C'est où Claire?
Crachez votre pognon.
Ouais.
Non mais tu peux préciser que t'as quand même des BD et des comics.
Ouais, bah c'est ce que je dis.
Non, tu dis pas.
Des très bonnes BD.
T'as combien de?
Je suis à 500, quasiment 1500 BD comics à vendre.
1500.
Ça commence à prendre de la place.
1500, ouais, je suis à 1500 BD comics à vendre. Donc, je suis sur la foire à tout de Claire. Hein, je lance un appel. J'ai besoin de fric en ce moment.
Et le mot de passe, c'est hérisson.
Oui, venez avec le mot de passe hérisson et il y aura.
Et vous aurez 2% de réduction. Eh bien, merci. Merci, cube. Marius. Eh ben, on va continuer. Bah, Starlet, tu m'as l'air de t'endormir, donc on va te réveiller. En plus, vas-y. Sur ce coup de cœur magnifique, vous êtes prêts? C'est parti.
Alors aujourd'hui, mon coup de cœur est un coup de cœur plus. On est allé voir un film hier avec Nico au ciné, qui s'appelle Le Grand Budapest Hotel.
Wes Anderson.
C'est génial, de Wes Anderson, ouais. Donc j'y allais sans aucun a priori, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais alors la claque que je me suis pris, c'est formidable. La distribution est impressionnante. Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Adrien Brody et j'en passe.
Jeff Goldblum. J'en passe, c'est en français.
C'est qui j'en passe?
Allez, continue, Starlet.
Donc, le film retrace les aventures de Gustave H., l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage Zéro Mustapha, son allié le plus fidèle. Donc, il y a un meurtre, un tableau volé d'une valeur inestimable, une querelle autour d'un héritage familial et ça fait la toile de fond de cette aventure rocambolesque et un peu foutraque. La mise en scène est superbe, c'est classe, drôle, un poil émouvant. Ce film de Wes Anderson en met plein la vue.
Joli.
Ah, t'as fini.
C'est super.
Ouais.
Non, c'est pas bien. Enfin, je rebondirai dessus, c'est extraordinaire. Moi, je l'avais lu par un article encore du Daily Mars, on l'a cité tout le temps, mais
oui, Docteur
No,
tout à fait, j'ai
qui
lu
a
ça.
Plutôt une tendance en général à défoncer les films d'une façon qui me plaît d'ailleurs énormément. Mais quand il a vendu ce film-là, j'ai eu le truc aussi. Mais c'est quoi ce machin-là? C'était complètement passé hors de. Du radar, et on l'a vu hier. Mais
pourtant, les affichages, il y en avait plein.
Vous êtes allé voir au cinéma?
Ouais,
il est encore. Et vraiment une grosse claque. Moi,
est-ce que ça dépasse la vie aquatique?
Énorme.
Je pense. Alors peut-être que c'est parce que c'est
Steve
plus récent, etc. Mais
Steve Zissou.
J'ai vraiment adoré l'ensemble du truc. C'était vraiment. Pour moi, oui.
Ça dépasse la vie aquatique.
Peut-être revoir la vie aquatique, je disais à Starlet. Peut-être le revoir justement pour faire le parallèle, mais vraiment, c'est. Un truc de dingue. Tu ressors avec la banane.
Vraiment,
c'est un super film.
C'est joli en plus. C'est super.
Extraordinaire. Et vraiment très poétique. Enfin, génial.
Puisqu'on se raconte un petit peu nos vies, nous à la maison, on s'est fait une rétrospective Wes Anderson en prévision d'aller voir Grand Budapest Hotel.
Il y a du bon et du moins bon, mais effectivement.
Ouais, on a fait une petite sélection, mais on s'est régalé là avec ce qu'on a vu.
Tu m'étonnes.
Bon, bah écoute, très bien. Bah, je sais pas combien de temps, parce que comme disait Christophe, ça fait 5 semaines qu'il est à l'affiche déjà.
Je sais pas
s'il va rester. Ils sont à 1 million là, ils étaient à 1 million d'entrées cette semaine quand même.
Pour un ovni.
Donc c'est quand même plutôt bien quoi. En tout cas, je rejoins Starlet sur ce sujet.
En tout cas.
Pardon, c'est l'accent cochois qui ressort.
C'est pas très cochois, c'est bien du schnaur, plus que du coach.
Puis là, je passe dans. Allez hop, on change, soyons fous. Allez, Ludo. Tiens, nous oh putain, non,
quel enthousiasme!
Quel enthousiasme! Alors là, franchement,
je pense que c'est les interros à la fin du cours.
Allez, allons-y!
Au tableau!
Ludo,
ça va sûrement
c'est parti!
Un coup de cœur. C'est un roman de Stephen King qui n'est pas encore sorti en France, qui va sortir normalement dans un mois ou deux, qui s'appelle Joyland, et qui est en fait un roman policier qu'il a écrit pour une collection qui s'appelle Hard Crime. Et que je trouve que je suis en train de dire qui est absolument excellent et qui est exactement dans la veine de Stephen King que j'aime en ce moment, qui est un récit alors sur l'histoire d'un meurtre qui se passe dans une fête foraine et qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont la vie passe je dirais il quitte en fait le lycée pour aller au collège et il va avoir ce job d'été et voilà, il va être confronté à ce mort, mais c'est aussi le passage à l'âge adulte et c'est vraiment un roman, mais vraiment extrêmement prenant, très doux, amer et je trouve ça très fort. Maintenant, le mystère, je ne suis pas encore à la fin, j'attends de voir comment ça va se dérouler, mais si vous aimez Stephen King, si vous aimez la phase un peu mélancolique de Stephen King, c'est pour vous.
Mais si ça se trouve, c'est nul, t'as pas lu la fin, ça se trouve, c'est nul.
C'est surtout que tu sais pas le titre français, tu le connais pas. Ça peut très bien ne pas être Joyland.
Oui, mais en même temps, c'est ce que je suis en train de lire.
Il est très prolixe en ce moment.
Il mange du hérisson. Mange du hérisson.
Très bon livre, ceci dit, la vengeance du
hérisson. Non, vraiment, c'est un très très bon. Enfin, en tout cas, je trouve un très bon bouquin. Voilà.
Ok.
It's my good cœur. It's my.
Freddy.
Action.
À toi, je lance le morceau comme tu me l'as demandé.
Alors moi c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur sur une série de concerts qui vont avoir lieu dans la région et dans les semaines à venir. Et je voulais vous parler entre autres de My Little Ship Dictaphone. C'est un groupe belge, membre à part entière de cette nouvelle scène belge dont on a déjà parlé ici. Donc on peut citer Girls in Hawaii, Ginzu, Deus, tout un tas de groupes là.
Applause.
J'en passe, c'est des meilleurs. MLCD, My Little Ship Dictaphone, dont on entend le titre Fire en ce moment, vient tout juste de sortir un excellent album, The Smoke Behind the Sound, à découvrir sur la scène d'un printemps au parc des provinces de Grand-Quevilly. C'est gratuit, c'est le 13 juin.
Très bien,
à noter.
À noter également d'autres concerts coup de cœur comme Ibrahim Malouf, on en a parlé là aussi, Festival Archéo Jazz de Blainville-Crevon, c'est le vendredi 27 juin. Ou encore The Brian Johnston Massacre au 106 le jeudi 22 mai pour les connaisseurs. C'est un super concert. Voilà, je vous laisse avec Fire.
C'est pas mal.
Pas longtemps.
Moi, je suis moins branché trompette sur le morceau, mais.
Je vous invite à écouter sur le site de l'Anthropode ce morceau qui est très très
bon. Oui, moi je veux l'écouter. D'accord.
Moi je suis juste dépité parce que Ginzu, je suis allé m'enseigner
à quoi
que
tu
t'as
ressens,
sur le
toi
nez, toi. C'est mon état.
Une petite photo.
D'accord.
Ça marche plus.
Oui, bah, je disais juste.
Oui,
Ginzu, je sais pas, t'es peut-être au courant, Freddy. Il y a pas d'actu sur Ginzu, ça fait un bac.
Non, je
ne
saurais pas te dire. Mais... En fait, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le dernier album.
Attends, ça date. Il a bien 3-4 ans.
4 ans. Ouais, bah c'est pas si.
Bah moi, ça me semble long. Hein.
Ah. Mais ouais, ils ont fait une méga tournée. Bon.
Parce que moi, je suis fan.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai vu à Paris. À, au Bataclan, moi, je les ai vus.
Ouais. Ok. Ah, au Bataclan, elle est bien la salle en plus.
Ouais, ouais, c'était vraiment.
Oh là
bien.
Là, moi, je veux les voir.
Parfait. Eh bien, bah, dis douille, tiens, puisque t'étais. tu m'avais l'air sur ta lancée. Vas-y.
C'est parti.
Je te propose d'y aller. Vas-y.
Oui, alors moi, je suis anti-sport. Tout le monde le sait bien. Bah, je ne suis plus. Voilà. Je suis total accro au sport. Non, c'est pour signaler l'ouverture d'une salle qui s'appelle Osmose au Ménilénard. Et voilà. Et ben, je suis inscrite au body pump et je fais de body pump.
Et tu body pump.
Et je body pump.
Et ça pompe, hein.
Donc,
on te laisse mettre tes propos, Ludo.
En fait, c'est de vous redessinez votre silhouette, vous renforcez les muscles avec une barre fixe et des charges.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est chorégraphié.
C'est chargé, ça décharge.
Je suis une fan inconditionnelle.
De la décharge.
Et c'est vachement bien, ça. Effectivement. Alors, il s'agit pas de faire du culturisme ou du ou de l'haltérophilie, mais c'est super agréable. Voilà. Donc, vive le body pump. Je vous conseille le body pump.
Eh ben, super.
Et sinon, j'ai un nouveau vélo. C'est
et pour la petite histoire, ma femme fait du body pump avec Christine.
Et t'en es très content.
Et ça pompe pas. Hein.
Elle peut pas, elle est fatiguée, la pauvre.
Ça pompe le compte en banque, en tout cas.
Oh la vache.
Ah bah non, ça amortit. On y va deux fois par semaine.
Une fois par semaine, bon, ça commence à être pas mal. Bah tiens, Christophe, vas-y, parle-nous de ton coup de gueule, visiblement.
J'ai chaud subitement, mais ce sera un coup de cœur.
Ok, bah écoute. C'est
pour un film également qui s'appelle Inside Lewis Davis des frères Cohen. Donc moi ce film est complètement passé inaperçu à mes yeux en novembre 2013 lorsqu'il est sorti. Je l'ai découvert parce qu'il vient de sortir en DVD. Et donc c'est un petit film intimiste, l'histoire de Lewis Davis, un musicien raté, chanteur folk, qui arpente les rues dans l'espoir de trouver sa voix, avec comme cadre New York de 1961. Décor très dépouillé, enneigé et imprimé de grisaille. Se tient un homme seul, avançant dans le vent, une besace à l'épaule et une guitare à la main. Donc c'est calqué en fait sur une histoire vraie d'un type que je ne connaissais pas qui s'appelle Dave Van Ronk, un marginal voué à une carrière dans la clandestinité. Donc Lewin Davis restera donc manifestement à l'abri des projecteurs et des aficionados. Donc à noter quand même que ce film a obtenu le grand prix du Festival de Cannes 2013, c'est pour dire si j'étais au courant de tout ça. Et donc c'est vraiment une petite chronique humaine, douce, amère, teintée d'amour et de dérives existentielles.
Quel est l'acteur principal? C'est Douglas ou pas? Ça n'a rien à voir?
Isaac Oscar.
Ah oui, donc
j'ai trouvé ta chronique un peu pompeuse.
Oh, joli!
Ça vient d'où ça? Il y a les private jokes?
C'est pour compenser.
Ah, pardon. Pardon.
Non, dis, hey, t'étais où toi?
Bah, j'ai dormi.
Eh bah, tiens, tu te fais malin. Est-ce que t'as un coup de cœur à nous présenter en une minute?
Un vrai gros coup de cœur, non, mais un petit coup de cœur quand même. Hier, j'ai regardé plusieurs films, et notamment Les Garçons Guillaume à table, mais comme il a été plein de fois récompensé, que tout le monde a été dit tyrambique, on va pas en parler. C'est génial, c'est vrai. Ouais. Par contre, j'ai regardé un autre film dont on a moins parlé, qui est une réalisation de Ben Stiller, qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty, et qui n'est pas le film de l'année, on est d'accord. Lui, il avait surtout fait de la comédie avant, Tempête sous les tropiques, Zoolander, je crois. Beau,
oui. Marie à tout prix.
C'était pas lui, c'était les frères.
C'est pas Ben Stiller qui jouait dedans.
Farrelly. Dans Marie à tout prix, oui,
on cherche pas.
Enfin, ouais, allez, en tant que réalisateur, c'est son troisième ou quatrième film, et c'est la première fois qu'il va taper autre chose que dans la comédie. C'est à la fois drôle, c'est aussi, c'est un personnage attachant, puis c'est surtout un feel good movie où on se laisse facilement embarquer. Et franchement, à la fin, on sort avec un bon grand sourire, et c'est juste parfait. Des beaux tableaux, une belle histoire, Et c'est bien campé.
Ouais, il veut réaliser tous ses rêves, en fait.
Non, du tout. Non, il veut juste devenir quelqu'un.
D'accord.
Tu y es pas du tout.
Parfait, dis donc.
Il veut juste réaliser le film.
En fait, c'est un film de making-of. Voilà.
Eh ben écoute, ouais, c'est, mais
bon, bah, super.
Ça m'intéresse parce qu'il y avait eu des avis assez divergents sur ce film, ouais, des gens qui l'encensaient, des gens qui détestaient. Fait,
C'est pas un peu trop un peu gnangnan des fois quand même ou pas?
C'est pas gnangnan.
C'était ma crainte.
J'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il avait essayé de faire
dans ton micro aussi.
Pardon, c'est alors, exactement ce que je disais tout à l'heure à Nico, il a essayé de faire une espèce de Into the Wild mais pas prise de tête. Alors c'était un chef-d'œuvre, on est d'accord. Et d'accord, il y a un gros clin d'œil d'ailleurs, c'est que Sean Penn apparaît dans le film. Et c'est justement ce personnage qui ne vit rien et qui rêve sa vie et qui un jour franchit le cap et décide de vivre des choses. Et ça lui tombe dessus sans le vouloir.
C'est ce que j'ai dit.
Pas tout à fait, mais ceci dit, je suis d'accord. Voilà.
Très bien, bah écoute. Voilà.
Comme on est dans le cinéma, Nico, nous, on était voir Monument Men.
Alors ?
Et non.
C'est bien.
Ok, et donc
non. Ah oui, d'accord.
Ouais. Voilà, non, ça ne décolle pas, ça, c'est long, okay. c'est j'en avais marre. Et c'est... des gens ont quitté la salle.
Ouais,
bah, tu sais, hier, on a des gens qui ont quitté la salle au tout début de.
Après peut-être 10 minutes, un quart d'heure, il y a des gens qui sont levés, qui sont partis.
Les gens ont quitté la salle.
On n'a pas compris.
L'acteur de Fast and Furious est mort, ils ont du mal.
Et je sais pas, oui, je me suis vraiment intéressé.
C'est Wes Anderson, c'est un truc que j'ai jamais pour tout le monde.
Non, mais je suis comme, je comprends pas de quitter une salle.
Dès les premières minutes, t'es happé par l'histoire, mais alors qu'ils ont pas été.
Toi, t'es un peu violent.
Moi, j'ai quitté deux fois une salle. La première fois, on m'avait traîné voir camping, je suis parti.
Ah oui.
Et la deuxième fois, on était.
Ah, t'es con, c'est vachement bien. Ouais. Il y a des caravanes partout. Il y a plein de caravanes.
Et la deuxième fois, c'était un film de Eric Aramzik, ça s'appelait Agent 00.
Ah oui, qui était vraiment nul.
Ah ça. Et moi, c'est une sombre mort. Merde.
J'aurais dû quitter la salle, mais mon mari, par respect pour son enthousiasme à vouloir absolument que j'aille le voir, c'était Mélancolia de Lars von Trier. Et là, j'ai pleuré ma mère. Je sais pas comment j'ai fait. Si, il a réussi à me dire, à me vendre le truc en me disant qu'il y avait l'acteur de True Blood.
Alexander
voilà.
C'est
alors,
un argument assez minime.
Bah écoute, hein, ça, je m'en fous. Moi, je l'adore. Je l'adorais dans True Blood. Maintenant, je suis plus True Blood, mais c'est pas grave.
C'est normal.
Et en fait, on le voit deux minutes dans le film.
Mais c'est plus tellement beau.
Et c'est surtout que tu vois Part 1, alors tu dis partie 1, mais quand tu vois que ça s'éternise, alors les tableaux et que.
C'est un peu comme quand tu parles en fait, non?
Pense à ta gueule!
Donc je ne serai pas présente au prochain podcast, comprenez que je suis rancunière et susceptible, les jupoditeurs!
Je suis contente de ça.
Tu peux, je reviendrai plus.
T'es fou, tu parles.
Attends, j'ai fini, rien
moi. Ah, t'as un truc à dire toi?
On va finir les coups de cœur et coups de gueule avec moi-même. Donc moi en ce moment, bah, je suis un truc surprenant. Je regarde la télé et notamment France 2. Donc après Broadchurch qui m'avait complètement happé, là je regarde quelque chose de complètement différent puisque c'est le documentaire qui s'appelle Apocalypse, la Première Guerre mondiale. Je pensais, on a toujours l'impression de connaître un petit peu plus ou moins, et en fait je m'aperçois que je connaissais rien du tout de la Première Guerre mondiale, que ce soit la montée, comment ça s'est produit, etc., etc. On a vraiment une vision complètement différente de ce qu'on peut apprendre à l'école, puisque c'est basé sur c'est illustré notamment par des témoignages et des courriers d'époque qui sont lus par Mathieu Kassovitz. Franchement, il a vraiment une voix de narrateur qui se prête tout à fait au truc. C'est quelque chose, moi je regarde, il reste un épisode qui est diffusé mardi, c'est en six épisodes. C'est quelque chose d'énorme, on voit l'aspect des gueules cassées, à quel point c'était déstabilisant. On parlait des Américains avec la Statue de la Liberté tout à l'heure, on se rend pas compte à quel point les États-Unis à l'époque, c'est pas du tout la vision qu'on en a maintenant. Ils ont eu peine à mobiliser les gens, enfin...
Tais-toi.
C'est mon coup de cœur.
C'est des images d'époque aussi, t'as oublié de le dire.
Oui,
recolorisé.
Oui, oui, mais ça, quand même, il y a que des images d'époque.
D'accord.
Non, mais je suis d'accord quand tu vois comment c'est. Elle vient cette Première Guerre mondiale avec des conneries, quoi.
Bah, tu te dis qu'on est. Des fois, on n'est pas très loin en ce moment.
On est d'accord.
Un pays qu'on annexe un autre, une grosse crise
c'est
de fond.
C'est le passé qui fait le présent, de toute façon.
Et il y a des fois.
Oh, c'est beau quand tu parles comme ça, moi j'aime beaucoup.
Mais
tu
bon,
comprends pas tout le temps.
Sans
mais...
dramatiser tout, mais c'est vraiment intéressant.
C'est joli.
C'est bien de savoir le passé de temps en temps. Puis là, c'est vraiment bien fait. C'est pas chiant.
Ah, bah, ça aiderait certaines personnes à éviter de voter pour le FN.
Donc, on fait pas de politique. C'est fini les élections à cette heure-là. Je vous propose.
C'est pas jusqu'à 20h.
Je sais pas.
Sur les capitales. sur un computer.
Je ne sais pas. De toute façon, ça sera diffusé demain. Donc,
ce soir même.
Et donc, Didou, y a-tu une séquence de
non, 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 mais j'ai peur de vous gonfler, donc je vais m'éviter.
Je vais m'éviter. Je vais m'éviter toute seule.
Très bien.
Je m'évite.
Eh ben, je vous propose en guise de conclusion de rappeler un petit peu où on peut retrouver Cédric sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Est-ce que tu as des endroits?
Oh, j'ai une page Facebook qui s'appelle Artefact. Oui. J'ai une page perso sur laquelle on peut me contacter également. Et puis, j'ai un blog qui s'appelle artefactlabd.blogspot.fr.
Voilà. Qui est bien parce qu'on voit des étapes de travail aussi.
Oui, il y a pas mal de petites pages dédiées à l'évolution du travail, etc. Donc ça peut être intéressant.
On voit tes essais, là, tu changes changer un petit peu les traits des personnages.
J'essaie d'être le plus complet possible pour qu'on voit la face cachée.
Donc, décor. Donc c'est vraiment intéressant d'aller le suivre. Effectivement, tu mets des trucs réguliers. Je mettrai les liens sur le blog. Donc pour nous, comme d'habitude, on retrouve tout sur le blog et sur le billet de l'Entrepod. Peut-être que Ludo a une nouvelle passion ce mois-ci, qu'on peut le retrouver quelque part en particulier.
On peut le retrouver à www.toucherectal1hobby.com.
Très bien. Très bien. Bah, écoute, ça me paraît fort aguicheur comme
moi j'ai envie,
comme passion. J'ai envie, moi, je pense qu'on va tous aller se ruer sur la page derrière, enfin bref,
derrière.
C'est ça.
C'est
voilà. Et puis merci à tous d'être encore venus, merci beaucoup à Cédric,
merci à vous.
On passera
merci
le message aussi à Laurent qui a dû nous quitter un petit peu
Laurent.
Avant mais merci à tous les deux.
J'ai quelques recettes sur
et puis
t'as d'autres sites
je voulais aussi il y a quelqu'un qu'on peut retrouver depuis récemment sur Internet, c'est Monsieur Freddy, qui vient de lancer un.
J'ai découvert Internet.
T'as redécouvert parce que t'as beaucoup écrit dans le passé, mais là tu relances un blog sur la musique, donc que je vous incite. Partage souvent les billets qu'il met, donc Du Son La Joie. Donc un petit jeu de mots.
Freddy, c'est donc toi Du Son secret. La Joie, c'est toi.
Donc Du Son La Joie pour découvrir de nouvelles choses. Je te laisse en parler peut-être.
Non, oui, c'est ça. C'est un petit blog sans prétention, mais ça parle de choses que j'aime bien au niveau musical. Ça s'appelle dusonlajoie.wordpress.com. Et voilà, on se parle de news, d'albums de la semaine, de reviews, des choses que je vois en live. Voilà.
J'ai découvert justement par ton blog Winterhead
with the red hands.
With the red hands. Oui, avec mon anglais
à la Marius.
j'ai compris de quoi tu parles.
À la sous Marius. Moi, c'est un peu le même principe en fait. Sur mon blog, j'ai les news, les touches rectales de la semaine.
Les touches rectales.
C'est mieux.
Face de verso. Je dis ça, je dis rien.
Donc, en tout cas, on mettra le lien également pour retrouver Freddy.
Eh bien, merci, c'est gentil.
Donc, il y a pas de quoi quand même.
Moi, on me retrouve pas sur les liens sociaux.
À côté du stand de frites saucisses.
À côté du stand de frites saucisses de ma mère.
Très bien. Et maintenant que vous savez où tous nous retrouver, bientôt dans vos oreilles certainement. Et puis le mois prochain, on retrouvera une petite date, on vous tiendra au courant. Et puis en espérant que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. À bientôt.
Bisous, bisous.
Salut.
Oui, donc séquence Patrick, fais gaffe, t'es vachement au bord de la falaise. Donc on va cette fois-ci, la dernière fois on avait un petit peu célébré la gériatrie. Là on va revenir un petit peu en arrière parce qu'on va un petit peu, redécouvrir un jeune talent qui est assez prolixe sur Internet et il s'appelle DJO. C'est beau et il a une chanson d'une tristesse absolue. Je vais donc vous laisser découvrir ça. C'est là encore, c'est différent, mais c'est beau. DJO, la fin du monde.
Nous a rapproché qu'il y aurait une fin de l'humanité. Oh 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 oh. Mais un amour éternel rime avec l'éternel et l'éternel, l'éternité. Oh 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 oh. Au quotidien dans la société, la fin du monde est redoutée et se limite à l'apocalypse. La fin telle que je la conçois n'est pas pour maintenant, tant que l'amour existera. La fin du monde signifie pas la fin de l'amour entre nous, ensemble jusqu'à la fin. La fin du monde est prévue pour la fin de l'année. Mes moments à moi vont parfois quand notre amour finira. Toi et moi on se connaît, on s'est supporté et on supportera. Oh 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 oh. Même après la fin, on ne peut pas parler d'une fin commune. Oh 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 oh. On touchera la lune. Climatique.